complètement vendre, ça tombe bien, ses clients veulent vraiment acheter. Vendez sans trop payer de commission à partir de 2%.
Calinet, qui célèbre ses 25 ans avec 25 voyages à gagner. Vous êtes client, vous avez votre chance de gagner. 25 voyages à gagner pour les 25 ans de Calinet. Tu travailles sur la construction, puis tes pieds en arrachent. Tu mérites une botte ajustée à ton pied chez les orthésistes du pied de Québec. C'est couvert par les assureurs. Visite piedquebec.com.
Vous voulez recevoir le plus gros montant d'argent pour votre véhicule d'échange? Alors je vous envoie direct chez Honda de Giro. Ils ont compris que pour satisfaire, ça c'est la clé. Honda de Giro, toujours ouvert le samedi, mon ami.
On va vous apprendre des choses, vous en faire comprendre. On va vous divertir, vous accompagner. On va vous faire rire, vous faire fâcher. FM 93, c'est de l'audace, c'est du mordant, c'est du professionnalisme. Le FM 93, c'est tout ça et plus encore. FM 93, ça me parle. FM 93, c'est FM 93, ce midi. FM 93, ça me parle.
Ici Paul-Raphaël Charon. On se dirige vers une crise du logement permanente au Québec, selon l'IRIS. L'examen de maths du ministère est-il trop difficile ou est-ce qu'on nivelle vers le bas? Et le troisième lien sera un tunnel de 9 km à l'est.
FM 93, ce midi.
Ça fait des bonnes journées, Jean-Simon.
Pas pire. Merci à Isabelle Lacasse pour ma récréation d'une heure et demie pendant son émission Isabelle AM. Qui me permet
Que Jean-Simon, t'es sur le show du matin aussi cette semaine. Je m'appelle Paul-Raphaël Charon, pour les gens qui se le demandent, hein, parce qu'on est évidemment... C'est l'espèce de grand cirque de l'été là où tout le monde passe, tout le monde va, tout le monde vient.
C'est ça, oui.
Ça fait des bonnes semaines quand, une journée, il y a le financement tant attendu pour le réseau de transport structurant, plus important projet en transport en commun de l'histoire de la ville de Québec qui se boucle finalement après des mois de tractation et que le lendemain, à peine une heure avant le début de l'émission, on annonce finalement la forme que prendra ce troisième lien routier entre les villes de Québec et Lévis. Alors, pour l'information, le ministre des Transports, François Bonnardel, a donné une conférence de presse il y a environ une heure. Mm-hmm. Ce sera un tunnel complètement indépendant du pont de l'île d'Orléans. De 9 ou 10 kilomètres, là, on n'a pas exactement le calcul, mais à peu près 10 kilomètres, qui va partir de quelque part au bout de la 40.
Oui, la fin de la 40, là, tu sais, là où ça bifurque, dans le fond.
Le bas de la côte.
Oui, c'est ça.
Qui va passer sous l'île d'Orléans. C'est un tunnel bord en bord, là. Il n'y a plus d'histoire de moitié pont, moitié tunnel.
Pas de pont-tunnel.
Non. Et si j'ai bien compris, le tunnel ressort quelque part dans le bout de la 20, en suivant la ligne de la route Lallemand sur la rive sud.
C'est ça.
Grosso modo, c'est ce qu'on a appris tout à l'heure. L'objectif de la première pelletée de terre est toujours octobre 2022. Là, moi, quand j'ai vu ça, quand on a vu ce matin qu'il y avait une conférence de presse sur le troisième lien, on s'est dit, là, c'est peut-être du concret, là, tu sais, c'est peut-être le tracé.
Ouais.
Or, tunnel, tracé, c'est pas mal ce à quoi on s'attendait. Il n'y a pas de surprise majeure dans l'annonce de ce matin.
Ben, moi, il y a une affaire quand même, parce que t'sais, on voit le pont de l'île d'Orléans, qui est une espèce de patente sur laquelle personne ne veut passer, qui est en train de tomber. Il est vraiment en fin de vie, là, on s'entend. Un grand respire avant de passer dessus. C'est peut-être ta dernière respiration. Pour beaucoup de personnes, c'est une préoccupation importante. Puis il va c'est pas être sûr. Complété avant 2027, le nouveau pont de l'île. Alors, il y a une partie de moi qui pensait que peut-être on allait jumeler les deux projets de façon à ce que peut-être accélérer l'échéancier du pont de l'île d'Orléans, faire d'une pierre deux coups. Alors, quand même, c'est une surprise pour moi qu'on ait définitivement rejeté l'option de passer sur l'île d'Orléans. C'est quand même une surprise. Bien que, effectivement, parmi les doléances de bien du monde, c'était de gâcher le paysage de l'île. Sauf que ça m'a quand même...
Le paysage, là. Je veux dire, l'île d'Orléans est un endroit bucolique et pittoresque.
Oui.
Dont l'économie tourne autour pas mal...
Du bucolique et du pittoresque.
Du bucolique et du pittoresque. D'avoir une autoroute qui traverse la pointe de l'île, c'est vrai que... Pour les gens qui y restent et pour les gens qui ont des commerces, qui vivent de tourisme, même si c'est comme on va dire du micro-tourisme, dans le sens où il y a des touristes de partout dans le monde qui vont sur l'île, mais il y a aussi plein de monde de la région qui vont passer la fin de semaine un beau dimanche après-midi ou qui vont cueillir des pommes à l'automne. Là. Moi, je trouve que ça reste juste là, en fonction de mes sensibilités à moi, je trouve que c'est une bonne idée de conserver un accès à l'île d'Orléans qui est le pont. D'ailleurs, le ministre Bonnardel semblait dire que ça réduisait les chances de retarder les travaux du pont. Dans le sens où, d'avoir un projet en parallèle qui est le troisième lien routier entre la Rive-Sud et la Rive-Nord et la réfection du pont de l'île d'Orléans, ça faisait en sorte, selon lui, que le pont de l'île se réaliserait plus rapidement. Ça allait pas retarder la réfection du pont de l'île. Donc, tant mieux.
Oui, puis je partage ta satisfaction par rapport à la décision de ne pas passer sur l'île d'Orléans. Par contre, je dois t'avouer que j'ai beaucoup de questions concernant ce projet-là. Parce qu'au fond, on a présenté le tracé. On savait que c'était à l'est. On savait déjà pas mal que ça serait dans ce coin-là. Vrai ou faux? Je veux dire, on avait dit que c'était à l'est.
À l'est, c'était pas de l'autre côté de l'île d'Orléans.
Non.
Ça a jamais été dans le milieu.
Ni à Rimouski.
Puis il faut aussi que tu regardes le réseau routier fait comment, là.
Bon, il y a une logique.
Il y a pas mille ans. Il fallait pas mal que ça soit dans la côte, au bout de la 40. Puis là, ben, tu traces une ligne à peu près droite. Là, je veux dire, c'est quoi l'autre principale artère dans cette orientation-là? C'est la route l'Allemand.
Exact. Toi, tu connais mieux la Rive-Sud que moi. Je vais t'avouer que moi, la Rive-Sud, je suis pas hyper familier avec, à part le Quai Paquette, là, où je vais aller boire en fin de semaine. Mais t'arrives où à peu près sur la Rive-Sud? Tu suis la route l'Allemand. Mettons, là, elle va partir fin de la 40, t'arrives sur la Rive-Sud. T'arrives dans quel coin à peu près?
T'arrives pas mal au bout de Lévis. Puis dépasser le champ de l'autre côté, c'est Beaumont. Là. Ça fait que t'es vraiment à la limite entre Lévis puis le tout début de Bellechasse. Là.
Fait que c'est un tunnel champêtre. Là. Il va arriver un peu dans... Non, mais c'est vrai, il va arriver un peu dans les Boonies. Là. Il va arriver très loin du centre-ville de Lévis, right?
Ben, t'es pas proche du centre-ville de Lévis, mais d'un autre côté, c'est la sortie, tout de suite après la sortie centre-ville à Lévis. Là, sur l'autoroute 20, quand t'arrives en direction est, là, ben t'as la sortie centre-ville qui arrive sur Kennedy. Qui est pas mal le centre-ville de Lévis, là. Lévis, là, excluant Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Romuald, Charny et compagnie. Puis si tu passes tout droit sur cette sortie-là, t'arrives à Monseigneur Bourgette.
Okay.
Puis Monseigneur Bourgette, en théorie, c'est ça. Ben, puis là, j'essaye de penser. Monseigneur Bourgette, puis Route l'Allemand. Route l'Allemand, es-tu après Monseigneur Bourgette, là? Je t'avoue que.
Mais tu sais, 226, si vous êtes de vos connaissances géographiques,
je sais que Route l'Allemand. Ouais. Sans aucun doute, je sais que Route l'Allemand, c'est pas mal la limite, la fin de Lévis. Là. C'est au bout aussi de la rue Saint-Joseph qui longe tout ce qui est Lauzon, Bienville et compagnie, puis qui devient Saint-Laurent, puis qui se rend jusqu'au traversier.
Okay.
Fait que la route qui longe là, la côte, si tu veux, là, au bout de ça, ça m'a donné, t'arrives à l'intersection entre Saint-Joseph puis la 132, là, qui est boulevard de la Rive-Sud, c'est-à-dire Guillaume Couture, toujours appelé ça le boulevard de la Rive-Sud. Puis dépasser ça, c'est Beaumont.
Tu vois, Marie-France nous écrit, c'est très près du cégep pour la route l'Allemand. Là. Ce serait pas loin du cégep.
Le cégep est sur Monseigneur Bourgette.
Secteur Lauzon.
Donc, la sortie Monseigneur Bourgette, c'est la rue du cégep.
OK.
Puis plus loin que ça, t'as la route l'Allemand.
Bon, OK.
Qui est juste dépassé le parc industriel.
Déjà, la pertinence proche d'un cégep, j'haïs pas ça. Moi, j'essaie juste de me figurer un peu, tu sais, parce que pendant la conférence de presse, on sera en mesure de vous faire entendre des extraits plus tard dans l'émission un peu, là. Mais on n'a pas vraiment d'impact sur le trafic encore. Parce que là, moi, j'essaie de me figurer comment les gens qui vont partir du centre-ville de Lévis, par exemple, dans le fond, tous ces gens-là qui vont travailler dans le centre-ville de Québec maintenant, désormais, ben on dit désormais, en tout cas, dans quelques années, là, quand ça va être complété, parce qu'on s'entend qu'il y a encore loin de la coupe aux lièvres, comme dirait Jean Perron.
Oui.
Mais ces gens-là vont donc partir vers l'est du centre-ville, vont prendre la sortie, passer le centre-ville, puis vont s'engager dans le tunnel
en fait,
à ce moment-là.
Pour être clair, là, je pense que c'est la deuxième sortie après le centre-ville parce que la sortie tout après, c'est Monseigneur Bourgette, donc la rue du Cégep, puis l'autre après, c'est l'Allemand. Donc, t'es encore un petit peu plus loin là, que le centre-ville, mais ça reste pas mal plus proche, par exemple, du Cégep, du parc industriel où il y a des gens qui travaillent aussi, que évidemment les ponts de l'autre côté, puis que parce que la sortie centre-ville...
Bon, les sorties, là. Tu vois, 325, c'est centre-ville. 326, c'est Monseigneur Bourget. 327, c'est Route-l'Allemand. Puis après ça, c'est Beaumont. OK.
Exactement. Puis, il y a encore plusieurs questions qui restent sans réponse dans le sens où le ministre a dit en point de presse, le but, c'est de réduire le trafic, c'est de favoriser le transport en commun, puis c'est d'améliorer le transport de personnes et de marchandises. D'accord. Ensuite, on complète une espèce d'autoroute périphérique, si vous voulez, là. Donc, il y a les deux liens à l'ouest, Pont-de-Québec, Pont-la-Porte, puis à l'est, tu vas avoir un troisième lien. Au nord, t'as la 40, au sud, t'as la 20. Donc, ça devient une espèce de périphérique, si tu veux. Mais on sait rien pour l'instant sur les coûts. Les journalistes ont demandé pourquoi un tunnel plus qu'un pont, par exemple. Puis la réponse, c'était, ben, on a étudié la question, puis c'était la meilleure option.
Mais étudier où, quand, comment?
On se retrouve qu'être un petit peu obligé de croire les paroles du ministre. Là, pas que je le prétends malhonnête, mais moi, j'aurais aimé ça quand même avoir le détail.
Puis le creusage dans le roc à cet endroit-là, on l'avait-tu étudié? Il y avait une étude à un moment donné, tu te souviens, sur les. Me semble, c'était-tu l'étude Massicotte il y a une couple d'années, là, justement, sur la possibilité de creuser là. Tu sais, ça, c'est, j'essaie juste de me souvenir.
Il semblerait qu'elle a été faite, cette étude-là.
Ouais, sur le. Que ça peut, on peut creuser là, puis il n'y a pas de problème. C'est là que le roc est le plus facile à creuser, parce que là, faire un tunnel, ça implique beaucoup de choses. Il y a des technologies qui existent, là, en passant en Europe. Là, si vous êtes déjà allé en Europe, quand vous passez dans une route, des fois, il y a des tunnels qui font une montagne au complet, là. Ils savent comment faire.
Ouais,
fait qu'il existe ça prendra pas des. Ce sera pas des pépines, ce sera pas avec des pelles là, qu'on va conduire ça, des espèces de machines qui drillent à l'intérieur du roc. Je me demande juste si c'est le bon endroit aussi géologiquement parlant, puis là, je connais absolument rien là-dedans. Fait que si vous avez souvenir un peu de si c'était le bon endroit avec cette étude-là, là, rafraîchissez-nous la mémoire un petit peu, puis dites-nous aussi ce que vous en pensez. Si vous habitez dans le coin, dans le secteur, le Beaumont...
Pensez quoi du choix d'itinéraire? Ouais. Vous pensez quoi du choix d'itinéraire? Moi, honnêtement, ça m'apparaît l'itinéraire le plus logique, dans le sens où... Puis je me prononce pas trop sur la forme, le tunnel ou le pont, là, honnêtement, ça dépasse de loin mes compétences, exact. Mais je connais assez bien la rive sud de ce côté-là, sur la rive nord aussi. Il y a la question du trafic dans Beauport qui est une question fort importante, là. Même ça pourrait s'étendre au-delà de Beauport, mais même c'est à la côte de Beaupré, puis dans ce secteur-là. Ça, c'est une question à laquelle le ministre n'a pas répondu. Parce que les journalistes ont demandé s'il y avait une idée de l'impact sur le trafic, parce que le ministre prétend que ça va retirer, ben, que ça va alléger le trafic aux heures de pointe. D'accord? Là, il y a des études qui disent que, puis il y a beaucoup d'études même qui disent que ça va effectivement alléger le trafic, mais dans un horizon de 5 ans, à la suite de quoi il y a de plus en plus de voitures qui vont passer par là, justement parce qu'il n'y a pas de trafic. Donc, c'est quoi l'impact que les études qui ont été commandées par le ministère des Transports? C'est quoi l'impact sur le trafic selon ces études-là?
Ben, les urbanistes vont te répondre inévitablement que partout à travers le monde, à chaque fois qu'on a construit un nouveau lien, systématiquement, dans les endroits où est-ce qu'il n'y avait pas grand maison puis pas grand trafic, au bout de quelques années, il y avait éventuellement des maisons qui étaient construites. Donc, moi, la première question qui me vient en tête, c'est, mettons, Beaumont, il n'y a pas grand-chose là présentement. Est-ce que là, les promoteurs immobiliers vont être tentés de construire en grande quantité? Parce que.
C'est sûr.
Moi, si je suis un jeune acheteur, là, ça devient intéressant, mais c'est à Beaumont, là. Hey, ça va être moins cher qu'à Québec, puis je vais être à côté d'un lien direct pour me rendre pas loin du centre-ville.
Les gens qui ont des terrains puis des terres à Beaumont en ce moment, aujourd'hui, ça a augmenté de valeur, c'est sûr.
Ah oui, ça fête, ça
l'affaire,
papier champagne, guys.
Mais l'affaire, c'est que... puis il y a des gens d'ailleurs qui se questionnent, un auditeur qui nous dit, moi, je viens de Beauport, mais questionne bien gros sur le trafic, sur la valeur de ma maison. Ben, dans un endroit où tout d'un coup, il y aurait énormément de trafic, c'est clair que c'est pas écœurant, tu sais, pour le prix de la valeur de la maison, mais d'être à proximité d'un pont, annonce que en théorie ça fait augmenter la valeur de la maison bien plus que s'il y a une augmentation du trafic là.
C'est clair. Mais l'augmentation du trafic va venir avec. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ma principale inquiétude par rapport au troisième lien. C'est pour ça que il va falloir des assurances. Puis c'est pour ça que je trouve ça un peu déplorable que M. Bonnardel n'ait pas accepté de nous parler en entrevue ce midi. Ben, j'avais beaucoup beaucoup de questions pour lui. Et parce qu'il va falloir réglementer. C'est si on veut s'assurer justement qu'il n'y ait pas une augmentation de trafic trop importante dans cet endroit-là. Ça veut dire que pour ce qui est de la construction, pour ce qui est des permis de construction, évidemment que c'est de réglementation municipale en grande partie, là, mais il va falloir mettre un frein à certaines affaires. Parce que si on laisse pousser ça en innocent, comme on fait à Le Bourgneuf présentement, là, Le Bourgneuf n'a encore des tours de condo neufs, puis là, ça s'en vient à Val-Bélair. Moi, je suis dans le coin de Val-Bélair, puis c'est des belles tours à condos qui sont en train de pousser, puis déjà, le trafic est un peu surchargé sur Henri IV. Là. Le problème, c'est qu'on a la propension, et c'est tout à fait normal, c'est humain. Là. Quand il y a des nouvelles routes, il y a des nouvelles personnes qui s'installent. Fait qu'il va falloir contrôler ça avec une main de fer, parce que sinon, le troisième lien, il va régler des problèmes pendant 3 ans, puis après ça, on va être pogné dans un périphérique bloqué à grandeur. C'est ça qui me fait peur un peu.
Mais il y a quelque chose qui m'a surpris aussi, c'est le peu de détails qu'on a sur le nombre de voies et comment on va gérer le transport en commun là-dessus? Parce que le ministre a été clair, il a dit pas de transport en commun, pas de troisième lien. Donc, c'est une condition sine qua non. Il faut absolument qu'il y ait du transport en commun qui passe par ce troisième lien-là. Or, moi, je suis aussi de ceux qui disent que l'intérêt d'avoir une autoroute périphérique, puis peut-être même, possiblement même la façon de contourner ce développement-là hâtif, puis le développement un peu exacerbé qui fera en sorte que, ben. Ouais. Au bout de 5 ans, t'as des voitures à côté puis il y a du trafic. C'est développé en ayant déjà du transport en commun qui passe par là. Sauf que c'est bien beau un autobus là, qui passe sous le troisième lien, là. Mais il faut que ce soit efficace aussi du transport en commun. C'est pas juste faire passer. Tu sais, il y en a des circuits que vous voyez probablement en ville qui sont tout le temps vides, puis tu sais pas trop où ce qu'ils vont, puis que tu te retrouves à une place dans la ville où tu te dis, ah, je prendrais l'autobus pour partir d'ici, puis ah ben l'autobus est dans 1h20. Il m'amène quelque part où j'ai pas besoin d'aller. Tu sais,
ouais.
Le transport en commun, c'est pas tout de mettre des autobus, là. Là, on a un projet de réseau structurant qui est fort ambitieux. J'ouvre pas la boîte du métro. Moi, la gang du métro, mais c'est pas ça mon point. Mon point, c'est que là, il va y avoir des autobus articulés, des trambus, puis un tramway. Il doit avoir moyen de faire quelque chose d'efficace, là.
J'ose espérer. Il y a quelqu'un qui nous écrit Beaumont, pas grand-chose. En hiver, tempête, on peut pas rentrer à Beaumont. Dans Bellechasse, on continue un bout. Venez faire un tour, genre de Québec, sur la Rive-Sud, vous allez être surpris. Ouais, vous avez de me le dire, effectivement, je sors pas assez sur la Rive-Sud, là.
Non, mais le point, c'est que moi, je connais très bien le secteur, Beaumont, Saint-Michel. Puis, honnêtement, c'est le point, c'est juste que c'est pas développé comme. Pensez à.
C'est pas urbain encore.
Les gens de la Rive-Sud, là, d'un 10. 15 dernières années, 20 dernières années, à peine, là. C'est un petit horizon de développement, là, 15 ans, 20 ans. Ce qui se passe à la tête des ponts, c'est complètement fou, là. Des méga-centres, le Costco, les grosses affaires, tu sais, c'est rendu fou, là. C'est, avant, il n'y avait pas grand-chose, là. Pas grand-chose, ça, c'est pas péjoratif.
C'est pas qu'il n'y a pas d'habitants, c'est parce qu'il y a moins de services.
Puis il y a aussi beaucoup de terres agricoles, là. Est-ce qu'ils vont dézoner toutes les terres agricoles? C'est complexe, là, ce qui va se passer dans Beaumont.
Puis l'autre affaire aussi, puis ça, c'est une sacrée bonne observation. T'sais, un des arguments pour le troisième lien, c'est le transport lourd. Passer les camions. Puis il y a quelqu'un qui remarque très justement que dans un tunnel, en théorie, pas de camions avec des matières dangereuses. Donc les trucs de Valero vont devoir encore faire le grand tour. Et c'est un peu la même chose pour les camions qui vont être en provenance. Parce que ça je comprends, mettons, les camionneurs là, qui viennent de l'Est du Québec puis qui sont obligés de faire le grand circuit pour se rendre au pont puis revenir. Ça dépend ce qu'ils vont transporter. Dans un tunnel, est-ce qu'on va pouvoir transporter n'importe quoi?
Ouais, mais c'est ça. L'autre affaire, moi, ma crainte d'un tunnel, puis chaque mode a ses avantages, ses inconvénients. Vous me direz, là, quand il faut déglacer le pont La Porte, là, j'annonce que c'est compliqué en Montadi. On va être content d'avoir un tunnel à l'autre bout où il s'accumule pas de glace. Mais quand il va y avoir une fuite à un moment donné, puis qu'il va y avoir un simple accident, juste un accrochage, là, prenez l'exemple du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine à Montréal, là.
Ouais.
Quand le tunnel est fermé, là, il est fermé pendant une demi-journée.
C'est clair.
Tu sais, c'est quand il y a quelque chose qui se passe dans un tunnel, là, c'est du trouble pour de vrai, là.
Puis une autre affaire qu'on sait pas, le nombre de voies, la largeur, qu'est-ce qui va pouvoir passer là-dedans. T'as parlé du transport en commun. Regarde, il y a quelqu'un qui nous écrit en lien avec le tramway. La carte du tramway est complètement incompatible avec le troisième lien tel que présenté. C'est un fait.
Pour l'instant.
Il se rend pas là.
Pour l'instant.
Mais là, regarde, on a donné le feu vert. Tu dis pour l'instant, mais Bonnardel puis le gouvernement Legault ont donné le feu vert complet à la bombe suite au financement, au bouclage du financement. Allez-y avec votre tracé. Il y a personne qui a dit à la CAP, attention, oui, vous avez un financement, mais il faut revoir en ligne le troisième lien. Pour l'instant, les deux projets s'arriment pas. Et pourtant...
C'était une condition, on est en campagne.
Oui.
En campagne électorale, il avait dit que c'était impératif que le réseau structurant de transport en commun passe par Lévis. Or, là, ce que j'ai semblé comprendre, là... Et je sais que des fois, on peut avoir l'air de passer d'un projet à un autre, mais pour moi, ces deux projets-là, ils vont ensemble. Pour moi, ça a toujours été extrêmement important que ces deux projets-là fonctionnent ensemble. Or, la Société de transport de Lévis puis le réseau de transport de la capitale à Québec se parlent à peu près pas, là. Oubliez ça, ça travaille pas ensemble, là. Alors là, ce que j'ai cru comprendre, c'est que dans le cadre du réseau structurant, les bus de Lévis qui passent par le pont de Québec actuellement... Là, s'arrêterait dans une espèce de parc au bus à la tête des ponts. Ça, je sais pas si c'est dans le bout de l'aquarium, là. Tu sais, il y a des terrains, là, des grands stationnements à cet endroit-là. Je sais pas si c'est là exactement, mais le maire Lehouillier semblait dire, je lisais ça dans le Journal de Québec, là, que il y aura donc un grand parc au bus pour faire des transferts. Donc, les bus de Lévis, en théorie, iraient pas au-delà de ça. Ça veut dire que tout ce qui est, par exemple, étudiant à l'université, bientôt Cégep, qui vit à Lévis, va faire son heure d'autobus. Sont 50 minutes au lieu d'une heure, là, puis une heure, ça se rendait au cégep. Là, il va faire 50 minutes.
Ouais.
Là, il va attendre son autobus 5 minutes, ça fait 55. Là, il va embarquer, puis il va repartir pour une run pour se rendre jusqu'au cégep en 15-20 minutes. Donc, ça va être encore plus long, plus un transfert pour tout ce qui s'appelle étudiant qui vit à Lévis, mais qui étudie à Québec. C'est une catastrophe. Le but du réseau structurant, c'est de rendre les déplacements plus simples, confortables, et rapide.
Oh, on est loin de là. On est très, très loin de là. Puis c'est indéniable ce que tu dis, parce que dans les deux cas, on parle de développement régional. On a assez tapé sur le clou du troisième lien, qui est pas seulement pour Québec, mais aussi pour l'Est du Québec, pour la Rive-Sud, pour tout le monde un peu. Et le réseau de transport structurant devrait être vu comme ça. Et si tu veux du transfert modal en transport en commun, tu l'as très bien dit, il faut s'assurer que ce soit plus confortable, plus rapide, et qu'on soit capable, justement, de convaincre des gens de lâcher leur automobile. Or, c'est pas le cas présentement. Et je comprends les gens qui, présentement, au 25226, disent « Hey, arrêtez de chialer, on a le troisième lien. » Non, mais c'est pas tout à fait ça qu'on fait. C'est que un peu comme hier, on le mentionnait, là, le tramway, il a l'air fait, il va avoir un tramway. Mais là, à cette heure, c'est comme la même chose que le troisième lien. Maintenant qu'on a l'assurance avec un tracé, là, ça se concrétise de plus en plus. Se battre contre le troisième lien, ça semble de plus en plus illusoire pour les opposants. Mais assurons-nous de l'optimiser, puis de poser les bonnes questions. Puis pour le moment, ça donne qu'un gars qui s'appelle François Bonnardel, qui est ministre des Transports, puis quand tu lui demandes de venir s'asseoir en studio pour nous éclaircir un petit peu le projet, puis nous donner des éléments de réponse supplémentaires.
Mais c'est parce qu'il les a pas.
Dis non. Pourquoi il est sorti aujourd'hui, tu comprends?
C'est ça la question. Je suis pas sûr de comprendre pourquoi ils sont sortis avec le tracé aujourd'hui. Quoi qu'en soit, est-ce correct? C'est la confirmation de quelque chose. Mais on n'aura pas de détails avant, quasiment dans un an, là. C'est tout ce qui concerne là le nombre de voies, les études sur l'impact sur le trafic, même des projections de coûts qui, vous le savez, seront pas respectées parce qu'à cette étape-ci du projet, on s'entend, là, tu sais, on se plaint souvent des dépassements de coûts, mais tu sais, mets-toi à la place d'une compagnie d'ingénierie qui va essayer d'estimer un tel projet. C'est sûr, c'est des estimations. À un moment donné, là, faut pas non plus charrier. Mm. Puis dernier point, que celui-là, honnêtement, je t'avoue que ça me permet de respirer, c'est l'enjeu de la sécurité, parce que ça a toujours été un argument aussi en faveur du troisième lien. L'enjeu de la sécurité, puis l'enjeu, tu sais, il y a un accident sur un des ponts, ça bloque quatre voies, on est fourré, là. Tu sais, il y a de la glace qui tombe du top du pont, il faut déglacer le pont.
On l'a vu.
Il reste juste un pont sur deux, ça circule plus, là. Là, les gens sont pris d'un bord ou pris de l'autre, là. On l'a vu cet hiver. Le pont de Québec est en décrépitude, personne semble vouloir s'en occuper. Le CN puis les gouvernements se parlent à peu près pas, ça va mal. Donc, cette quatrième possibilité-là, parce que le traversier, on s'entend que le traversier s'adresse quand même à une petite part de la population, là, à part les gens qui vivent vraiment comme dans, qui partent du Vieux-Lévis pour se rendre sur la colline, là, on s'entend que le traversier, c'est pas mal, c'est ça. Là. L'enjeu de la sécurité, lui, moi, ça, pour ça, je trouve ça encourageant. Je me dis, ben, s'il y a un pont qui atteint le niveau de décrépitude du pont de l'île d'Orléans, par exemple, là, puis ce serait le pont de Québec, évidemment, ben, il y aura une autre option.
Absolument. Et pour les gens de la Rive-Sud, il y en a quelques-uns qui se réjouissent par texto. Ben oui, je suis content pour vous. Là, les gens, quelqu'un qui me dit, gars, moi, je fais à tous les matins Beaumont Complexe G. Écoute, pour vous, c'est une merveilleuse nouvelle.
Ouais.
Pour la région, je le souhaite. Moi, je suis un grand sceptique. C'est pas compliqué. Moi, c'est pour n'importe quoi. Là. Que ce soit le troisième lien ou quoi que ce soit, moi, c'est montrez-moi des preuves. Je suis un Saint-Thomas. Alors, moi, je veux que le ministre Bonnardel, dans les prochains jours, vienne nous assurer que ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est pas juste un show de boucan pour donner un anane aux gens avant qu'ils aillent au camping ou sur la route pendant les vacances, mais que c'est quelque chose de concret avec des études pour l'appuyer et des résultats, des projections pour nous rassurer.
Puis je pense que moi, je me suis trop énervé. Il y a des gens qui trouvent qu'on va chercher le négatif dans une nouvelle positive. Moi, je me suis tellement énervé ce matin quand ils ont dit « Hey, une grosse annonce du troisième lien. » Là, on se dit « Ah, c'est vrai, il avait dit qu'il nommerait pas mal le tracé dans le bout de la mi-juin, il avait annoncé ça. » Je me dis « Ah, OK, yes, on va savoir plein d'affaires. » Ben, finalement, on sait juste le tracé. En soi, pour les gens qui sont en faveur du projet, c'est une très bonne nouvelle.
Exact.
Il y a une étape de plus de franchie. Mais c'est la nouvelle pour laquelle on avait déjà le plus d'informations là à la base.
Il manque de la moutarde dans le roteux. Là.
C'est ça. On prend une première pause, on revient, ce sera pas long.
FM 93, ce midi, de retour après la pause. La chronique de Pierre-Yves Maxwin dans Bouchard en parle.
Lundi au vendredi, 7h25.
Au FM 93.
Conduire n'a jamais été si inspirant qu'au volant d'un nouveau véhicule Mazda. Et pour vous le démontrer, nous vous invitons à venir faire un essai routier chez vos concessionnaires Mazda. Surtout que certains modèles vous sont offerts à 0% au financement à l'achat, avec jusqu'à 1 000 $ d'incitatif et la seule garantie à kilométrage illimité au pays. C'est le moment idéal pour en profiter. L'événement Conduire n'a jamais été si inspirant de Mazda se termine le 2 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails chez votre concessionnaire Mazda.
Breaking news. On nous annonce un été 2019 chaud et collant. Les experts nous disent de nous procurer une clim maintenant. Et moi, je vous dis, allez donc chez Enviro-Confort.
Et non, il n'est pas encore trop tard pour profiter de la climatisation cet été au prix les plus avantageux sur le marché. Grâce à l'expert Carrier et Enviro-Confort, climatisez votre habitation pour aussi peu que 35 $ par mois. Cette offre de Carrier est seulement offerte chez Enviro-Confort et pour un temps limité. Préparez-vous pour un été chaud maintenant.
Visitez enviroconfort.com.
Ce que les bananes essaient de vous dire, c'est que le casino de Charlevoix fête son 25e anniversaire. Avec des animations, une foule de lots à attraper dans la cabine à dollars et un spectacle anniversaire du merveilleux Grégory Charles. Oui, oui, elles ont dit merveilleux. Oui! Les 25 ans du Casino de Charlevoix. C'est les 28, 29 et 30 juin. 18 ans et plus, détails sur casinodecharlevoix.ca.
Pour la fête nationale, célébrons un Québec vert et responsable. Consigne Action vous rappelle de rapporter vos canettes et bouteilles consignées chez Le Marchand. Elles seront recyclées à 100%.
Nissan, le bling-bling puis le fla-fla, c'est pas mon genre.
Ah ben, vous allez aimer la Micra S à boîte manuelle. Meilleur achat de sa catégorie selon le guide de l'auto 2019.
Ça dépend, c'est combien?
En location à 39 $ par semaine avec zéro comptant. C'est comme payer 170 $ par mois pendant 60 mois.
Ah, pas cher, mais es-tu fiable?
Très. En plus, on s'occupe de votre changement d'huile sans frais pendant 3 ans.
Ben là, des fla-fla comme ça, j'aille pas ça.
La Micromania prend fin le 2 juillet. Sur approbation de crédit, valeur au détail de 12 173 $. Détails et conditions chez votre concessionnaire Nissan.
Les stations Cogeco présentent le succès économique du jour.
Le Mouvement des Jardins et le lauréat Grande Entreprise de la catégorie Formation et Développement de la main-d'œuvre CN du 39e concours Les Mercuriades de la FCCQ. Premier groupe financier coopératif au Canada, Desjardins a lancé un programme de développement des compétences à l'intention des gestionnaires de première ligne, un parcours aligné sur l'évolution culturelle du mouvement.
Le succès économique du jour, une initiative de la Fédération des chambres de commerce du Québec et Cogeco Média.
Quelle est la capitale de l'Ouzbékistan? Combien font 2 plus 2 divisé par la racine carrée de 433? Quelle est la nature de l'énergie sombre qui conduit l'accélération cosmique? Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches?
On ne peut pas tout savoir. Comme un jeune qui commence à travailler et qui ne connaît pas encore tous les dangers présents dans son milieu de travail. Employeur, rappelez-vous de former et de superviser vos travailleurs. Un message de la CNESST.
Yabadabadabadou, l'été s'en vient. Ah, oh, mais vous portez des orthèses. Pas de problème, passez voir les orthésistes du Pied de Québec. Ils vont vous fabriquer des orthèses plantaires, incluant une sandale Mephisto. Et vous achetez du fabricant, donc c'est moins cher. Les orthésistes du Pied de Québec, 375 Soumande.
N'ayez plus peur de dépasser vos données. Visitez une boutique TELUS et obtenez des données mobiles à volonté à partir de seulement $75 par mois. Avec certains forfaits, les conditions s'appliquent.
Et si vos vacances commençaient au moment où vous prenez place derrière le volant? Les Volvo XC60 et XC90 vous offrent des systèmes de sécurité novateurs et un habitacle scandinave au design raffiné qui vous assure confort et quiétude, peu importe votre destination. Pendant l'événement signature de Volvo, louez ou financez un XC60 ou un XC90 2019 à partir de 2,9% et économisez jusqu'à $2,500.
Détails chez Volvo de Québec ou sur volvodequebec.com.
Doyon Després a demandé à Philippe comment il se sentait après l'achat de son barbecue.
Je renais de mes cendres, tel un phénix, et j'accomplis des merveilles, des chefs-d'œuvre, des miracles.
Doyon Després vous équipe comme un pro, que vous soyez chef ou pas.
C'est l'événement tout équipé chez Doyon Després. Jusqu'au 1er juillet, faites l'achat d'un barbecue de marque Saber et obtenez plus de $300 en équipement. De la rôtissoire jusqu'au support à côte levée. Dépêchez-vous d'en profiter. Doyon Després, rue du Marais et doyondespres.com.
Le FM 93 est extrêmement fier de souligner les 50 ans d'une entreprise de Québec et j'ai nommé Normandin. Tout a vu le jour en 1969 avec une promesse toute simple, offrir un menu de première qualité avec une ambiance chaleureuse. Eh bien, 50 ans plus tard, c'est 41 restaurants et 22 M-bars qui continuent de perpétuer cette promesse. Au nom du FM 93, j'aimerais féliciter le dévouement et l'implication des 2700 employés qui contribuent chaque jour à ce succès. Félicitations à Normandin qui est à nos côtés depuis 50 ans.
Oubliez les « Papa, ton pouce est devant la caméra » et les
« Hein, pas clair ta photo, Michel! »
Cet été, Village Vacances Valcartier, faut le vivre. Visitez valcartier.com pour découvrir nos promotions.
Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair, vos trois concessionnaires de la Force Kia, célèbrent leurs 20 ans en vous offrant d'épargner 40 cents du litre d'essence chez Esso Immobile et on rachète votre bail. Passez voir la compacte de l'année, la Forte 2019, garantie 5 ans, 100 000 km, ouvert le samedi.
FM 93, ce midi.
On a appris hier le triste décès de l'entomologiste Georges Brossard, qui est décédé à 79 ans. Il était atteint d'un cancer du poumon. Georges Brossard était connu pour sa personnalité flamboyante, mais aussi pour l'apport qu'il a fait pour la vulgarisation. C'était vraiment un vulgarisateur hors pair. Dans le monde qui est assez fascinant que le monde des insectes.
Et qu'on connaît pas vraiment. Hein. Entre toi et moi, les bébites, à part des écrasés quand ils rentrent chez nous, on les connaît pas bien.
Exactement. Et moi, j'ai pas connu M. Brossard personnellement. Mais mon prochain invité l'a connu. Il s'agit d'Harold Lévy, qui est spécialiste en gestion parasitaire. Bonjour, M. Lévy.
Bonjour, bonjour.
Racontez-nous comment vous avez rencontré Georges Brossard.
Ah, ben, je rencontre Georges
régulièrement dans les salons des insectes, dans tout. Finalement, on a une passion commune qui est les insectes. Puis c'est dans ces organisations-là que je le rencontre. Je l'ai rencontré aussi personnellement parce que moi, je viens de Boucherville, puis lui, il vient de juste à côté. Puis quand j'étais petit gars, il venait chez nous. Mais je l'ai rencontré 35 ans après, là, je veux dire, le temps. Là. Et là, il était entomologiste, puis ensemble, on a fait une coupe de... On a rêvé un peu.
Ah oui, vous avez rêvé ensemble?
Ben, on a rêvé un peu parce que c'est un passionné, M. Brassard. Si j'essayais de décrire Georges, je dirais que c'est un bonhomme qui a toujours été au bout de ses rêves. Mais véritablement, ce qu'il est, c'est ce qu'il décrit le mieux. Puis il y a une passion pour les insectes. Il a compris l'importance des insectes et il a voulu le faire savoir aux gens. Georges Brassard, sa passion, c'était pas juste les insectes, c'était d'essayer de faire comprendre aux gens ce que c'était des insectes. La phrase que monsieur a dit il y a deux minutes, je la trouve extraordinaire, c'est pour nous autres, c'est des pépites à écraser. Georges Brassard a fait du monde des insectes, a mis dans la tête des gens que le monde des insectes, c'est pas juste ça, que c'est important, que s'il était pas là, on serait pas là. C'est aussi important que ça.
Ah ouais?
Georges a su faire ça comme personne n'a réussi à le faire. Moi, j'ai vu Georges dans des salons des insectes à 77 ans monter debout sur une table pour avec un insecte dans les mains pour montrer aux jeunes qui étaient au salon c'était quoi cet insecte-là, puis l'expliquer, etc. Je vous jure que le moment où il était sur la table, il n'avait pas 77 ans, je pense qu'il en avait 30. Quand il y a des gens sur la table, il y avait 25 ans de moins, je sais pas, moi j'aurais eu 25 ans de plus.
Il faut avoir toute une personnalité d'ailleurs pour avoir un parcours comme celui de M. Brassard qui était notaire, qui a fait de l'argent dans l'immobilier, qui prend sa retraite assez jeune pour finalement, de manière autodidacte, qui a appris ça de lui-même en lisant des livres, apprendre à découvrir donc le monde de l'entomologie, puis ensuite décider d'en faire là... Une vocation, puis d'aller essayer d'enseigner ça au plus grand nombre, ça prend toute une personnalité.
C'est un battant, et c'est un gars qui avait un plaisir fou à transmettre sa passion aux autres. Un élément très, pas très important, mais qui pour moi a une importance incroyable, il y a un petit gars qui vient à mon bureau régulièrement, parce qu'il veut de l'information sur des insectes, savoir comment organiser ses collections, etc. Et je l'ai vu il y a deux semaines, puis il me dit, Georges est malade. Tu parles de qui? De Georges Brassard? Je dis, oui, Georges est malade. Pourquoi tu dis qu'il est malade? Il dit, je l'ai appelé, il m'a pas rappelé.
Ah ouais.
C'est ça, Georges. Georges, le petit gars l'appelait pour y parler des insectes parce qu'il voulait de l'information. Georges le rappelait. Et à un point tel que le petit gars, il me dit, il est malade, il m'a pas rappelé. J'ai trouvé ça très beau. Ouais. C'était Georges.
Ouais, clair.
Et je l'ai vu, je sais pas combien de fois, faire ce genre de geste-là, que d'aller devant les jeunes qui étaient là pour lui, puis être généreux, prendre tout le temps que ça prenait pour le faire. Mais il était heureux quand il avait réussi à passer sa passion à ces jeunes-là. C'était plus important pour lui que sa passion même. Je sais pas si vous voyez.
Le communiquer sa passion plutôt que vivre sa passion seule. Je comprends très bien.
Oui.
Georges Brassard. C'est quelqu'un aussi, là, vous parlez des jeunes, il donnait des conférences gratuitement dans les écoles. C'est pas croyable. Il a passé des décennies à donner gratuitement de son temps. C'est à ce point-là qu'il était passionné, Georges?
J'ai plein de témoignages de gens qui, passant devant la maison de Georges Brassard, qui était très populaire là, à Saint-Bruno, dans le parc, sa maison, on aurait dit une maison des Strums, c'est une maison extraordinaire. Et quand il passait devant la maison de Georges, et que les parents montraient que c'était la maison de M. Brassard, quelque chose de même, si Georges Brassard était dans la cour, quelque chose de même, il s'en allait les voir, puis il les emmenait leur montrer sa collection.
Il semblait avoir... Oui, mais il semblait avoir une fascination particulière, d'ailleurs, pour les papillons. Il a déjà dit des trucs, des phrases de toute beauté, comme les papillons, c'est comme des fées qui amènent les rêves des enfants avec eux. Est-ce qu'on sait pourquoi il était si passionné que ça par les papillons?
C'est un poète dans l'âme. Il l'était par tous les insectes. Une phrase qui me dit souvent, qui est vraiment sa façon de voir, il disait, les insectes sont des êtres incompris. On les comprend pas. C'est des êtres extrêmement importants, mais on comprend pas leur importance. Puis, en plus, c'est un visionnaire. Hein? Moi, il y a 25 ans, je me souviens d'une conversation avec Georges Brassard où il me parlait qu'il y avait une espèce de projet complètement fou dans la tête à l'époque qui était de partir une usine d'insectes pour nourrir le monde.
Alors
il croyait à ça il y a 25 ans. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui est sur la table.
Une réalité, oui. Puis M. Brossard a même écrit lui-même, je pense, ou a collaboré à un livre de recettes d'insectes à un moment donné dans sa carrière.
Oui. Oui, il m'a fait manger ses maudites sauterelles une couple de fois. Je veux la petite patte entre les dents, j'ai bien de la misère. mais effectivement, il était un peu fou là-dessus. Il avait une belle folie, je trouve.
Qu'il avait une très belle folie. Comment il vous a influencé, vous, Harold Lévy?
Il m'a donné le goût d'aller plus loin. Moi, j'ai une formation d'entomologiste, mais je suis un autodidacte. J'ai pas de maîtrise et de doctorat. Et Georges Brassard m'a fait avancer dans le sens que j'ai cru que je pourrais aller plus loin quand je l'ai regardé aller, puis je l'ai imité, et quand je le rencontrais, c'était un bonhomme qui était toujours là pour nous encourager, etc. Georges Brassard, je trouvais, sa passion m'a envahi à quelque part. Il m'a fait comprendre l'importance des insectes. Puis cette importance-là est très grande. On serait pas là si les insectes n'étaient pas là. Il y a le docteur Wilson, au début du siècle passé, qui a fait des expériences, il a prouvé hors de tout doute que si les insectes disparaissaient, tout ce qui vit sur Terre, à partir du brin d'herbe, va venir jusqu'à nous, on avait un an et demi d'espérance de survie. Ce qui veut dire que si ça n'avait pas été là, on ne serait pas là. Hein? Georges, ça, il avait compris ça d'une façon incroyable.
Alors qu'on flatte les animaux, on cueille les fleurs, mais on ne touche jamais aux insectes. Il semble même que à la fin de sa vie, M. Brossard, il préférait encore parler de sa passion pour les insectes que de sa santé personnelle, par exemple.
J'ai rencontré Georges à l'hôpital Charles Lemoyne fin avril, début mai, là, juste sur le bord. Là. Il était à l'hôpital, il était malade. Puis moi, je savais pas qu'il avait un cancer. Je savais qu'il était malade. Mais je savais pas ce qu'il avait. Il était très discret là-dessus. Et quand je l'ai vu, bon, je m'en vais le voir, bien sûr, on se connaît, salut, comment ça va? Et j'étais là pour, dans le fond, m'informer pour sa santé, parce que il est à l'hôpital, il doit avoir un problème. Et finalement, il a tout de suite embarqué sur un problème d'insectes. On parlait de la grande faculté d'adaptation des punaises de lit, entre autres. Et on est parti là-dessus et j'ai jamais demandé qu'est-ce qu'il y avait. Puis lui non plus, il m'a jamais demandé pourquoi j'étais là. La seule chose qui a pris toute la place, c'était encore les insectes.
C'est incroyable.
C'était Georges Brassard. C'était un bonhomme. Une expression que j'ai avec tout le respect que j'ai de lui, c'était une maudite belle bébête. C'était vraiment ça. Un truc aussi que je me souviens, il disait souvent un truc, en tout cas moi, on a souvent discuté de ça, il dit le monde sont fous. Il regarde les étoiles en haut, il cherche des civilisations qui vivent dans des planètes à 50 millions d'années, puis à nos pieds, il y a plein de civilisations, pour leur marche à la tête, pour même rien savoir d'eux autres, sauf pour les tuer. Il avait donc raison. C'est vrai qu'on était un peu bêtes.
Merci à Rod Lévy.
On essayait de comprendre ces civilisations-là. Ouais. Elles sont souvent plus intéressantes que ceux qu'on ne pourra jamais découvrir en haut. Hein.
C'est clair. Merci d'avoir pris un peu de votre temps pour nous aujourd'hui, M. Lévy. C'est vraiment franchement inspirant de vous écouter parler de Georges Brassard comme ça.
C'est un moment triste. Pour le Québec, hein. Ce gars-là, il a marqué le Québec. Puis à quelque part, on va se souvenir de lui, je suis sûr.
Ben, c'est clair, surtout avec des choses comme des legs concrets comme l'insectarium, par exemple, mais aussi...
J'espère qu'elle va porter son nom. Si l'insectarium, peut-être le parc Saint-Bruno où il est, ça serait beaucoup plus beau, le parc Georges Brassard. Le coin qu'il a tellement aimé et qui était là tout le temps.
Quelle bonne idée.
Ça serait bien.
Très bonne idée. Puis sachez qu'au moins, la mémoire de M. Brossard passe aussi par des gens comme vous, M. Lévy. Merci d'avoir pris du temps de votre journée pour nous aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
OK, bonne journée. Harold Lévy est spécialiste en gestion parasitaire. Vous aurez compris qu'il a connu personnellement Georges Brossard, l'entomologiste, qui est tristement décédé hier.
J'en sais quelque chose de son entrevue quand il a parlé des insectes qui sont au fond des êtres incompris. Puis c'est un peu le cas d'un gars comme Georges Brossard parce que tu sais que Georges, il était... C'était un cancre à l'école.
Oui.
Vraiment pas bon.
C'était un dernier de classe. Oui. C'était le plus petit de la famille.
Exact.
Dans une famille, en plus, son père avait une terre agricole. Son père était agriculteur. Donc, d'avoir des fils hein, grands, des bonnes charpentes, c'est pratique quand tu as une terre agricole. Georges Brossard était plus
tout
petit, plus chétif.
Maigre, dans son coin, observait les fourmis.
Ouais.
Tu sais, vraiment, là, puis ça m'a... moi, ce qui m'a vraiment fessé hier, c'est de voir, tu sais, un entomologiste, là, tu sais, pas Elton John, pas une rockstar, mais de voir le vent de sympathie, pas juste dans les médias, parce que si vous promenez sur les médias sociaux, vous allez voir qu'il y a bien du monde que Georges Brossard a touché, mais profondément. Une de nos collègues me parlait d'une fille qu'elle connaissait qui avait beaucoup de difficultés d'adaptation à l'école sociale, tout ça, qu'elle avait de la misère aussi pour ses notes, tout ça, mais que ce qui l'a rattaché à son son parcours scolaire, c'est les bibittes, puis comment qu'elle est entrée en contact avec le monde des insectes, c'est via Georges Brassard, tu sais. Ces allumeurs de passion, là, souvent, là, tu remarqueras une affaire. Quand tu vas parler à ça peut être des artistes, ça peut être des gens du monde des affaires, souvent, c'est un peu des marginaux. Pendant leur enfance, pendant leur adolescence, pour être allumeur de passion, je pense qu'il faut être un peu cinglé sur les bords. Puis Georges Brassard, c'était un beau cinglé, puis je pense que c'est normal qu'on pleure un peu. Là.
Ouais. 11h39, on s'arrête pour une pause, on revient.
FM 93, ce midi, de retour après la pause.
Cet été, profitez du plein air en famille avec le Kia Sportage 2020 nouvellement redessiné. Louez un Sportage LX 2020 à traction intégrale à $70 par semaine, 1,99% sur 48 mois et un acompte de $1,995. Ou encore, achetez-le au comptant pour seulement $29,705. De plus, économisez 40 cents le litre d'essence pendant 4 mois ou 500 litres aux stations Esso et mobiles participantes. Plus que jamais, essayez une Kia, c'est l'adopter. Passez chez votre concessionnaire Kia pour tous les détails.
FM 93. Pour être à la fine pointe de l'information, c'est Bouchard en parle.
Monsieur Yves Gilbert qui est avec nous, candidat pour le parti Héritage chrétien. Monsieur Gilbert, bon matin.
Bon matin à tous les auditeurs et merci de me recevoir ce matin. Et ce matin, je voulais prendre le temps de remercier notre Seigneur Dieu d'avoir donné la possibilité ce matin d'avoir l'entrevue ici à la radio.
Mais c'est un petit peu, je trouve pas que c'est un petit peu, je veux pas choquer personne, non, non, mais je trouve pas que c'est un petit peu arriéré comme façon de penser,
oui,
de dire
oui,
parce que...
Oui, vous avez tout à fait raison.
Oui, ah,
oui le, non, non.
Bouchard en parle, du lundi au vendredi, dès 5h30, FM 93. Ça me parle.
Population de Québec, le Festival des bières du monde de Saguenay désire vous informer que le party se passe de l'autre côté du parc du 18 au 21 juillet sur la zone portuaire de Chicoutimi. Un gros festival solide, puissant, non-stop, avec plus de 60 microbrasseries sur place. Le Festival des bières du monde de Saguenay avec Florida, Vulgaire Machin, CCR et en exclusivité au Québec, NoFX. Passeport en vente sur bière avec un S du monde. Le Festival des bières du monde de Saguenay. Vous allez y goûter.
C'est le Festival des saveurs chez Boston Pizza. Osez nos nouveautés comme la pizza poulet barbecue au bourbon et l'hawaïenne royale. En plus, la bouteille de Coors Light est à 4$ tout l'été en restaurant. Boston Pizza, c'est bon d'être ensemble. Appréciez de manière responsable, 18 ans et plus, taxes en sus.
Besoin d'une inspection par caméra? D'excavation autour des fondations? Garco ne fait que ça, et depuis longtemps.
Garco. Spécialiste en endroits restreints depuis 25 ans.
Visitez garco.co. Oui, oui, garco.co.
Le Festibière de Lévis commence ce jeudi. L'art de déguster avec microbrasserie, musique et art sur la magnifique terrasse du Quai Paquette. Nouveau, exposition d'art satellite et brassins exclusifs. Invitation Promutuelle Assurance, Ville de Lévis et FM 93. Infofestibière.com.
C'est-tu encore touché au thermostat?
Allô?
Ah! T'es qui, toi?
C'est moi, la spécialiste Daikin. Saviez-vous que si vous aviez une thermopompe Daikin, votre maison serait plus confortable même quand il fait chaud?
Es-tu en train de me dire qu'il n'y a plus personne qui va toucher à mon thermostat?
Exactement, parce que votre température serait plus uniforme partout dans votre maison. Allez visiter le daikinquebec.net et je vais tout vous expliquer. Et souvenez-vous, Daikin!
Les meilleures thermopompes au monde!
Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair, vos trois concessionnaires de la force Kia, célèbrent leurs 20 ans en vous offrant d'épargner 40 cents du litre d'essence chez Esso Immobile et on rachète votre bail. Passez voir la nouvelle Soul 2020, garantie 5 ans, 100 000 km, ouvert le samedi.
Pour la fête nationale, célébrons un Québec vert et responsable. Consigne Action vous rappelle de rapporter vos canettes et bouteilles consignées chez Le Marchand. Elles seront recyclées à 100%.
Préparez-vous.
Parce que c'est les vagues de $500 du FM 93.
Cet été, faites un achat chez l'un des commerces participants, tels que Moto Illimité, Napa Pièces d'Auto et iSaut.
Ensuite, envoyez-nous votre facture sur fm93.com et vous pourriez gagner l'une des cartes prépayées de $500.
Pour connaître les commerces participants, visitez notre site web ou textez été au 25226.
Surfez sur les vagues de $500
du FM 93. Soyez prêts pour l'Agora Fest. 4 soirs de show majeurs du 28 août au 1er septembre à l'Agora du Vieux-Port. Avec Limp Bizkit, Dennis DeYoung, The Music of Sticks et d'autres grands noms dévoilés très prochainement. Billets sur agorafest.ca. Faites vite, place limitée. Collaboration Gus et Coors Light.
Célébrons le Canada, pays de liberté et de diversité. Tout comme William G. Walter, saucissier. Des saucisses du monde entier avec plus de 60 variétés.
William G. Walter, saucissier de Beauport et du Nouveau-Saint-Roch, vous souhaite bonne fête du Canada.
Tu te rappelles qu'on déménage ma nièce en fin de semaine dans son nouvel appart?
Comment je peux aider, moi?
Toi, tu pourras aller chez Jean Coutu acheter tout ce qu'il faut pour le ménage.
Parfait. Comme ça, je vais pouvoir profiter de l'offre Air Miles. Et puis peut-être acheter une petite surprise à ta nièce en passant.
Je savais que tu serais partante.
De vendredi à dimanche chez Jean Coutu, obtenez 10 fois les 1000 Air Miles à l'achat de 40$ ou plus de presque tout. Tout ce qu'il faut, en effet, pour vos grands ménages et déménagements. Sans oublier les petites surprises en passant. Les détails à jeancoutu.com.
Pendant les jours adrénaline de Mitsubishi Motors, louez un Eclipse Cross avec groupe Black Edition 2019 pour seulement 174$ bimensuel à 1,99% pendant 60 mois. Incluant les caractéristiques du groupe Black Edition valant 2150$. Le Mitsubishi Eclipse Cross Black Edition est offert au prix au détail de 32 942$ avec 120 paiements, un acompte de 1395$ et 1980$ et 70 payables à l'entrée en vigueur de la location. Allocation de 16 000 km, 10 cents par kilomètre excédentaire. Des conditions s'appliquent.
FM 93, ce midi, la voix est libre. Au FM 93, voici Luc Lavoie.
Bonjour Luc.
Salut, comment ça va?
Hey, si ça va bien, on a failli appeler Myriam pour qu'elle vienne commenter avec toi le troisième lien.
Eh oui, j'ai pensé immédiatement à Myriam. Je me suis dit, mais c'est quelle tristesse. Elle est pognée en Toscane, je pense. Qu'est-ce que tu veux faire en Toscane?
Horreur, la Toscane?
Ah, c'est affreux.
C'est affreux.
Mais... parce que là, le troisième lien, monsieur...
Ben oui, c'est fait, là.
Tu dois jubiler, Luc.
Ah, moi, écoute, j'en viens pas. Je m'attendais pas à ça. Là,
mais avec un peu de chance, Luc, peut-être qu'en Toscane, il y a plusieurs ponts, puis il y en a un, c'est le troisième, puis que Myriam... le contempler, tu sais, au moins pour...
Des ponts construits par les Romains, mettons, ou les Européens
mais, parlant d'Europe...
Les Étrusques, hein?
Tu sais, parlant d'Europe, moi, je reviens du Portugal, puis à Porto, c'est une ville qui a moins d'habitants qu'à Québec. Deux rives réunies, là. Sais-tu combien il y a de ponts à Porto?
Non.
6 ponts.
Ah, bon, ils ont même un sixième lien.
Ils se battent pour le septième, eux autres. Fait, on a du retard, nous autres.
Écoute, monsieur, il faudrait repartir une autre bataille. Jean-Simon, pourquoi tu prends pas la tête du mouvement,
écoute,
là?
J'y songe.
Tu y songes, hein?
Bon.
Mais écoute, blague à part, ouais. Là, j'ai hâte de voir le prix, par exemple.
Ouais, le prix, le nombre de voix, quel transport en commun il y aura
là-dessus. Oui, mais regarde, moi, je pars juste de 9 km de tunnel, ça va coûter une scène ou deux, cette affaire-là.
Ça devrait.
Bien que si l'argent est là, qu'ils aillent de l'avant, c'est la meilleure solution. Ça me fait bien évident qu'un tunnel a toujours été la meilleure solution.
Ouais, puis tu sais, mettre un prix à 4 ans de la première pelletée de terre, à je sais pas combien de temps de la réalisation réelle des travaux, c'est un prix qui va finalement...
Exact.
Je veux dire, c'est une balise qui est quasiment dérisoire là, à ce stade-ci, à mon avis. Là.
Peut-être, mais pas tant que ça. Écoute, là, franchement, à un moment donné, là, tu regardes combien ça a coûté à telle place, puis à telle place, ça va finir par coûter pas mal la même chose, hein.
Cela étant dit, sur le troisième lien, Luc, je veux aussi t'entendre sur la méga transaction qui s'est finalement réglée aujourd'hui. Transat qui a accepté l'offre d'Air Canada. Mm-hmm. 13$ l'action. C'est-tu le meilleur dénouement qui était envisageable pour Transat, selon toi, ça?
Probablement, ça oui. Dans l'esprit des employés de Transat, oui. Dans l'esprit des consommateurs, évidemment, la disparition d'un concurrent, ça va pas bien nous servir. Là.
Non.
Et en deuxième lieu, cette idée que nous allons maintenir le siège social et ses fonctions, ça, ils nous font ce blague-là pas mal souvent là, à travers le temps.
À chaque fois.
Parce que la nature même d'une entreprise intégrée comme les Air Canada, c'est de couper ses coûts fixes qui sont en haut. Et ça, c'est où ces coûts-là? Ce sont des coûts qu'on retrouve au siège social. Alors ça, c'est un peu une blague. Puis deuxièmement, ben tu vas avoir une fusion entre le voyagiste d'Air Canada puis Air Transat. Essentiellement, c'est ça qui va arriver. Ils vont probablement intégrer les avions. Ils vont garder la marque Transat probablement parce qu'elle va devenir leur marque vacances.
Ouais.
En bout de ligne, écoute, c'est pas une mauvaise transaction. Puis je sais que je vais dire quelque chose d'un peu gros, là, mais 520 millions dans le monde moderne, c'est pas une méga transaction, c'est une transaction, comprends-tu?
C'est drôle parce que d'ailleurs, le groupe Mac, qui avait aussi fait une offre à 14$ l'action, comment ça se fait qu'on choisit l'offre à 13$ l'action? Parce qu'il y avait d'autres paramètres qui faisaient en sorte que l'offre d'Air Canada était plus intéressante?
Il y avait sûrement d'autres paramètres. Il y avait ensuite probablement le fait que Air Canada l'achète en espèces, les paye en cash. Peut-être bien que la différence, là, c'est moi qui m'avance, là, mais à vue de nez comme ça, là, vite fait, là, Ça a de l'air la différence. Il était prêt à sacrifier un dollar par action pour avoir du cash. C'est du cash que cette compagnie-là a besoin d'avoir. Il y avait un problème dramatique de liquidité, puis ça, un problème de liquidité, tu peux pas passer à côté, comprends-tu? Alors, moi, j'en déduis que, d'une part, l'intégration va se faire de façon beaucoup plus naturelle. Max, c'est un groupe immobilier qui a jamais été dans l'aviation.
Ah ouais.
Et Max, c'est clair que ce qui les intéressait, c'était pas tellement l'aspect aviation d'Air Transat ou de Transat tout court, c'était l'aspect immobilier. C'est que Transat avait commencé depuis quelques années à vouloir, il avait même entrepris de le faire au Mexique, construire ses propres hôtels. Et là, Mac est intéressé, parce que Mac est intéressé dans l'immobilier. En bout de ligne, tu sais, ça change pas grand-chose à grand-chose, à part le fait qu'il y a un perdant ici, c'est le consommateur.
Absolument. Ouais,
quand tu y enlèves un choix comme ça, puis okay. Transat, c'était un choix quand même de haute qualité. J'ai souvent utilisé les services de Transat. Ouais. Là, ça va être fondu dans le système d'Air Canada. Je dis pas qu'Air Canada a pas de qualité, là, mais grosso modo, il y a des trucs qu'on achète sur Transat qu'on peut pas acheter sur Air Canada, comme la classe club. Là, quand tu fais des longs voyages de « je m'en vais, là, non, je pars dimanche pour Israël, je vais visiter la Terre Sainte.
Ouais, » ouais.
Alors, quand tu t'en vas sur des vols de Transat, Transat va pas en Israël, c'est Air Canada qui y va, mais tu as droit à ce qu'ils appellent la classe club, qui est pas du tout le prix d'une classe affaires, mais qui te donne un fauteuil classe affaires. Alors ça, c'est comme, pour moi, c'est ça, quand tu fais un voyage de 8h30 de temps la nuit, là, ouais, t'aimes bien ça, avoir un grand siège.
Alors, en classe club, on embarque dans un avion d'Air Canada et on s'en va aux États-Unis, Luc.
Oui.
Où se tenait hier un premier débat entre les candidats à l'investiture du Parti démocrate. Premier, parce qu'il y en a un autre ce soir.
Ce soir, oui.
Il y a tellement de candidats qu'il faut diviser le débat en deux. C'est-tu quelque chose qui se fait régulièrement, ça, ou...
J'ai jamais vu ça, mais... puis en plus, il y en a quatre qui sont pas du lot, là. Ils sont 24 candidats, OK? Ils en ont présenté 10 hier, ils en présentent 10 ce soir. Puis il y en a quatre qui ont été considérés comme trop marginaux, vraiment, pour pouvoir apparaître sur l'estrade.
24 candidats, c'est complètement fou.
Ben, oublie pas qu'en 2016, les Républicains qui occupent la Maison-Blanche maintenant en avaient 18. Hein?
Ouais.
Ils sont partis à 18. Fait que prenons le chiffre 20, qui est vraiment le chiffre le plus plausible. 18, 20, c'est pas mal la même chose. Ceci étant dit, j'ai écouté attentivement le débat hier. Je regardais la couverture que la plupart des journaux québécois rapportent ce matin et qui est essentiellement une dépêche de l'agence France Presse et qui dit qu'Elizabeth Warren, la dame dominé, du Massachusetts, ouais, a dominé le débat.
Est-ce que c'est ton analyse aussi, non?
Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Elle a pas perdu le débat. En fait, ce que j'ai vu hier... Remarque que moi, j'ai toujours un peu les yeux de notre déformation professionnelle. J'ai travaillé à des débats comme ça, à préparer des joueurs dans le débat, puis tout ça. Alors, je le regarde techniquement, le débat, parce que je le sais très bien que ce qui se passe derrière avant que le débat ait lieu. Madame Warren, qui est essentiellement... Il y a trois leaders dans la course démocrate.
Ouais.
Joe Biden, qui est solidement en avance. Mm-hmm. Bernie Sanders, qui est pas très loin derrière, mais qui a plus de croissance, il semble plus monter. Ça. Puis Elizabeth Warren, qui est en montée sans arrêt depuis le début. Alors, elle, hier, elle s'est dit, et ses conseillers ont dû lui dire, écoute, ces débats qu'on connaît maintenant, là, ça vise à éliminer les plus faibles. T'es dans les plus forts. Mêle-toi pas trop de ça. Contente-toi d'être présente, de bien performer quand ce sera ton tour.
C'est ça.
Mais on n'a pas vu Elizabeth Warren intervenir, interrompre d'autres, participer passionnément à des aspects du débat, non. Donc, et l'autre question que je me posais, c'est que je regardais Mme Warren, femme impressionnante, là, tu sais, professeure à Harvard et tout ça, qui essaye de ramener toujours ses racines modestes. C'est vrai que ses racines sont modestes. Mais ça reste... Tu sais, c'est encore une fois par déformation professionnelle. Ça reste... Tu baisses le son de la télé, là, tu la regardes, là. C'est une snob, là, tu sais. C'est une vraie snob.
Elle donne cette impression-là.
Une vraie snob. Cependant, c'est une snob intelligente. C'est quelques interventions hier, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. C'était remarquable comme elle a pu... Je comprends pas la dépêche de l'agence France Presse, mais je n'ai pas du tout vu ça comme ça.
Okay.
Par ailleurs, on a vu l'autre candidat qui, moi, me fait rouler de rire, là, c'est Beto O'Rourke, qui est un... Excuse-moi l'anglicisme, c'est un fauné, un préfabriqué.
Un faiseux, comme on dit.
Un faiseux, ouais. Un prétentieux. vide à peu près. Tu sais, Descartes avait énoncé l'idée suivante, il ne peut y avoir aucun espace entièrement vide. Allez voir Beto O'Rourke, vous allez voir que Descartes s'était trompé. Enfin, on a pu déjouer l'approche de Descartes.
Ça, ça aurait été un bon titre pour l'agence France-Presse, ça, Luc. Citer Descartes en disant que Beto O'Rourke,
ton CV.
C'est un espace
vide. O'Rourke, c'est comme un pantin. D'abord, c'est un beau gosse. Puis, en fait, c'est un gars qui, quand il se regarde dans le miroir, il se trouve de son goût. Là.
Mais c'est la mode, ça, les beaux gosses, Luc? C'est ancien.
Oui, oui, mais tu parles de moi, là? OK, là. On parle pas de moi ici, on parle... C'est Jean-Simon peut se classer, moi, non. Moi, non. Okay.
Non, mais tu sais, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, il y a quand même y a une mode aux beaux gosses en Occident.
Donald Trump.
Non, pas tout à fait.
Un petit genre. Admets que c'est un petit genre.
Il y a un look.
Dans l'orange, on fait pas mieux.
Il y a un côté viril. Alors, O'Rourke, c'est une espèce de pantin qui fait blablabla. Tu sais, c'est tout ce que c'est, comme des ballons qui montent en haut. Tu sais, tu te couches dans le fond du bain, puis tu fais blablabla, puis tu vois les ballons qui montent. Là. Ben lui, O'Rourke, je le savais avant de le voir. Tu sais, c'est le beau gosse. Son costume est taillé à la perfection. Son petit look, tout ça. Vraiment, c'est une joke, là. Oublions ça, là. C'est le Marco Rubio. Vous vous souvenez de 2016, Marco Rubio. Là? Un moment donné, il avait paralysé. Il avait oublié les lignes que ces gars y avaient préparées. Il était venu comme un chevreuil avec les spotlights dans les yeux, là. Bon, ben alors, O'Rourke, il nous a donné ça hier. Okay. Il y a eu quelques... D'abord, Bill de Blasio... C'est le maire de New York. On devient pas maire de New York en criant lapin. Là. Il doit avoir quelque chose derrière ça. Et de Blasio est essentiellement à 0% d'un sondage parce qu'il vient juste de se lancer. Et moi, franchement, je me disais, le maire de New York, honnêtement, je le connaissais pas plus que ça. Je savais qui c'était, mais pas plus que ça. Alors, j'étais très intéressé de voir ce qu'il allait faire. D'abord, c'est un gars extrêmement impressionnant sur le plan physique. Tu vois Beto, là, celui qui se trouve de son goût quand il se regarde dans le miroir, c'est un gars de 6 pieds 3. De Blasio, c'est un gars de 6 pieds 6.
Oh boy! Okay?
Puis une armoire à glace, là, je ne sais pas combien, mais c'était en 250 livres, bien solide. Un gars qui doit avoir, dans le début de la soixantaine, j'ai même pas été vérifié. Je ne savais pas à quelle place qu'il allait se situer. Ben là, monsieur, j'ai été un peu renversé. Il aligne de gauche à gauche à gauche à gauche toute. Là. Ça va être un gars qui va essayer d'occuper une partie du terrain qui appartient présentement... à Bernie Sanders, ça c'est clair. Est-ce que ça va lever? Je sais pas, mais il y a eu quelques envolées assez passionnées et assez convaincantes, dois-je dire. Okay. État également le sénateur Castro. Il est pas sénateur, attends. Je l'ai pas devant moi. Mais en tout cas, c'était un ancien membre...
Julian Castro, j'essaie de voir c'est quoi son rôle à lui.
Je pense qu'il était sénateur et qu'il... En tout cas, peu importe. Le gars, tu vois que c'est un gars d'une seule cause, c'est la cause des Latinos. C'est lui-même clairement un Latino avec un nom comme ça. Et ça existe ça, dans ce type de course, des candidats d'une seule cause. Ils sont là en sachant qu'ils ne deviendront jamais le candidat,
non, c'est ça.
Mais qui veulent créer un buzz, puis en même temps devenir des incontournables quand arrive le temps d'aller chercher la nomination. Et Castro a donné un puissant show hier. Évidemment, il y avait tout ce qu'il fallait avec la photo qui a fait le tour du monde du père et de sa fille.
Ouais. Ouais. D'ailleurs, cette photo-là, cette image-là, Luc, à quel point tu penses que ça peut avoir un impact, ça peut nuire à Donald Trump? Parce qu'on a l'impression que Trump est comme immunisé contre tous les scandales de tout ordre.
Oui, ça lui nuit pas vraiment parce que sa gang trouve que c'est bien normal. Et la réaction d'un partisan de Trump hier, c'est de dire ben, fait combien de temps qu'on leur dit d'arrêter d'essayer de traverser le Rio Grande? Fait combien de temps qu'ils courent après? Ben, il a couru après, puis on a tout fait pour leur dire de pas le faire, puis on a fait tous les signes qu'il fallait, puis ils ont décidé qu'ils y allaient quand même, ils ont pris une chance, puis ils sont morts.
Tu penses pas quand même que même chez des partisans bien endurcis, ça peut pas avoir un genre d'effet à la Hélène Kurdi en 2015, pour en faire réfléchir deux, trois pareils, tu sais? Parce que je comprends qu'il y en a une gang que c'est...
Pas chez la gang à Trump. La gang à Trump ont en commun de réfléchir, c'est pas vraiment quelque chose qu'on... Tu sais, quand tu penses à un partisan de Trump, le mot réflexion te vient pas en tête. Là. C'est pas naturel, ça.
Ton vieux 2, tu le mets sur qui pour les démocrates? À ce stade,
il faut voir le débat de ce soir.
OK, tu le mettras demain.
Il faut voir le débat de ce soir. Parce que ce soir, tu as Sanders et Biden qui vont être là. Et Mme Harris, la sénatrice de la Californie, qui est extrêmement éloquente. Et je pense franchement qu'il est trop tôt. Moi, mon feeling, mais c'est juste un feeling, ça s'appuie pas sur des informations que je vais trouver à droite et à gauche, c'est qu'on n'a pas encore vu le vrai candidat. Il y a quelqu'un, j'ai aucune idée qui va arriver à un moment donné. Comme Barack Obama est arrivé en 2008, en 2007 en fait. Il va arriver quelqu'un d'inattendu qui, je le vois pas.
Okay.
Parce que pour dire le vrai, si les démocrates font l'erreur de choisir Joe Biden pour comme candidat, sais-tu ce que ça va donner? Une victoire de Trump à 60-40. Ouais. Joe Biden est la personnification même de ce qui a mené au phénomène Trump, de ce que les gens rejettent, la vieille politique, la vieille gang qui ont fait ça toute leur vie puis qui jouent des games, puis patati, Puis Uncle Joe Biden, c'est un des grands gaffeurs de l'histoire politique américaine.
OK, donc on s'en parle demain après ce fameux deuxième débat de ce soir, Luc, puis tu mettras ton vieux 2 rendu là.
Là, je le sais pas, là. N'oubliez pas les pensées de Descartes.
Oui, c'est ça, effectivement.
Il ne peut y avoir aucun espace entièrement vide.
Excepté Beto O'Rourke.
Excepté Beto lui-même.
Merci,
salut,
Luc.
Messieurs.
Salut, Luc. Luc Lavoie. Avant de prendre une pause, je me retourne vers notre collègue François Thérien. Il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit concernant la cheminée, la flamme de la cheminée de Valero, la raffinerie du côté de la Rive-Sud, Saint-Romuald. Qu'est-ce qui se passe là?
Ben, en fait, c'est le brûleur, là, que c'est la flamme perpétuelle parce qu'elle fonctionne tout le temps. Mais là, apparemment, c'est spectaculaire au possible parce qu'on a eu plein d'appels. On en a même eu un d'une personne qui s'en venait sur Henri IV. Il arrivait de Val-Bélair.
Oh, il y a panache de fumée.
C'est ça, lui, il pensait que c'était un feu à Saint-Foy. Oh, oui. Il a dit non, ça a l'air d'être à Lévis. Mais c'est ça, c'est Valero qui est... La flamme là, est très, très haute. Il y a eu une panne d'électricité dans ce coin-là. C'est peut-être lié, mais il n'y a aucune intervention des pompiers de Lévis. Donc, ça veut dire que c'est sous contrôle. J'ai appelé chez Valero, on m'a dit, il y a quelqu'un qui va vous rappeler. Alors,
parce que là,
effectivement, il se passe quelque chose, mais c'est sous contrôle.
À l'instant, il y a un auditeur qui vient nous écrire, de nous appeler au 670-9330 pour nous mentionner qu'il y aurait évacuation. Là, on va être prudent, parce que c'est une personne qui nous l'a dit, mais si vous en savez plus, vous travaillez dans le coin, vous avez des antennes là-bas à Valero, appelez-nous 670-9330-25226. Mais effectivement, là, j'ai vu les photos, là, le panache, on dirait que les charbonniers de l'enfer s'y sont mis. Là. J'ai rarement vu un panache de fumée aussi épais avec la flamme visible, ça ne m'étonne pas que les gens capotent présentement. Là.
Ça arrive de temps en temps, ça dépend qu'est-ce qui brûle, là, parce que le pétrole, il y a différentes variétés, là, mais effectivement, là, il y a quelque chose de bizarre qui se passe, parce qu'on nous a dit chez Valero, il y a quelqu'un qui va vous rappeler. Alors, il se passe quelque chose, mais c'est sous contrôle. Ce n'est pas la raffinerie qui est en feu, là, c'est le brûleur qui est plus actif que d'habitude.
Si vous avez des informations, vous nous les faites parvenir, vous connaissez les moyens. On fait les vérifications diligentes et puis on vous revient avec une réponse après la pause. Merci.
FM 93, ce midi. De retour dans quelques instants.
Vous êtes toujours prêts à faire des heures supplémentaires. C'est pourquoi on a construit le Ford F-150 2019. Avec la meilleure capacité de remorquage et la meilleure charge utile de sa catégorie, il est prêt à en transporter davantage, à en remorquer plus, ou prêt pour aller au chalet plus souvent. Jusqu'au 2 juillet, obtenez 0% de financement à l'achat et 6 250 $ en rabais sur les F-159 2019 sélectionnés. Procurez-vous votre F-150 chez votre détaillant Ford ou visitez Ford.ca.
Ah, ouais, Robert, tes cheveux, une permanente.
Je voulais de quoi d'original.
Oh boy, pour de quoi d'original? T'avais juste allé à Piazzetta. Ça fait 30 ans qu'ils sortent des pizzas originales.
Ah, ouais, j'avoue. Bon, ben, on va-tu à Piazzetta?
Oui, mais tu m'en tuques.
La Piazzetta, 30 ans d'originalité.
En avez-vous vraiment besoin? La réponse est c'est sûr que oui. Ici Pierre-Yves McSween. Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est ma chronique dans l'émission de Sylvain Bouchard du lundi au vendredi, 7h25.
La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Ginsburg Gingras. Surmontez vos dettes. Contactez gratuitement un syndic autorisé en insolvabilité de Ginsburg Gingras. GinsburgGingras.com/dette.
Le seul gigantesque d'été chez l'équipeur est en cours jusqu'au samedi. Économisez 25 à 70 % de rabais sur nos prix courants et de liquidation dans tout le magasin. Nous avons des bonnes aubaines, telles que 50 % sur les manteaux et les vêtements décontractés, 40 % sur les chaussures tout allées, 30 % sur les jeans et bien plus. Et la livraison est gratuite sur l'équipeur.com. Visitez l'équipeur dès maintenant jusqu'au samedi pour le seul gigantesque d'été.
L'équipeur. Équipé pour tout. Excluant l'achat des cartes cadeaux. Aubaine à tout casser à prix marqué.
Motorisé de la capitale liquide les 2019. Achetez une roulotte Winfif Wheel 2019 en inventaire au prix affiché et on vous donne 1 000 $ pour vos vacances. La compétition vous a fait une offre. Nous ferons mieux. Motorisé de la capitale, sortie 305, autoroute 20, mdlc.ca.
Bon, qu'est-ce que tu vas faire de moi? M'oublier dans le fond du tiroir? Pff, non, merci. Me mettre dans le compost. Le bac bleu, c'est pas ma place. Et la poubelle? Encore moins. Sais-tu quoi faire avec une pile usagée?
Ne jetez pas vos piles. Recyclez-les. Jeter des piles peut nuire à l'environnement. Les recycler adéquatement permettra la fabrication de nouveaux produits, mais surtout la préservation de nos ressources naturelles. Rassemblez vos piles usagées dans un sac transparent et refermable et apportez-les dans un point de dépôt Appel à recycler le plus près de chez vous. Visitez appelarecycler.ca.
Vous construisez un patio?
Ben oui, c'est toi, Nancy, qui nous a dit de faire ça.
Hein?
T'as dit un matin qu'on pourrait souper dehors. Et tant qu'à faire, on s'est dit qu'on allait construire un patio.
Dave, j'ai dit qu'on pourrait sortir souper.
Ben c'est ça. Je te dis que tu nous en donnes de la job, Nancy.
C'est l'événement Cuisine chez Renault Dépôt. Du 27 juin au 3 juillet, obtenez jusqu'à 20 % de rabais sur les comptoirs, robinets, éviers et tuiles de céramique sélectionnées. En magasin et en ligne, des conditions s'appliquent.
Renault Dépôt, le choix des rénovateurs.
Problème de fondation? Fissure? Infiltration? Garco ne fait que ça. Et depuis longtemps. Garco. Spécialiste en endroits restreints depuis 25 ans. Visitez garco.co. Oui, garco.co.
Vous partez en vacances cet été? Qu'importe où votre escapade vous mènera, vous ne serez pas seul. Les moustiques et les tiques aussi voyagent. Et certains transportent avec eux des maladies, comme le virus du Nil ou la maladie de Lyme, qu'ils peuvent retransmettre. Une simple piqûre peut avoir de graves conséquences sur votre santé. Pour éviter de vous faire piquer, portez des vêtements longs, de couleur claire et utilisez un chasse-moustique. Pour bien profiter de l'été, à la maison ou ailleurs, protégez-vous. Visitez québec.ca/piqûre. Un message du gouvernement du Québec.
Ça y est, c'est enfin arrivé. Dites adieu aux frais d'utilisation excédentaires et dites bonjour au forfait infini de Rogers. Obtenez des données illimitées avec 10 gigaoctets à vitesse maximale à partir de seulement $75 par mois. Vous pouvez donc visionner plus, partager plus et avoir infiniment plus de possibilités. Voici Infini de Rogers, des forfaits avec données illimitées pour des possibilités infinies. Détails à rogers.com/infini.
Vous songez vendre votre maison? AlexandreWallet.com. Pour payer moins de commissions, AlexandreWallet.com. Vous voulez vraiment vendre? Ça tombe bien, ses clients veulent vraiment acheter. Vendez sans trop payer de commissions à partir de 2%.
AlexandreWallet.com.
Hey Jeff, c'est quoi le nom de la place où tu bois la meilleure bière au monde?
Ben, c'est au Belga.
Ben, je viens d'apprendre que les meilleures bières sont maintenant disponibles en épicerie.
Oui, comme la Primus et la Tongerlo Luxe.
La bière du Belga, sur Grande Allée.
Maintenant en vente chez les meilleurs détaillants.
Chez Toyota, on comprend ceux qui manquent de timing.
Salut.
Hey, salut.
T'as passé un beau week-end?
Oui,
j'ai pris ça relax.
Toi?
Vas-y, toi. Ben, je suis resté chez nous. Bon.
Ben, bonne journée.
À toi aussi.
À tous ceux qui manquent de timing, la vente étiquette rouge de Toyota, c'est là. Et c'est votre dernière chance d'en profiter. Louez le RAV4 2 RM LE 2019 à partir de $88 par semaine, zéro comptant. Jusqu'au 2 juillet, total de 260 paiements sur 60 mois, 17 du kilomètre additionnel après 100 000 km, prix suggéré de $30,304.
Population de Québec, le Festival des bières du monde de Saguenay désire vous informer que le party se passe de l'autre côté du parc du 18 au 21 juillet sur la zone portuaire de Chicoutimi. Un gros festival solide, puissant, non-stop, avec plus de 60 microbrasseries sur place. Le Festival des bières du monde de Saguenay avec Florida, Vulgaire Machin, CCR et en exclusivité au Québec, NoFX. Passeport en vente sur bière avec un S du monde.ca. Le Festival des bières du monde de Saguenay, vous allez y goûter.
On va vous apprendre des choses, vous en faire comprendre. On va vous divertir, vous accompagner. On va vous faire rire, vous faire fâcher.
Le FM 93, c'est de l'audace, c'est du mordant, c'est du professionnalisme.
Le FM 93, c'est tout ça et plus encore.
FM 93, ça me parle.
La météo, présentée par Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair. Il y a 20 ans, Kia Québec devenait le premier concessionnaire Kia d'une ville majeure au pays. Pour dire merci, on rachète votre bail et vous épargnez 40 cents du litre d'essence chez Esso et Mobil. Passez voir la compacte de l'année, La Forté 2019.
Un gros 60% de probabilité d'averse et risque d'orage cet après-midi avec un maximum de 26 degrés. Gros, c'est pas tant que ça parce que c'est quand même un petit peu plus d'une chance sur deux. Alors peut-être que ça va passer à côté et peut-être que non. On sait jamais avec la météo. On a donc 26 degrés aujourd'hui attendus, partiellement nuageux. Et encore ce risque d'orage ce soir et cette nuit avec 15 degrés. Demain vendredi, très belle journée, généralement ensoleillée, maximum de 26.
FM 93, c'est FM 93, ce midi. FM 93, ça me parle.
Midi 8 minutes, jeudi le 27 juin 2019. Bonjour à tous ceux qui se joignent à nous pour FM 93 ce midi. Mon nom est Paul-Raphaël Charron. Je suis en compagnie de Jean-Simon Buis jusqu'à 14h ce midi. Et je me retourne vers notre collègue François Thérien qui a les manchettes du jour.
Ouais, on va parler de ce qui se passe chez Valero présentement. Là. D'abord, il n'y a pas de panique, il n'y a pas d'incendie chez Valero, mais le brûleur de la raffinerie de Lévis, là, et fonctionne à plein régime. Là.
Apparemment, je ne veux pas entendre de tout feu, tout flamme. Cette blague-là est inappropriée pour le moment.
Mais le lion est poigné dedans, là, clairement.
Ah ouais.
Ouais, c'est, le panache de fumée est très, très haut et visible de pas mal d'endroits dans la région de Québec. Apparemment, le Valero n'a pas encore parlé de cette situation-là, mais un communiqué devrait être émis sous peu. Il y a une panne d'électricité à partir de 10 heures à peu près dans le coin de Lévis et il y aurait un rapport avec ce qu'on voit présentement à la raffinerie. Mais les pompiers de Lévis n'ont pas été appelés sur les lieux. Il n'y a pas de feu. C'est le brûleur qui fait son travail, mais qui le fait de façon plus intense que d'habitude.
Là, pour ce qui est des pannes d'électricité dont tu parles, François, là, il semble que ça revienne à la normale tranquillement. Du côté de la rive sud, mais bizarrement, et probablement que c'est une coïncidence, puis ça n'a rien à voir, parce que c'est pas dans le même coin partout, mais à Portneuf, présentement, sur Infopan, sur le site d'Hydro-Québec, on mentionne que plus de 3500 clients seraient privés de courant également. Donc, une drôle de circonstance en tant que telle, mais il semble y avoir rien de grave. Là,
quelqu'un de Shannon nous dit qu'il voit le panache de fumée chez eux, là.
C'est assez spectaculaire, mais il n'y a pas de panique à avoir. La situation est sous contrôle. Le brûleur fonctionne à plein régime et on travaille à rétablir la situation du côté de la raffinerie Valero de Lévis.
Sinon, il y a aussi la démolition de l'église Saint-Cœur-de-Marie qui devait commencer hier.
Ça a commencé ce matin.
Ça a du cours, là, oui. Bon.
Oui, présentement, il y a des travailleurs qui ont commencé à s'affairer. Très tôt ce matin, il y avait des travailleurs qui étaient dans une nacelle au sommet du clocher, puis qui commençait à démanteler le clocher. Alors, tranquillement, là, on commence par le haut, puis on va descendre. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par le clocher, pierre par pierre. Il y a aussi de la tôle qui est là. On a commencé par la tôle ce matin. Les pierres seront jetées à l'intérieur du clocher. Dans le fond, on va se servir un peu du clocher comme de...
Comme un bol de céréales.
C'est ça.
Je sais pas si j'aurais dit bol de céréales, mais on comprend l'image.
Il n'y aura pas de lait dedans, t'auras compris.
Moi, j'étais un déménagement, j'aurais dit une boîte. Ouais. Mais bol de céréales, ça va aussi.
Mais c'est parce qu'il est rond, le clocher, il est rond.
Bol de céréales.
En fait, le but, là, c'est que le plus rapidement possible, les entraves à la circulation qui sont là, parce que le clocher est un peu menaçant, là, qu'on réussisse à démanteler le plus de hauteur de clocher qu'on peut pour qu'on puisse enlever les entraves à la circulation. Mais ça risque de prendre un bout de temps. Là, quelque part entre le 4 et le 8 juillet, ça devrait être rétabli du côté de Saint-Cœur-de-Marie. Là. On devrait pouvoir circuler à la grandeur de la Grande Allée sur le trottoir qui passe tout près de l'église.
De toute façon, c'est littéralement à l'intersection où Grande Allée devient piétonne pour le festival d'été. Ça fait que là, il reste que les entraves là, à la circulation ne seront pas si pires que ça, considérant que c'est pas un tronçon de Grande Allée qui, du jour au lendemain, devient inaccessible. C'est déjà inaccessible à le coin de rue à côté. Ça fait qu'ils vont juste étendre la zone où tu peux pas aller, là, je présume. Là.
Sauf que les commerçants ont hâte qu'on en finisse
cette
entrave-là. Tout à fait. Puis je termine en vous parlant du feu au centre de ski Mont-Orignal de Lac-et-Chemin hier. C'est un incendie quand même assez important qui a pris naissance en début d'après-midi, 13h40, dans un bâtiment secondaire de l'entreprise. Puis finalement, ça s'est propagé au garage. Il y avait des dameuses qui étaient à l'intérieur de ce garage-là et qui ont été détruites par le feu. Là, on parle de 4 dameuses. Pour un centre de ski comme le Mont-Orignal, c'est quand même majeur de perdre 4 dameuses comme ça. Ce sont des équipements très dispendieux. Alors, quelle sera la suite des choses pour la saison qui s'en vient? On ne le sait pas encore, là, mais disons qu'on se sera passé de ça du côté de ce centre de ski qui est le centre de ski de Marie-Michèle Gagnon. C'est là qu'elle a commencé à skier.
François Thérien, merci.
Je vous en prie.
Je me retourne vers notre collègue Alexis Sanson qui était au point de presse du ministre des Transports, François Bonnardel. Dans cette annonce donc du tracé du troisième lien Québec-Lévis, qui sera un tunnel.
Qui sera un tunnel.
On s'en doutait.
À l'est.
À l'est, on s'en doutait.
Oui, qui sera tracé.
qui sera tracé.
Oui, c'est à peu près tout ce qu'on sait finalement.
Oui, on sait que ça va être à l'est, on sait que ça va être un tunnel, on sait que ça va être d'une longueur de 9 km. On sait que ça va relier la 40, donc Félix Leclerc, à la 20, à la hauteur de la route de l'Allemand.
Ouais.
Sauf que ce qu'on sait pas, c'est que c'est officiel. Parce que il y a quand même, bien que le ministre dise aujourd'hui, là, on privilégie ce scénario-là. Ah, puis ce qu'on sait aussi, c'est que ça va passer sous l'île d'Orléans, qu'il n'y aura pas de lien
sous
avec l'île d'Orléans.
De la pointe ouest de l'île.
C'est ça,
donc la pointe de l'île qui est du bord de Québec.
Et les gens de l'île vont avoir leur pont à Auban comme c'était prévu.
Ouais.
Sauf que l'histoire, c'est qu'il y a quand même, en ce moment même, un tracé qui est étudié au centre, qui relierait la 20 à Laurentienne.
Hey,
ça, c'est quand même dans les plans, parce que François Bonnardel dit effectivement que ça, c'est le tracé qu'on privilégie. Mais pour être sûr qu'on soit certain de notre affaire quand on va se présenter devant le BAP, on veut quand même leur montrer que c'était la meilleure option.
OK, parce que là, ce qu'on a comme nouvelle, nous, c'est que le tracé est officiel, c'est là qu'il va passer, ce sera un tunnel. Sauf que là, t'es en train de me dire qu'ils n'ont pas pris de décision encore.
Non, la décision a été prise, mais on veut l'étudier quand même. C'est un peu comme le tramway, là.
OK, donc on est... Ah, c'est ça, c'est comme le tramway.
C'est comme
on
le tramway.
On construit le tramway, mais on étudie le métro juste pour...
Pour être sûr que c'est le meilleur.
Just in case.
Puis on va s'assurer que ce soit le meilleur à la fin.
Hey, Seigneur.
Parce que ça, on dit, dans le communiqué, là, puis je peux vous lire, ça confirme que c'est un tunnel qui est la solution. Sauf qu'on mentionne que, puis tu vas le voir, là, dans le communiqué, c'est écrit plus tard que c'est le scénario privilégié.
OK. Ça, là, je veux juste être sûr de comprendre, là, parce que
oui.
Là, nous, on s'est énervé le poil de jambe en disant, OK, c'est définitif. C'est un tunnel à l'est qui part de la 40, qui se rejoint à la 20 en passant sous l'île d'Orléans.
Ouais.
Ça, c'est l'annonce d'aujourd'hui.
Ouais.
Jean-Simon puis moi, on ouvre l'émission en disant « OK, voici ce qu'on apprend. Il manque des infos à notre goût, c'est-à-dire le coût, le nombre de voies, comment va marcher le transport en commun, pourquoi le pont, pourquoi le tunnel, bon, impact sur le trafic. » Tout ça, on vous l'a dit il y a moins d'une heure.
Ouais.
Là. Il reste des questions maintenant. Bon, le ministre va y répondre en temps et lieu. Correct. Mais là, tu me dis que cette annonce-là, que nous, on prend comme officiel parce que c'est ça,
ouais.
C'est ça que c'est, là, c'est une conférence de presse pour annoncer la forme et le tracé,
ouais.
Ça pourrait, à un moment donné, devant le BAP, changer encore.
Parce que là, ça gigue à Beaumont présentement à cause de ce qu'on a dit. Là. Le monde
ouais.
Est heureux. Puis le monde
ça
est...
gigue à Beaumont.
Non, mais là, t'as même me dire qu'il faut arrêter la musique puis ranger le champagne, puis c'est pas sûr encore.
Non, non, mais honnêtement, ce qu'on comprend, c'est que le ministre dit « ça va être ça, c'est ce qu'on veut faire. L'autre, on l'étudie pour être certain, mais ça va être ça pareil. »
OK. Je t'avoue que je suis un peu...
Mais comme...
Je suis un peu dans la brume, là.
Bon, OK, je vais te lire un peu. Je vais lire le communiqué. Peut-être qu'on va voir la lumière au bout du tunnel. La solution d'un tunnel est ressortie comme la meilleure option après différentes études, dont une analyse multicritère qui a pris en considération plusieurs éléments.
Ouais, dizaines de scénarios qui ont été étudiés.
Notamment le transport, la circulation, l'environnement et l'économie. Le corridor d'implantation privilégié pour le nouveau tunnel se situe dans le prolongement de l'autoroute Félix Leclerc, privilégié, comme tu le disais. Qui joint l'autoroute Jean-Lesage 20 dans le secteur de la route l'Allemand à Lévis, visant toujours une première pelletée de terre au plus tard en octobre 2022.
Ouais, ouais.
Le ministère des Transports lance aujourd'hui des appels d'offres
mm-hmm.
afin de mener une étude d'impact environnemental ainsi que des études d'arpentage. Donc c'est décidé, là.
C'est décidé, mais on étudie l'autre quand même.
C'est ça. Bref, ils veulent pas arriver devant le BAP en ayant un scénario qui n'a pas été étudié. Maintenant, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait. Ils ont pas tout fait ça d'avance, mais bon, en tout cas.
Ça fait pas pic-pic un peu, tu trouves, comme annonce?
Ben, il y a des affaires, il y a des subtilités qui m'échappent, là.
Bon. Puis, avant qu'on continue, la durée des travaux, posez-moi pas la question, on le sait pas. Le coût, posez-moi pas la question, on le sait pas. Est-ce qu'il va y avoir des voies réservées? On le sait pas. Combien va y avoir de voies dans le tunnel? On le sait pas non plus. Comment est-ce que le transport en commun va être relié? On le sait pas non plus. Mais une chose est certaine. François Bonnardel, le ministre des Transports, nous dit « Cette annonce-là, ça va être pour 100 ans, le futur fameux tunnel. »
Maintenant, ce projet, je le vois pas seulement pour les 5-10 prochaines années pour Québec-Lévis. C'est un projet pour 100 ans, pour tout l'Est du Québec. Présentement, il y a 750 000 personnes dans le Québec métropolitain. Dans 25 ans, on sera 1,2, 1,5 million de personnes. Moi, ce projet, on a une opportunité aujourd'hui d'aller de l'avant avec un grand projet. Il y a encore des étapes importantes là, par la suite, mais je vois ce projet pour les 100 prochaines années pour Québec. Et il y a un quatrième point, la sécurité du réseau. La sécurité du réseau. Vous l'avez vu jusqu'à quel point ça peut être difficile si on a fermé un des deux principaux liens. Mais c'est de se rendre au bout de cette volonté, de cet engagement de notre gouvernement.
Mais ça, c'est vrai. Moi, l'argument de la sécurité, je l'achète à 100%.
Oui.
la longévité du projet aussi. Là, tu mets pas autant d'argent pour autant d'efforts dans un projet qui durera pas plusieurs décennies.
Dans 100 ans, bon, c'est une estimation. J'imagine, vu qu'on sait même pas combien ça coûte, qu'est-ce qui va passer dedans, puis comment on va le creuser. J'imagine qu'on n'est pas trop sûr combien de temps il va durer non plus. Là, mais...
Qu'en est-il du transport en commun?
Bon, ben ça, c'est la grande question. François Bonnardel, par contre, dit, il y a une chose qui est certaine, s'il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de tunnel.
S'il n'y a pas de transport collectif dans le troisième lien, il n'y a pas de troisième lien. Moi, pour moi, vous m'avez déjà entendu, il est immensément important de boucler la boucle de transport collectif entre la Rive-Sud et la Ville de Québec et que les gens changent leur comportement. Il faut leur donner des outils, là. Il faut que ces outils marchent. On est immensément heureux que le réseau structurant soit réglé pour Québec. Et la suite, la suite, c'est nécessairement le troisième lien. Il faut être capable de donner l'opportunité aux gens de laisser l'auto à la maison s'ils le souhaitent. Parce qu'il y a trois aspects non négligeables pour moi tout le monde. C'est la durée, le coût, le confort. Si on répond à ces trois besoins, durée, coût, confort, les gens un jour vont peut-être se dire, OK, je fais le test, M. Bonnardel. Je laisse le toit à la maison, je pars une semaine pour utiliser vos transports.
Sauf que le réseau structurant, oui, est confirmé, mais il y a quelqu'un qui nous a justement fait remarquer qu'il n'est pas compatible avec le tracé qui est présenté. Donc, je ne suis pas tout à fait ce que M. Bonnardel veut dire.
Puis, structurant, là, ça veut dire qu'il mobilise les gens, qu'il permet un transfert modal, donc qu'il fait en sorte que les gens vont laisser leur auto pour prendre le transport en commun. Et ça, là, l'étude d'origine-destination nous l'a dit, là, il faut pour que ce soit structurant pour vrai, il faut que ça inclue Lévis. Or, quand le ministre Bonnardel dit il doit impérativement avoir du transport en commun sur ce troisième lien routier-là,
oui.
Je veux bien, mais moi j'ai peur que ce soit un autobus aux heures et demie. Expliquez-moi comment vous allez faire pour que ce soit efficace, que le transport en commun soit valorisé grâce à ce troisième lien-là.
Tu sais, on bâtit là, en quelque sorte une colonne vertébrale pour Québec puis la grande région de Québec en tant que telle. Sauf que là, moi, la façon que je vois ça, il y a une colonne vertébrale qui est le réseau de transport structurant, il y a deux, trois côtes qui vont passer par le tunnel. Bref, il n'y a rien de complet.
Pas encore, du moins. Peut-être ça va arriver.
Mais peut-être, sauf que...
Peut-être ça va arriver, mais pas aujourd'hui.
Et que je suis sceptique. Sérieusement, je suis sceptique sur le fait que ça va se concrétiser. Il y a Martin qui a un bon mot, parce que quand il dit on travaille sur 100 ans, lui dit ça va traîner 100 ans, c'est le projet. il va pas durer 100 ans, il va prendre 100 ans à se concrétiser. Ça se peut, ça aussi.
Et j'aurais aimé avoir une réponse pour vous, à savoir comment ça va se faire avec le tramway. Bon, j'ai posé la question, puis le tramway, soyez assuré, il passera pas dans le tunnel. François Bonnardel dit ça coûterait trop cher de faire ça. Mais je lui ai posé la question. J'ai dit, Monsieur Bonnardel, vous dites depuis tout à l'heure que c'est important pour vous le transport en commun. Hier, on confirme le financement du tramway. Ça va se faire comment? Est-ce que ça va vraiment être relié? Ben, je vous ai sorti la réponse intégrale. Vous en déduirez ce que vous voulez.
Nécessairement, dans tout ce projet de tramway, la portion la plus à l'est d'Estimoville sera une des connexions pour nous d'amener le troisième lien. C'est immensément important que si on en arrive à avoir ben pas s'en arrive, il y aura du transport collectif, il faut aller se connecter à quelque part. Et ce point d'attache fort à l'ouest, Estimoville à l'est, vous pouvez prendre en considération que cette station intermodale, peu importe le nom, là, sera nécessairement le point d'attache ou de connexion pour le troisième lien.
Donc, il faudrait prendre le troisième lien en auto, aller se stationner au bout, parquer l'auto, embarquer dans le tramway et aller travailler? C'est ça que je comprends?
Ou encore, ben moi, ce que François Bonnardel semble expliquer, c'est qu'il y a un autobus qui va partir de Lévis, qui va se rendre jusqu'à Destimoville. À Destimoville, tu vas pouvoir
construire. Dans le tramway, ben OK, ouais. Parfait. Ça prend combien de temps, ça, versus prendre le char? Le nerf de la guerre, il est là.
C'est ça.
Faut que ce soit confortable, rapide, abordable. C'est tout, en tout cas.
Mais les gens de l'île d'Orléans, eux, sont contents, ouais. Par exemple. Parce que là, François Bonnardel l'a confirmé. Donc, les travaux du pont de l'île vont commencer en même temps que les travaux du tunnel. Et lui voulait absolument faire en sorte que le tunnel passe sous le pont et qu'on se ne mêle pas de l'île d'Orléans.
Pour moi, préserver l'île était immensément important. Immensément important. Aujourd'hui, on peut confirmer qu'une île, un pont, troisième lien, un tunnel. À partir de maintenant, ben, c'est... le tunnel Québec-Lévis.
Et ça fait des heureux.
Ouais. Mais moi, ça, vois-tu, ça me... Je pense que c'est une option qui était possiblement la meilleure. Ça dévisage pas le coin, ouais. Ça importune pas les gens de l'île d'Orléans, ça vient pas mettre des bâtons dans leur roue, là, tu sais, ça vient pas avoir d'impact négatif ces activités sur l'île.
Je veux juste, parce que ça m'a titillé, là, quand il a parlé d'Estimoville comme port d'attache là, pour transport structurant, c'est parce que j'allais sur Google Maps, là. C'est 8,5 km entre Destimoville puis le point de départ du tunnel. Là. C'est pas très proche. C'est pas à côté, là.
Non, faut que tu prennes l'autoroute.
c'est pas à porte à côté, Estimauville, là. Fait que le port d'attache le plus près pour le transport en commun, ça va être le terminus d'Estimauville.
Mm-hmm. Ben, c'est ce que François...
Pour le tramway.
Ça veut
là,
dire
il
que...
Il va-tu avoir un trambus quelque part qui va, je sais pas?
Mais ta ride, là, mettons que tu pars du centre-ville, mettons du complexe Desjardins à Lévis, là. Tu pars en autobus du complexe Desjardins, tu passes dans le tunnel. C'est que c'est 9 km, t'as à peu près 7-8 km te rendre jusqu'au tunnel. 9 km de tunnel, 9 km pour t'en venir, ça fait 27 km pour te rendre au tramway. 27 km. Puis il y a des gens, tu vas me faire à croire, là, que des gens qui vont dropper le char, qui vont prendre le transport en commun en passant. Ben voyons,
ça n'a pas vraiment
ça marche
de sens.
Pas. Ça marche pas.
Mais les gens de l'île d'Orléans, eux, étaient bien contents, notamment Harold Noël, là, qui est le préfet de la MRC de l'île d'Orléans, qui dit que pour eux autres, c'est un grand soulagement.
Il y avait beaucoup d'inquiétudes à l'île d'Orléans pour les gens. Là. À mon avis, il y avait différents scénarios qui avaient été proposés. Puis aujourd'hui, là, c'est clair que ça apaise beaucoup les préoccupations des gens de l'île. Puis dans certains scénarios, il y en a qui avaient peur qu'il y ait une autoroute qui passe sur l'île, comprenez-vous? Donc, on dénaturait complètement. L'autre danger qui était senti, c'est de déplacer l'entrée de l'île, comprenez-vous? Fait qu'encore aujourd'hui, on a des garanties sur ça.
Et pour ce qui est du financement aussi du fameux tunnel, on mentionne que qu'on sait pas d'abord les coûts, combien ça va coûter, là, fait que c'est un petit peu difficile de savoir qui va financer ça. Or, les villes devraient pas investir un sou là-dedans. Le provincial devrait investir la majorité de la somme et le reste, ce sera le fédéral. Bon, maintenant, comment est-ce que ça va se passer? On verra. Chose certaine, les conservateurs, eux, ont mentionné qu'ils allaient appuyer le projet, qu'ils étaient derrière ce projet-là. Bon. On peut entendre le député Pierre Paulus, puis il y avait également Lou Paclaire qui était là, qui glisse un mot.
L'important, c'est que politiquement, on est derrière le projet à 100% comparativement aux libéraux qui sont déjà prononcés très frileux sur le dossier. Et en plus, Stephen Guilbeault, le nouveau candidat libéral, a dit à Radio-Canada l'an dernier qu'il était totalement contre le troisième lien. Donc, M. Guilbeault, qui est le conseiller à M. Trudeau. Donc, les libéraux ont à se prononcer là-dessus parce que je crois que le gouvernement libéral ne serait pas derrière le projet.
Et bon, jusqu'à maintenant, vous entendez tous des gens très heureux de cette annonce-là. Or, les Verts n'étaient pas très contents. Alexandre Turgeon, la direction du Conseil régional de l'environnement, naturellement, ça l'excitait pas tant que ça, ce projet-là. Là.
Mais la pression va demeurer, puis elle va demeurer sur plusieurs décennies, le jour où la construction va se réaliser. Là. Moi, j'ai bon espoir que dans quelques années, on n'en parlera plus de ce projet-là. On va avoir enterré ça une fois pour toutes. Le réalisme va nous avoir rattrapés.
Ah, ça, c'est la prochaine étape.
Il faut jouer cette blague.
La prochaine étape, c'est la réaction des Verts, évidemment, à ce projet-là.
Studio commercial FM93.com, Denis nous écrit, pas pire. J'espère qu'ils feront pas passer les midi-bus dans le tunnel. Je suis pas certain qu'il y ait une autonomie de 9 km sans tomber en panne.
Un autre auditeur par texto, disons, on va arriver plus vite en retard. Alexis Sanson, merci. On prend une pause, on revient.
FM 93, ce midi, de retour après la pause.
5 fois Chrysler.
Tu te cherches un Jeep? Le Grand Cherokee Altitude 2019 est en location 60 mois à partir de $119 par semaine avec un léger comptant. Ça comprend changement d'huile, pneus et freins à vie. Détails sur place chez 5 fois Chrysler sur Franck Carrel.
Hey Jeff, c'est quoi le nom de la place où tu bois la meilleure bière au monde?
Ben, c'est au Belga.
Ben, je viens d'apprendre que les meilleures bières sont maintenant disponibles en épicerie.
Oui, comme la Primus et la Tongerlo Luxe.
La bière du Belga sur Grande Allée.
Maintenant en vente chez les meilleurs détaillants. Cet été, offrez-vous l'expérience de votre vie grâce au Centre du VR Montmagny. Nous vous offrons maintenant les motorisés Thor Industries, Hurricane, Axis et Four Wind. Au Centre du VR Montmagny, sortie 376, autoroute 20. Centreduvr.com.
Vous construisez un patio?
Ben oui, c'est toi, Nancy, qui nous a dit de faire ça.
Hein?
T'as dit un matin qu'on pourrait souper dehors. Tant qu'à faire, on s'est dit qu'on allait construire un patio.
Dave, j'ai dit qu'on pourrait sortir souper.
Ben c'est ça. Je te dis que tu nous en donnes de la job, Nancy.
C'est l'événement Cuisine chez Renault Dépôt. Du 27 juin au 3 juillet, obtenez jusqu'à 20% de rabais sur les comptoirs, robinets, éviers et tuiles de céramique sélectionnés. En magasin et en ligne, des conditions s'appliquent.
Renault Dépôt, le choix des rénovateurs.
Bonsoir les sportifs. En semaine, de 20h30 à minuit. Au FM 93.
Dans les drogues, du... Il y a peut-être aussi du et du. Mais des fois, il y a aussi du. Les drogues peuvent contenir des substances toxiques qui pourraient te tuer. Si tu consommes, informe-toi sur les risques et les conséquences possibles en visitant québec.ca/opioïdes. Pas de risque à prendre. Un message du gouvernement du Québec.
N'ayez plus peur de dépasser vos données. Visitez une boutique TELUS et obtenez des données mobiles à volonté à partir de seulement $75 par mois. Avec certains forfaits, les conditions s'appliquent.
Cartier. Saint-Jean. D'Aiguillon. D'Auteuil. Salaberry. Grande Allée. Sont toutes des rues où vous ne trouverez pas de stationnement pendant le Festival d'été de Québec. Optez plutôt pour le Festibus illimité ou le Festibus 10 passages du RTC. Tous les deux sont offerts dans les quatre stationnements de nos navettes tous les soirs du FEC ou dans nos points de vente. Prochain arrêt, Festival d'été de Québec. Plus de détails au rtcquebec.ca.
Vous songez vendre votre maison? AlexandreWallet.com. Pour payer moins de commissions, AlexandreWallet.com. Vous voulez vraiment vendre? Ça tombe bien, ses clients veulent vraiment acheter. Vendez sans trop payer de commission à partir de 2%.
Le FM 93 a une bonne puis une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise nouvelle, c'est que vous déménagez en fin de semaine. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous allez faire ça avec la meilleure musique et que c'est Normandin qui pourrait vous offrir le repas. Inscrivez-vous sur fm93.com et écoutez Que Québec se lève et la grand-messe du rock. Vous aurez la meilleure musique pour déménager et vous pourriez gagner votre repas Normandin. Ce week-end, bon déménagement de la part de Normandin et le FM 93.
Conduire n'a jamais été si inspirant qu'au volant d'un nouveau véhicule Mazda. Et pour vous le démontrer, nous vous invitons à venir faire un essai routier chez vos concessionnaires Mazda. Surtout que certains modèles vous sont offerts à 0% au financement à l'achat, avec jusqu'à 1 000 $ d'incitatif et la seule garantie à kilométrage illimité au pays. C'est le moment idéal pour en profiter. L'événement Conduire n'a jamais été si inspirant de Mazda se termine le 2 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails chez votre concessionnaire Mazda.
Spectacle, festival, événement. Quand ça bouge à Québec, le FM 93 est de la partie.
Du 1er au 4 août, au Parc de l'Esplanade, l'histoire se joue au fait de la Nouvelle-France TD. Tout ce que ça prend, ben, c'est un petit médaillon dans le cou. Ça, c'est 10 pièces. En pré-vente jusqu'au 14 juillet dans les succursales TD puis Brunet participantes, puis au nouvellefrance.qc.ca.
Les événements de Québec propulsés par le FM 93. FM 93, ça me parle. Bonsoir les sportifs.
Suite à cette autre belle victoire de l'Impact de Montréal, et on continue de le répéter, cette équipe nous impressionne. On va le dire là, sans Nacho Piatti, et il y a quelque chose de magique en semaine qui se passe chez l'Impact de Montréal, que ce soit à domicile ou sur la route. 19 points sur une possibilité de 21 depuis le début de la saison dans les matchs en milieu de semaine.
Bonsoir les sportifs. En semaine, dès 20h30, au FM 93. FM 93, ce midi.
L'Iris publie une étude ce matin, je pense que c'est publié. Étude fort intéressante, un peu inquiétante, quoique il y a deux, trois affaires qu'il faut qu'on m'explique. En gros, ce qu'on dit, c'est que il y aurait une pénurie de logements, crise du logement, là, à l'échelle provinciale d'ailleurs, principalement dans les villes dans la ville de Montréal. Aussi à Rouyn-Noranda et à Gatineau, là, c'est les endroits où ce serait le plus, les endroits qui seraient le plus touchés. Crise du logement parce que, grosso modo, là, quand le taux d'inoccupation, donc le taux de logements qui sont inoccupés de 3%, on dit que c'est un genre d'équilibre, OK? Donc, dans les villes que je viens de vous citer, Montréal, Gatineau, Rouyn-Noranda, on est plus proche de 1,9 respectivement et 1,2% pour les deux autres. Donc, on est bien en deçà du 3%. Exactement. Donc, il y aurait trop peu de logements disponibles par rapport au nombre de personnes qui en cherchent. Depuis à peine quelques années, le taux d'inoccupation est passé de 4,2 à 2,3. Donc, tu vois que ça a baissé de manière draconienne. Mais ce que dit l'Iris dans son étude, c'est que cette crise-là pourrait être permanente. Comment ça se fait? On en parle aujourd'hui avec Philippe Hurteau, qui est chercheur à l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, et qui signe cette étude. Bonjour, Philippe Hurteau.
Bonjour.
D'abord, expliquez-nous, grosso modo, comment ça se fait que cette crise-là, comment ça se fait que vous prévoyez que cette crise-là puisse être permanente?
Ben, en fait, la crise peut être permanente au sens où, présentement, c'est vraiment deux dynamiques là, qui se croisent, qui se rencontrent. D'abord, vraiment, et là, si on parle vraiment un portrait là, à la grandeur de la province, un rétrécissement, un resserrement de la disponibilité des logements qu'on calcule avec l'évolution du taux d'inoccupation. Plus qu'il est bas, moins qu'il y a de logements disponibles, finalement. Donc ça, c'est une première affaire. Et de l'autre côté, une tendance qui, elle, n'est pas récente, mais qui est celle d'une évolution des loyers, les loyers qui augmentent plus rapidement, par exemple, que les recommandations de la régie du logement, plus rapidement que l'inflation et plus rapidement que le revenu moyen des locataires. C'est la rencontre de ces deux dynamiques-là qui fait craindre le pire, parce que il faut bien comprendre que quand on a fini par se sortir de la crise du logement du début des années 2000, il n'y a pas eu d'impact direct ou pas d'impact très fort, à tout le moins, sur l'évolution des loyers. Donc, on se dit, ben, si la pénurie se termine en 2006, 2007, 2008, ça va calmer les loyers. Ça les a pas calmés. Ils ont continué d'augmenter malgré tout. Et là, qu'on revient en situation de pénurie, ben, ça laisse envisager vraiment des augmentations assez importantes là, au niveau des coûts de loyer pour les locataires. En même temps qu'on construit pas vraiment plus de logements locatifs, pas plus de logements sociaux, qu'il y a toujours davantage de logements locatifs qui se retirent du marché à cause d'applications comme Airbnb.
Ouais.
Et effectivement, ça fait craindre le pire pour la suite.
On va y revenir d'ailleurs à Airbnb, mais pour illustrer la situation, là, grosso modo, combien on devrait payer en proportion de notre revenu pour se loger dans une situation, disons, normale, et combien les gens payent à l'heure actuelle pour leur logement par rapport à leur revenu?
Ben, regardez, la moyenne des locataires là est autour du 24 % là, grosso modo, c'est-à-dire le ce que les gens utilisent comme le revenu moyen même le revenu avant impôt, en fait, là, pour donner leur loyer. Mais ça, c'est simplement le loyer, ça compte pas l'assurance, ça compte pas l'électricité, là, bon, etc. Ce qu'on considère, c'est que au-delà de 30% comme coût global d'habitation, les gens donnent une trop grande part de leur revenu pour les frais d'habitation. Présentement, c'est à peu près le portrait général de la moyenne des locataires, parce que si en moyenne, ils investissent 24% de leur revenu pour se loger, quand on ajoute à ça la totalité des frais d'habitation, on n'est pas loin du seuil du 30% qui est jugé comme étant le plafond à ne pas dépasser.
Mais à 25%, à 25-30%, on reste quand même bien en dessous de d'autres grandes villes où les gens payent encore beaucoup plus cher que ça, ben, une plus grande proportion de leur revenu pour se loger.
Ah, ben ça, c'est bien évidemment. C'est sûr que là, nous, on avait une étude où on compare le Québec et les villes québécoises par rapport à elles-mêmes, donc à leur propre évolution. Ouais. Bien sûr, quand on se compare à Toronto, à Vancouver, ou si on va dans les villes, si on va à New York, si on va à Chicago, bon, on n'est pas du tout, ou même si on va en Europe, là, à Paris ou à Berlin, on n'est pas dans ce genre de situation-là, bien évidemment. Ce qui veut pas dire que la situation... on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Par rapport à nous-mêmes, la situation se détériore, mais puisque la situation se détériore encore plus rapidement ailleurs, on peut se considérer chanceux. Le rendu là, je vous dirais que c'est à vous de voir si vous voulez voir ça positivement ou négativement aujourd'hui. La réalité, c'est que c'est plus dur pour les locataires cette année au Québec que ça l'était il y a quelques années.
Mais ça fait un petit règle du pouce rapidement, M. Hurteau. Là, on prend quelqu'un, un ménage au salaire minimum, on est bien au-dessus de 30% du revenu disponible, là, juste revenu global. Donc puis j'imagine que la crise du logement touche particulièrement les personnes qui sont plus précaires financièrement, notamment les ménages à salaire minimum. Là, on est rendu à des gens qui doivent consacrer un 40-45% de leurs revenus pour se loger. Ça devient particulièrement difficile et ça doit être eux, justement, qui sont à la recherche de logements.
Ben là, vous mettez le doigt précisément sur le problème. C'est que, oui, il y a les données générales, mais les moyennes, c'est bien gentil, là, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qui est effectivement touché. Et ce qu'on voit présentement, c'est, vous l'avez dit, les gens à plus faible revenu, puis pas simplement les gens en situation de pauvreté, là, les gens de la base classe moyenne, les gens qui vont avoir des revenus de 30, 35, 40 000 $ par année, donc des gens qui vivent là, décemment, là, ça va, mais c'est pas des gens qui vivent richement non plus. Donc, ces gens-là sont affectés. Encore plus spécifiquement, les familles, hein, les couples, les personnes célibataires avec enfants qui ont de la misère parce que, oui, les loyers augmentent, mais les loyers augmentent encore plus rapidement pour les grands logements qui sont encore moins disponibles que la moyenne des autres. Donc, on fait une tempête parfaite. Là, c'est des personnes qui ont des bas revenus, qui ont à la fois des responsabilités parentales et qui recherchent des grands logements et, encore là, tu sais, des gens qui travaillent ou qui habitent dans des quartiers centraux et non pas en périphérie, habiter proche de son travail pour améliorer sa qualité de vie, par exemple, ça devient très, très compliqué, voire impossible.
Je vous lis un sous-titre de l'article de Radio-Canada qui se lit comme suit. L'IRIS propose d'interdire Airbnb. va falloir m'expliquer parce que moi, je suis de l'école de penser qu'un individu qui investit toutes ses économies dans un building devrait avoir la liberté de choisir la méthode pour le rentabiliser du mieux qu'il peut. Est-ce que vous proposez réellement d'interdire Airbnb?
Ben, en fait, interdire, là, le titre est un peu fort. ce qu'il faut, il faut être capable de faire la distinction entre, par exemple, moi, dans mon logement, là, je m'en vais une fin de semaine faire du camping à Charlevoix, que je loue mon logement pendant cette fin de semaine-là, ça pose aucun problème. C'est pas, ça peut poser des problèmes de voisinage, là, mais ça pose pas de problème là, au niveau de la, l'habitation, ouais. De la du logement. T'sais. Le problème actuellement, c'est que l'utilisation, ce que vous dites précisément, quelqu'un qui investit et qui, en fait, soit dans son propre logement, qui dont il est propriétaire, le loue pas à des locataires, mais le loue systématiquement à des gens de passage, ou une personne qui loue un loyer pour après ça simplement le sous-louer perpétuellement, ça l'enlève des loyers du marché, ça fait augmenter les coûts d'habitation également pour tout le monde. En fait, puis il faut comprendre, c'est quoi autour de 30 000 là, unités de logement au Québec qui sont retirées du marché locatif à cause de l'application Airbnb. Ça, puis en plus, ça exerce une pression sur le marché, ça exerce une pression sur les loyers et c'est une pression qui est exercée de manière très ciblée. C'est-à-dire, ben, c'est pas vraiment à Chibougamau là que les problèmes là de que ça se pose. C'est dans, encore là à Montréal, à Québec, dans les quartiers les plus populaires, les plus centraux, qui sont déjà en situation de pénurie, qui ont déjà des loyers qui augmentent plus rapidement que différents que les indicateurs de référence. Et c'est là que Airbnb concentre l'entièreté. Ben, Airbnb concentre que les gens qui sous-louent par Airbnb sont le plus concentrés. Ouais. Donc, ça vient exacerber encore davantage une situation de pénurie. Et il faut se rendre compte qu'un logement, c'est pas un bien de consommation comme un autre, c'est pas un toaster, c'est un besoin de base. Donc, je comprends là ce que vous dites, une personne qui veut rentabiliser son investissement, mais il y a quand même une hiérarchie d'intérêts peut-être à ce qu'on pourrait voir là.
Sur les besoins de la population.
Ouais. Ben, c'est que tu déploies une. Puis ce sont des besoins élémentaires. Mm-hmm. Avoir un toit en haut de sa tête, c'est pas un voyage à Cuba, là.
Sauf qu'en même temps, Monsieur Hurtault, puis je me fais un peu l'avocat du diable par là, parce que je comprends, je sais ce que vous voulez dire dans les quartiers centraux, tout ça, mais les logements qui vont être loués de type Airbnb, si quelqu'un, par exemple, achète un condo relativement luxueux pour le louer en Airbnb, c'est pas le même logement qui va être recherché par la famille avec à faible revenu. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Donc, à quel point ça cannibalise les besoins de ces personnes-là?
Ah oui, mais bien entendu, là, il y a une différence. Quand je disais tantôt, ça retire 30 quelques mille unités de logement locatif du marché. Il faut rajouter à ça aussi l'enjeu des condos. C'est pas le même impact. Là, en fait, c'est une autre perspective. Regardez, le problème, c'est que depuis 20 ans, précisément, en fait, on n'a pas de politique d'habitation au Québec. On a grosso modo dit aux promoteurs, allez-y, puis ça va combler les besoins. Les promoteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé des condos majoritairement, mais là, très vastement majoritairement, des 3,5, des 4,5, des 5,5. Beaucoup de condos faits pour des jeunes célibataires professionnels ou en couple, finalement. C'est bien gentil de développer du logement pour les jeunes professionnels, jeunes et en couple, mais ça répond pas à l'entièreté des besoins de la population. Et là, on a d'un côté une surabondance d'un type de logement, le petit condo, qui effectivement peut être sous-loué sur Airbnb sans que ça dérange trop à part des enjeux de voisinage. Mais de l'autre côté, on n'a plus, en quantité suffisante, des 6,5, des 7,5 pour aménager pour les besoins des familles. Donc là, c'est peut-être pas en luttant contre Airbnb que ça serait la solution à ce problème-là, mais c'est que s'assurer, par exemple en imposant des quotas, que dans chaque nouveau développement, là vraiment en ciblant les nouveaux développements qui sont dans les quartiers les plus sensibles, si on construit une tour de 60 condos, il faut s'assurer d'avoir, par exemple, 20% de logements locatifs à l'intérieur pour s'assurer un maintien d'équilibre dans le marché, pour s'assurer que la diversité des besoins d'habitation soit comblée, ce qui n'est pas le cas présentement.
Et là, vous proposez aussi d'octroyer à la régie du logement le pouvoir d'imposer une hausse maximale du coût du logement. Moi, je suis locataire. Fait que c'est sûr, je trouve ça intéressant comme proposition parce que ça me favoriserait. Mais tous les propriétaires de logements locatifs, eux, ils disent, regardez, là, la régie du logement nous empêche de mettre à la porte des mauvais locataires, nous empêche de faire plein d'affaires, ça favorise systématiquement le locataire. Donc, à un moment donné, les gens veulent soit faire du Airbnb parce que c'est plus simple pour eux autres, ou n'investissent plus dans le logement puis veulent plus acheter des buildings pour en faire du logement. Alors là, il y a une contradiction aussi, là, il y a un problème.
Ben, il y a encore là, effectivement, il y a un problème. Il faut se rappeler, hein, qu'on dit que la régie avantage systématiquement les locataires.
Ben,
c'est parce que dans le rapport de négociation entre locataires et propriétaires, c'est pas un rapport égalitaire, là. Il y a un qui possède le logement, qui peut louer un peu à qui il veut, et l'autre qui veut se chercher une place pour habiter,
histoires d'horreur, M. Hurtault, on s'en fait raconter.
Je vais vous donner
un
exemple concret, M. Hurtault, parce que ma copine représente notamment les gens de la Corpic, là, à la régie du logement. puis des cas où est-ce que c'est pas une question de rapport, là, mais je vais vous donner un exemple d'un locataire qui a une infestation de coquerelles dans son logement, mais il ne laisse pas entrer son propriétaire pour qu'il s'en occupe, et comme le propriétaire peut pas rentrer, l'infestation de coquerelles s'est propagée dans le building au complet. Je pourrais vous en raconter pendant une heure et demie de temps.
Là. Mais si vous me permettez de vous dire, je comprends tout à fait ce que vous dites là, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la capacité de fixer ou non les loyers, parce que ça, effectivement, est-ce qu'il y a des choses à revoir pour permettre des enjeux de salubrité?
C'est ça.
Je crois sur parole, là, c'est pas ça, je veux bien. Mais
Ça a surtout à voir, monsieur Tout, avec le rapport de force entre le locataire puis le locataire, qui honnêtement favorise quand même. Je suis locataire puis je l'admets, ça favorise quand même le locataire. Puis je pense que ça dissuade bien des gens d'investir dans l'immobilier puis dans le logement locatif, ce qui fait que ben au volume il y en a moins.
Oui, peut-être, mais de l'autre côté, regardez, là, c'est, tant qu'à faire l'avocat du diable, de l'autre côté, la situation actuelle fait en sorte que les locataires paient une part toujours plus grande de leurs propres revenus pour se loger sans nécessairement avoir d'amélioration non plus de leurs conditions de logement. Donc, le modèle actuel, il fait pas tant que ça non plus l'affaire des locataires, parce que si c'était si outrageusement à l'avantage des locataires, on verrait pas d'augmentation des loyers. Les loyers seraient stables ou tendraient à diminuer, ce qu'on voit pas non plus. Mais c'est pour ça que je vous dis, le pouvoir très grand de la régie, il faut pas non plus l'exagérer, parce que la réalité, c'est que la très, très vaste majorité, 99% et plus des loyers au Québec, sont décidés hors recommandation de la régie du logement.
Ça c'est un fait. Ça, vous avez pas tort, monsieur Hurtault, par contre, et je rejoins plusieurs auditeurs qui nous le font parvenir via texto. Le fait que la littérature économique démontre notamment que les lois sur le contrôle des hausses des loyers, et ça, un peu partout à travers le monde, ont tendance à diminuer la quantité et la qualité des loyers, justement parce que mon collègue Paul mentionnait, c'est-à-dire le fait que moins de gens veulent se lancer dans l'immobilier en raison de ces restrictions-là. Est-ce que ça se peut aussi que cet élément-là joue, c'est-à-dire que, je donne l'exemple des tenanciers de taudis là, à Montréal, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a moins à Québec, on est plus chanceux un peu. Mais à Montréal, vous avez de ces gens-là qui se lancent là-dedans parce qu'ils savent qu'ils peuvent offrir des logements qui coûtent à peu près rien, mais qui sont dans des conditions épouvantables, dignes du tiers-monde. Est-ce que ne pas laisser davantage de liberté aux propriétaires, ça encouragerait pas de bons propriétaires, de bons tenanciers à avoir des loyers? Peut-être oui, un peu plus cher, mais au moins qui assure aux locataires une bonne qualité de vie?
Mais théoriquement, vous n'avez pas tort. La loi, les lois de l'économie disent grosso modo ce que vous venez de dire. Concrètement, ceci dit, la conséquence de ça, c'est que les revenus des locataires ne sont pas flexibles à ce point-là, sont pas... La conséquence, ça veut donc dire que oui, peut-être que si les loyers augmentent davantage, surtout dans certains quartiers plus en demande, qu'on laisse plus de latitude aux propriétaires, comme vous le suggérez, les loyers vont augmenter, les immeubles, on l'espère, vont être mieux entretenus, mais c'est la personne qui occupe le loyer qui va changer. La personne qui est une personne à faible revenu va devoir déménager. C'est ce qu'on appelle le processus de gentrification, là, les gens qui doivent quitter leur propre quartier parce qu'ils sont plus capables de suivre le coût. Là-dessus, il n'y a pas de solution simple, là, entendons-nous, là. Mais présentement, aller dans le sens que vous suggérez aurait peut-être des effets positifs pour l'entretien des immeubles, mais aurait clairement un effet négatif, c'est-à-dire que ça chasserait des gens de leur propre loyer, finalement, ce qui n'est quand même pas un objectif si intéressant ça à poursuivre. Après ça, comment chercher un équilibre pour maintenir ensemble ces deux préoccupations-là? Ça, évidemment, là, j'ai malheureusement pas de solution miracle pour vous aujourd'hui, là.
Merci, M. Hurtault. Discussion fort intéressante.
Oui, absolument.
Merci à vous.
OK, bonne journée. Philippe Hurtault est chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Et dans cette période de l'année où je sais que vous êtes plusieurs à être dans les boîtes puis à préparer le déménagement, aller chercher le troc samedi matin, sachez que je compatis. Mais moi, c'est fait!
FM 93, ce midi, de retour après la pause.
Et si vos vacances commençaient au moment où vous prenez place derrière le volant? Les Volvo XC60 et XC90 vous offrent des systèmes de sécurité novateurs et un habitacle scandinave au design raffiné qui vous assure confort et quiétude, peu importe votre destination. Pendant l'événement signature de Volvo, louez ou financez un XC60 ou un XC90 2019 à partir de 2,9% et économisez jusqu'à 2 500 $.
Détails chez Volvo de Québec ou sur volvodequebec.com. Afin de souligner la rénovation de ces magasins, Plancher Bois Franc 2000 vous offre 25 % de rabais sur les céramiques et 15 % sur les planchers laminés et de vinyle de marque Torley's. Dépêchez-vous, leurs planchers durent longtemps, mais ces promotions partiront vite. Plancher Bois Franc 2000, Québec et Lévis.
Cartier, Saint-Jean, d'Aiguillon, d'Auteuil.
Salaberry, Grande Allée, sont toutes des rues où vous ne trouverez pas de stationnement pendant le Festival d'été de Québec. Optez plutôt pour le Festibus illimité ou le Festibus 10 passages du RTC. Tous les deux sont offerts dans les quatre stationnements de nos navettes tous les soirs du FEC ou dans nos points de vente. Prochain arrêt, Festival d'été de Québec. Plus de détails au rtcquebec.ca.
Doyons des prix à demander à Philippe comment il se sentait après l'achat de son barbecue.
Je renais de mes cendres, tel un phénix, et j'accomplis des merveilles, des chefs-d'œuvre, des miracles.
Doyon Després vous équipe comme un pro, que vous soyez chef ou pas.
C'est l'événement tout équipé chez Doyon Després. Jusqu'au 1er juillet, faites l'achat d'un barbecue de marque Saveur et obtenez plus de 300$ en équipement. De la rôtissoire jusqu'au support à côte levée. Dépêchez-vous d'en profiter. Doyon Després, rue du Marais et doyondespres.com.
Chez Toyota, on comprend ceux qui manquent de timing.
Et pour $1 million, quelle est la capitale de la Lituanie?
Vilnius? Trop tard.
À tous ceux qui manquent de timing, la vente étiquette rouge de Toyota, c'est là. Et c'est votre dernière chance d'en profiter. Achetez la Corolla 2020 complètement redessinée à un taux de financement à partir de 1,99% sur 36 mois. Jusqu'au 2 juillet. Tous les détails chez votre concessionnaire.
Salut, c'est Jonathan Bernard. Vous me connaissez comme reporter au FM 93, mais je suis aussi un amoureux du vélo. Et le 8 septembre prochain, je participerai au cyclo-défi IUCPQ présenté par Cominar et SSQ Assurance. Une randonnée dont les profits serviront à appuyer la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Inscrivez-vous d'ici le 3 juillet et vous économiserez $25. Rendez-vous au cyclodéfi-iucpq.com, une invitation du FM 93.
La vitre de votre iPhone est cassée. Votre sel marche plus? Passez chez Télution. Ils changent les vitres, batteries, connecteurs, souvent en 15 minutes et ils ont maintenant une section de cellulaires usagés. Télution sur Saint-Sacrement, Saint-Jean, à Saint-Romuald et maintenant à Charlebourg. Télution.com.
Le 47e parallèle termine sa grande métamorphose bientôt. Dès la semaine prochaine, soyez parmi les premiers à découvrir le nouveau décor et la nouvelle image du 47 Cuisine Créative. Le 47, voisin du Grand Théâtre. Réservation, voir le47.com.
Le seul gigantesque d'été chez l'équipeur est en cours jusqu'au samedi. Économisez 25 à 70% de rabais sur nos prix courants et de liquidation dans tout le magasin. Nous avons des bonnes aubaines, telles que 50% sur les manteaux et les vêtements décontractés, 40% sur les chaussures tout allées, 30% sur les jeans et bien plus. Et la livraison est gratuite sur l'équipeur.com. Visitez l'équipeur dès maintenant jusqu'au samedi pour le seul gigantesque d'été. L'équipeur, équipé pour tout, excluant l'achat des cartes cadeaux. Aubaine à tout casser à prix marqué.
Les Capitales de Québec jouent ce soir au Stade Canac. Avec les amis, les collègues ou la famille, fêtez l'été sans vous ruiner. Bien à 11$ et hot dog à 2,50. Visitez capitaldequebec.com.
Toi, même en vacances, pas de compromis à faire côté sécurité. Une veste de flottaison en chaloupe, tu mets ça. Un casque en vélo, tu portes ça. Le Toyota Safety Sense offert de série sur pratiquement tous les modèles chez Boulevard Toyota, tu veux ça. Pendant la vente étiquette rouge, une Prius Prime 2020 à partir de seulement $28,734 ou $76 par semaine en location 60 mois, tu veux ça. Boulevard Toyota, tu veux ça. Incluant les incitatifs gouvernementaux, location sans acompte, 260 versements, 100 000 km alloués et dizaines de kilomètres excédentaires, taxe en sus.
La météo, présentée par Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair. Il y a 20 ans, Kia Québec devenait le premier concessionnaire Kia d'une ville majeure au pays. Pour dire merci, on rachète votre bail et vous épargnez 40 cents du litre d'essence chez Esso Immobile. Passez voir la nouvelle Soul 2020. On est ouvert le samedi.
En alternance de soleil et de nuages, avec plus d'une chance sur deux d'avoir des averses cet après-midi, risque d'orage maximum de 26 degrés, partiellement nuageux et 60 % de probabilité d'averses et risque d'orage pour ce soir et cette nuit également. Demain vendredi, 26 degrés, beau soleil sur Québec.
Vous écoutez FM 93 ce midi.
Jean-Simon, vous avez une conversation intéressante, Elisabeth et toi, ce matin, dans Bouchard en parle en vacances. Concernant le service à la clientèle, on a tous les deux travaillé pendant plusieurs années au service à la clientèle dans différents milieux. Dans notre vie précédant la radio.
Ouais, en fait, j'ai fait plus de service à la clientèle que de radio jusqu'à maintenant.
Moi aussi, je
8 ans contre 6 ans à date. 8 ans de service à la clientèle.
Ouais, moi aussi, j'ai plus de service à la clientèle que de radio en mars, c'est vrai.
On est des genoux.
Ouais.
Et oui, ce matin, c'est Élie qui me contait que elle va au Tim Hortons à côté chercher son matin, son café à chaque matin. Son matin à chaque café.
Elle se lève le café, ben, va chercher son matin.
Absolument. Au Tim Hortons en bas, qui est maintenant ouvert service au volant 24 heures, puisque ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois, c'est redevenu. Puis pour elle, ben, c'est une bénédiction, parce qu'elle, elle va vraiment chercher son café. À peu près vers 5 heures moins quart, elle s'en va là, elle va au service au volant. Puis là, elle comptait que ce matin, il y avait quelqu'un dans un pick-up qui était au service au volant. Tu sais, le petit microphone où est-ce que tu fais ta commande. Il y avait une bonne file. Ça donnait qu'à 5 heures moins quart un matin.
Bonjour, pour prendre votre commande, s'il vous plaît.
C'est ça, là?
J'adore ça. C'est exactement ça. Un petit
matin. Bonjour, c'est Nancy. Je peux prendre votre commande?
Je suis bien. Je vais aller dans
ça. Changez pas de poste, là.
Non, c'est de la bonne radio, ça. Et donc, il y avait une bonne file le matin. Ça date qu'il y a 5 heures moins quart. Il y avait 5-6 véhicules en attente. Et la personne qui était dans le pick-up, elle demande, mettons, je sais pas, moi, un BLT, puis il n'y en avait pas. Fait que l'employé dit, ben, j'en ai pas. Après ça, il dit, je vais prendre un petit matin avec bacon. Ben, j'en ai pas. C'était peut-être pas ça, mais bon. En tout cas, il y avait rien. Ça fait 3-4 fois. Fait que là, finalement, le gars est un peu mindfuck. Fait qu'il dit, ben, je sais pas trop. T'sais, il tète un peu. Puis là, à un moment donné, l'employé, il dit, c'est parce qu'il y a d'autres personnes en arrière de vous. Et le gars, finalement, s'ostine un petit peu avec. Et finalement, il décolle en trombe, il s'en va. Et Elisabeth a entendu l'employé se faire dire par son supérieur, c'est parce qu'on dit pas ça aux clients, tu sais. On traite pas les clients comme ça, on leur dit pas, il y a d'autres personnes qui attendent. Ceci étant dit, Elisabeth dit, ben moi, je trouve qu'il a bien fait l'employé de dire qu'on n'avait pas rien que ça à faire, parce que moi, j'attendais, puis le reste du monde attendait. Et moi, j'ai dit, ben personnellement, je suis pas d'accord. Parce que quand tu es en service à la clientèle, une des choses que tu dois faire, c'est accepter que le client a toujours raison, du moins donner raison au client la plupart du temps, tu sais, dans la majorité des cas. Même si des fois, ça veut dire serrer les dents très, très fort au point qu'il grince puis qu'il y a un petit peu d'émail qui s'en va. Ouais. Mais des fois, faut que tu piles sur ton orgueil, parce que le service à la clientèle, c'est faire face, oui, à certaines personnes qui sont des perles, des gens très sympathiques et qui comprennent un peu ta situation, mais aussi des gens pas pantoute aimables qui vont tout faire pour t'enquiquider puis te faire passer un mauvais moment. Alors, j'ai dit ça, autrement dit, ça fait un peu partie de la game. Donc, l'employé aurait peut-être dû dire, ben monsieur, à place de je sais pas moi, un BLT, voulez-vous un sandwich à dinde western, je sais-tu, là?
Ben, surtout dans le contexte où, normalement, il est supposé te servir quelque chose qu'il n'y a pas. Parce que, il y a deux choses dans ton histoire. La première, c'est est-ce que l'employé du team avait raison de parler comme ça au client? Peut-être que oui, peut-être que non. T'sais, je le sais pas. Peut-être le client est extrêmement déplaisant, puis l'employé, finalement, il s'en est débarrassé. Peut-être que l'employé a été impatient, puis qu'il aurait dû être plus patient. Je t'avoue que je le sais pas. Mais à la question suivante, puis 25-226... Répondez tout de suite là à la question, puis pendant ce temps-là, nous on discute, puis on verra bien finalement ça donne quoi. On va utiliser le 25-226 comme un laboratoire de sondage non scientifique.
Une question spring, comme José et le doc font. Là.
Le client a-t-il toujours raison? Oui ou non? Quand tu travailles au service à la clientèle, le client a-t-il toujours raison? Moi, je te le dis tout de suite, la réponse c'est non. C'est pas vrai que le client... Absolument. C'est un beau proverbe. C'est une belle affaire à dire quand t'es gérant ou quand t'es tenancier d'un établissement ou quand t'as ta PME, t'es un entrepreneur puis que t'as des employés. C'est une belle phrase à dire à tes employés pour qu'ils adoptent des comportements adéquats à l'égard des clients. OK. Mais c'est pas vrai, foncièrement, là, c'est pas vrai que le client a toujours raison.
Et dans les faits, t'as...
J'en ai mille des exemples où le client a vraiment raison.
Ben oui, je sais, mais dans les faits, c'est vrai que théoriquement, t'as raison, le client n'a pas toujours raison, mais je pense que tu dois lui donner raison. Non. Dans la limite du raisonnable.
Non, ta job, quand il a tort, c'est de lui démontrer qu'il a tort.
OK, donne-moi des exemples.
J'ai travaillé dans un magasin où on vendait des bottes de travail, OK? Tu sais, des bottes de travail, là, c'est des bottes que les gars portent 12 heures par jour sur la construction, dans un garage, des fois dans des conditions particulières. Les gars qui travaillent sur le béton, ils n'ont pas besoin des mêmes bottes que les gars qui travaillent dans le garage, dans l'huile. Des fois, c'est des produits chimiques. Des fois, c'est des bottes de soudeur. Ouais. Fait que tu vas avoir des étincelles. Puis bon, je sais pas quoi, ça va te prendre des bottes spéciales au soudeur. Combien de fois c'est arrivé? Moi, j'étais le préposé aux bottes. Là, à un moment donné, là, j'ai fait ça pendant 3 ou 4 ans. Commence à les connaître, les modèles de bottes, les prix, comment ils sont faits, les composants. J'ai tout appris. Je les connais toutes. OK? Je les ai même essayé, les bottes, là, tu sais. Combien de fois c'est arrivé qu'un client arrivait, puis là, il me disait, ouais, c'est ça, moi, je fais tel job. Ben, en fait, moi, j'allais le voir, parce qu'il vient pas nécessairement le voir non plus. Il y a des clients qui ont pas besoin de service. Mais nous autres, on allait voir les gens. Est-ce que je peux vous aider? Ah, oh, non, ça va. Je suis garagiste, puis je pense que je vais prendre ces bottes-là. Puis là, moi, je constate que c'est pas vraiment le meilleur modèle pour un garagiste. Fait que je vais y expliquer. Voici le meilleur modèle, vous avez tel choix, la gamme de prix, toutes les caractéristiques. Mais si le client il trouve que l'autre paire de bottes est plus belle, puis qu'il l'aime mieux, puis qu'il a vu le prix, puis 139$, ça y convient, ma job, c'est de lui faire comprendre qu'il a tort. Maintenant, si je suis pas capable, tant pis. Mais le client, il a tort. Il est en train d'acheter le mauvais produit pour ses besoins.
Au 25-2-6, vous êtes très, très nombreux à répondre que non, le client n'a pas toujours raison. Mais la meilleure réponse que j'ai eue, c'est oui, mais non. J'aime ça. Oui, mais non. C'est-à-dire c'est que ça. Oui, en principe, il a toujours raison, mais non, il n'a pas toujours raison dans les faits. Mais je vais te donner des exemples parce que malheureusement, j'ai dû jeter la serviette. Je vais te donner, tu sais, en restauration, mettons, tu as été dans les bars, puis tu sais c'est quoi, là. En restauration, tu te démènes pendant 3 heures de temps pour servir un groupe de 25 personnes. Et tu sais, en ton fort intérieur, tu sais, on est capable de savoir si on a donné un bon ou un mauvais service selon nos standards, quand même, là. Tu sais que tu mérites ta paye. Ta paye, c'est quoi? C'est le pourboire. Tu te fais donner 5%. Ben, c'est plate à dire, mais il faut que tu ravales. Tu sais qu'il a tort, le client, de te donner 5%. Il t'a dit que c'était merveilleux tout le long. Mais en tant que tel, t'as pas le droit de dire « Vous êtes cheap, monsieur, je mérite plus. » Tu peux pas dire ça.
Non, mais tu peux lui expliquer pourquoi il faudrait, en théorie, si t'as fait un bon travail, qu'il te donne plus que 15%.
C'est quoi? Non, tu peux pas faire ça. Puis je me le suis déjà fait expliquer par mon patron à l'époque parce que j'ai déjà dit ça à un client. Puis j'ai compris sa vision des choses.
C'est un resto, tu m'as dit?
Oui, c'est un resto. Okay. Et j'ai compris sa vision des choses. J'avais une tendance à dire ça à des clients. Vous savez que d'usage, on laisse en général 15% avant taxe. Si vous êtes satisfait du service. Je demandais toujours « Êtes-vous satisfait du service? » S'il disait oui, puis c'était toujours le cas en général. Tu sais, ben, en général, on laisse 15%. Et certains disaient, je savais pas, parce qu'il y a vraiment des gens qui le savent pas vraiment, puis le pourboire, c'est
même. Des touristes, tu sais, des touristes européens, ils n'ont jamais de pourboire.
Même des Québécois, qu'il y a des gens qui sortent pas souvent au restaurant, puis des fois, c'est mêlant, avant taxe, après taxe. Je comprends ça à 100 000 à l'heure. Mais à un moment donné, mon boss m'avait pogné à part, il m'a dit, tu sais, Jean-Simon, il dit, je comprends, là, c'est fâchant, là. Puis il dit, je sais que tu t'as donné le meilleur de toi-même, mais il dit, moi, là, si tu fais ça, là, si tu dis à un client, là, qui est venu avec deux personnes aujourd'hui, une table de trois, écoute, moi, je pense que je mérite plus, puis je devrais avoir 15%, puis que lui, il décide qu'il est fâché après toi, puis qu'il revient pas me voir, je perds de l'argent.
Exact.
Le client, là, au Tim Hortons, un matin, là, qui s'est fait dire, ben, prenez, dépêchez-vous, il y a du monde qui attend en arrière, je te garantis qu'il va aller chercher son petit matin dans un autre Tim Hortons.
Oui, c'est vrai. T'as raison. Puis vois-tu,
pour le
pourboire, moi, j'ai fait 3 ans derrière un bar, puis je t'avoue que j'ai développé des techniques aussi. Moi, j'avais des collègues, là, que première offense, aucun scrupule, il allait dire à personne, c'est tout, c'est juste ça que tu me laisses comme pourboire. Et boy, écoute. Puis en plus, nous autres, on avait la chance d'avoir une boss qui s'en foutait éperdument. Le bar était payé. C'est une place qui existe depuis 50 ans. Fait que mettre des clients dehors, là, à rigueur, c'était pas grave, tu sais. Pour vrai, c'était pas grave. C'était tout le temps plein quand même. Là. C'est comme c'est une business qui marchait d'elle-même. Ouais. En général, ça arrive pas. Mais malgré ça, j'avais développé des trucs pour, d'abord, la raison suivante. Des clients qui donnaient pas assez de pourboire, mettons, je sais pas moi, une pièce sur 20 pièces. Ouais. Ça fait 5%, OK? À la fin de ma soirée, moi, en 3 ans, c'est jamais arrivé que j'étais en bas de 15%. Jamais, 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 jamais. Alors, de dire à un client, excusez-moi, là, mais ça vaut au moins 2,5 piastres. Hey, je repars d'ici avec 200 piastres dans mes poches.
Je comprends.
C'est ça qu'on faisait comme poche. C'était 200, 250 piastres. Puis, dépendamment des restos et des serveurs qui font encore plus d'argent que ça. Ça fait que, s'ostiner pour 1 piastre, moi, c'était pas dans ma nature. Sauf que, autre truc, les gens qui laissaient du pourboire en 5 cents pas en 10 cents, ça, là, moi, je venais fou, mon gars. Mais, c'est pas pour mal faire, c'est de l'argent pareil. Moi, je le laissais sur le bord. Tu sais, quelqu'un qui venait, les gens ils venaient commander au bar ou à table, ils laissaient un pourboire, je le laissais là. Je ramassais la pièce ou je ramassais le 2 piastres. Là. Les 5 cents, les 10 cents, je les laissais. Le message est assez clair. Et troisième situation, un client qui laisse systématiquement trop peu de pourboire, ben je lui donne systématiquement un mauvais service.
Ah, tu faisais ça?
Pas être bête. Non, mais j'étais pas bête. Sauf que quand t'as, par exemple, 10 personnes à servir en même temps. Puis tu sais, là, je veux dire, c'est un bar là, dans le vieux Lévis. Ouais. Je veux dire, tu connais le monde, tu connais tout. Là,
tu connais par leur nom.
Ça fait que celui que tu vois que c'est un jeune de 18 ans et quart, qui n'est pas habitué de sortir, puis qu'il n'a pas bien d'argent, puis qui laisse 25 cents sur une bière à 7 piastres, ben parfait. Mais je vais servir tout le monde avant de venir te voir. T'sais. Donc,
pas fou.
Toi, tu vas te dire, ben, j'ai un mauvais service, je laisse 25 cents. Parfait, donne-moi 25 cents. Mais ça va être extrêmement long avant que je te serve.
Je vais te donner un autre argument qui milite en faveur de notre gars dans son pick-up qui a pris du temps un peu à choisir aujourd'hui. Puis ça revient un peu dans les textos. Là. Puis qui milite en faveur du client a de plus en plus toujours raison présentement. Et c'est la pénurie de main d'œuvre. De plus en plus. Puis il y en a il y a des textos là. Moi ça m'écœure de ce temps-ci quand je me fais servir. Il y a des employés qui parlent de leur congé à venir, puis qui parlent qu'ils sont fatigués, puis qui parlent qu'ils ont pas le goût d'être là, tout ça. C'est vrai. Puis c'est vrai que c'est lent de ce temps-ci. Puis c'est vrai que de plus en plus des cas où est-ce que récemment dans un restaurant dans le vieux Québec, je commande une pizza avec ma copine qui me semble très très bonne. Tu sais, disent pizza sicilienne. Je pense une affaire de même. Je commande ça. Je te mens pas, mon homme, là, mon père est vietnamien, fait que, tu sais, manger des piments, là, je suis habitué depuis que je suis tout petit, là.
Ouais, ouais.
J'ai jamais mangé quelque chose d'aussi piquant de ma vie, là. Ma blonde n'a pas profité pour 25 cents. Mais je suis un gars qui est assez accommodant.
25 cents? Non, c'est pas vrai.
Fait qu'à la fin, quand elle vient me voir pour me demander si tout était à mon goût, j'ai dit, La pizza est super bonne, mais juste à mentionner, tu sais, dans le menu, peut-être serait intéressant d'écrire parce que c'était pas écrit dans le menu.
Ouais, mettez un petit piment à côté, oui, là, juste pour dire.
Un petit dessin de piment, parce que ouais, honnêtement, parce que là, elle dit, ben là, c'est la première fois qu'on me dit ça. Il y a personne qui me dit ça d'habitude. Non, mais je fais, non, non, mais c'est juste te dire, ben, il y a personne qui me dit ça d'habitude. De plus en plus, là, remarque-le, là.
Ouais.
Les employés s'ostinent avec les clients. Et ça, ça me met furax.
Mais ça, c'est épouvantable.
Furax.
Parce que le pire, c'est que le gérant du resto, ou même le propriétaire du resto, ses commentaires-là, il s'en sert, là.
Ben oui.
Va pas penser que. Moi, j'ai toujours été mal à l'aise, par exemple, de retourner une assiette ou. Puis, encore, j'étais encore mal à l'aise, mais ça, c'est mon problème à moi. Parce que, honnêtement, moi, je suis convaincu. Peut-être qu'il y a des serveurs qui vont mal le prendre. Ils vont ravaler, ils diront rien, puis ils vont le ramener. Mais, moi, si je suis propriétaire d'un resto, là. Ou si je suis chef, par exemple, je suis chef cuisinier dans un resto, puis que de manière presque systématique, il y a un de mes plats qui a un problème. Moi, je l'ai pas vu, mais les clients, là, même si moi, je suis un super gastronome, les clients, ils trouvent tout le temps le même problème dans mon plat. J'espère qu'il y en a deux, trois qui vont venir me le dire. Là, quand ça va faire trois personnes qui me disent « La pizza sicilienne, là, elle est pas mal forte, hein? »
Je crache du feu après.
Ben, peut-être bien que, dans le fond, ça serait une bonne idée pour le service puis pour la business d'enlever un peu de piment de sa pizza sicilienne, pour reprendre ton exemple.
Alors, dans le contexte de la pénurie de main d'œuvre et d'employés qui sont qualifiés carrément, de, et ça, c'est le surnom que Sylvain Bouchard a trouvé, je trouve ça génial, de pénurie. On a affaire à des pénuries. Là.
Des employés pénuries.
On appelle ça des pénuries.
Des employés pénuries.
Des employés de pénurie, ouais. Exactement. Je comprends qu'il y a plus de frustration de la part des gens et que les clients ont de plus en plus raison parce que les employés sont de moins en moins compétents. Et ça, c'est pas la faute des employeurs, c'est la faute de la pénurie de main d'œuvre.
Et conseil pour venant de la part d'un gars qui a fait pas mal de services à la clientèle, et je suis convaincu que toutes les personnes ici qui travaillent là, dans des magasins, dans des restos, là, vous travaillez avec le public de près ou de loin, convaincu à 100% des gens vont être d'accord avec ce que je vais dire. Les clients qui sont sympathiques vont avoir un meilleur service systématiquement que les clients déplaisants.
Ben oui.
Un client qui est déplaisant, qui est impoli, qui est pressé, qui est bête, la personne qui travaille au service à la clientèle, là, elle veut s'en débarrasser. Le client qui est sympathique, qui dit bonjour, qui t'appelle par ton nom, lui, là, lui, il va avoir le droit au petit plus du service. Lui, il va avoir le droit au service attentionné, au truc que peut-être que l'employé ne dit pas à tout le monde, mais c'est tellement, tellement, tellement une meilleure idée d'être un client sympathique qu'un client déplaisant, là, je vous le dis, là. Vous allez toujours avoir un meilleur service si vous êtes sympathique. Avant de prendre une pause, Jean-Simon, c'est l'été, il fait beau, on prend de la bière.
Ouais, puis ça commence aujourd'hui, ce soir. On peut vraiment appeler ça un jeudredi, là, ce soir, parce que c'est le début du festival de Lévis.
Ouais, parle-moi-en pas, il est 13h, puis j'y pense déjà.
Ouais, j'ai déjà soif. Écoute, ce soir, ça commence, c'est du 27 au 30 juin, donc c'est jusqu'à dimanche. Sur le Quai Paquette, le thème, c'est l'art de déguster, parce que la bière, ben, c'est un art, mais en plus de ça, il va y avoir de l'art de performance, des graffitis live sur place, des bands sur place, plus de 60 microbrasseries qui vont être là avec des casques exclusifs, parce qu'il y a des bières, oui, qui font seulement pour des festivals. Là, je vous donne un exemple, notamment, là, il y a une bière que j'ai goûtée la semaine passée à la souche, une IPA au café. Oui, IPA au café.
Hey, monsieur.
Ça te donne-tu une idée? Alors, il y a toutes sortes d'affaires, c'est rare que tu vois ça, une IPA au café.
Ouais, c'était-tu une stout?
Non, c'était pas une stout, c'était une IPA au café lait.
On s'est chicané hier, Jean-Simon puis moi, sur la prononciation de la bière stout. Parce mais que tout le monde sait que c'est évident pour 99,9% de la population qu'on dit stout.
Sauf les amateurs de bière qui disent stout, bien sûr. Et donc, les stout goûtent souvent le café, mais l'IPA un petit peu moins. Donc, vous allez pouvoir goûter à du stock exclusif, en plus de profiter de la pub et vue sur la ville de Québec, qui, ben oui, est à Lévis. Et pour faire mon premier gagnant de deux verres et des jetons pour déguster, ben je pose des questions pour avoir des amateurs de bière aussi. Ben alors, ouais. La bière est composée, ça c'est ma question, 670-9330, le premier qui l'a, donc plus fort la poche, remporte les deux verres et les jetons. OK. La bière est composée de quatre ingrédients principaux.
Hey boy.
Le malt, le houblon, la levure. Quel est l'ingrédient principal? 670-9330.
Hey, monsieur.
C'est une IPA au café, pas une stout.
FM 93, ce midi. De retour dans quelques instants.
Chez Toyota, on comprend ceux qui manquent de timing.
Salut.
Hey, salut.
T'as passé un beau week-end?
Oui.
J'ai pris ça relax.
Toi?
Vas-y, toi. Ben, je suis resté chez nous. Bon.
Ben, bonne journée.
À toi aussi, nous.
À tous ceux qui manquent de timing, l'avant étiquette rouge de Toyota, c'est là. Et c'est votre dernière chance d'en profiter. Louez le RAV4 2 RM LE 2019 à partir de $88 par semaine, zéro comptant. Jusqu'au 2 juillet, total de 260 paiements sur 60 mois, 17 du kilomètre additionnel après 100 000 km, prix suggéré de $30,304.
Étoile 93.3, pour signaler un problème sur la route. Pour intervenir en onde. Pour réagir. Composez Étoile 93.3. 93.3.
Ici Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et candidate de l'équipe Trudeau. Au cours des quatre dernières années, on s'est tenu debout pour les familles de la classe moyenne.
on s'est tenu debout pour mettre en place l'allocation canadienne pour enfants. Aujourd'hui, 9 familles sur 10 reçoivent des centaines de dollars de plus chaque année non imposables. On s'est tenu debout face aux conservateurs qui s'opposaient à cette mesure.
Ici Justin Trudeau. Oui, on se tient debout pour vous.
Pour en savoir plus, visitez libéral.ca, autorisé par l'agent enregistré du Parti libéral du Canada.
Vous connaissez le dicton? Après le froid, la chaleur. Mais êtes-vous prêt?
Allez donc chez Enviro-Confort.
Pour un temps limité et seulement chez Enviro-Confort, climatisez votre chez-vous avec l'expert Carrier pour 35 $ par mois. Visitez enviroconfort.com.
À ceux qui vont déménager dans un avenir rapproché, inspirez. Corbeil livre vos nouveaux électros le lendemain, gratuitement. Expirez. Corbeil récupère vos anciens appareils sans frais. Respirez. Déménagez sans forcer tout en obtenant des rabais allant jusqu'à 30% grâce à la promotion Cuisine Divine. On ménage votre dos en prenant tout sur nos épaules chez Corbeil.
Le spécialiste de l'électroménager, c'est Corbeil.
Du 21 mai au 1er juillet, les conditions s'appliquent. Détails en magasin ou sur corbeilelectro.com.
Vive le mois de juin, vive Alfa Romeo de Québec. Oh oui, le solde des Stelvio, l'extraordinaire VUS du pôle sportif qui inclut Maserati et Ferrari. En juin, c'est au moins 8000 $ d'économie qu'on vous promet pour un Stelvio totalement équipé. Vous pouvez louer aussi pour des mensualités très abordables. Tout ça compte tenu du prestige de la marque et ce véhicule actuellement vendu pour moins de 56 000 $. Mais quelle machine! Allez-y, trompez votre allemande! Venez faire l'essai d'un Stelvio chez Alfa Romeo de Québec à Boischâtel, à une minute des chutes.
Bon, qu'est-ce que tu vas faire de moi? M'oublier dans le fond du tiroir? Pff, non, merci. Me mettre dans le compost. Le bac bleu, c'est pas ma place. Et la poubelle? Encore moins. Sais-tu quoi faire avec une pile usagée?
Ne jetez pas vos piles. Recyclez-les. Jeter des piles peut nuire à l'environnement. Les recycler adéquatement permettra la fabrication de nouveaux produits, mais surtout la préservation de nos ressources naturelles. Rassemblez vos piles usagées dans un sac transparent et refermable et apportez-les dans un point de dépôt Appel à recycler le plus près de chez vous. Visitez appelarecycler.ca.
Motorisé de la capitale liquide les 2019. Achetez une roulotte ou une fifth wheel 2019 en inventaire au prix affiché et on vous donne 1000 $ pour vos vacances. La compétition vous a fait une offre, nous ferons mieux. Motorisé de la capitale, sortie 305, autoroute 20, mdlc.ca.
Soyez prêts pour l'Agora Fest. 4 soirs de show majeurs du 28 août au 1er septembre à l'Agora du Vieux-Port. Avec Limp Bizkit, Dennis DeYoung, The Music of Styx et d'autres grands noms dévoilés très prochainement. Billets sur agorafest.ca. Faites vite, place limitée. Collaboration Gus et Coors Light.
L'offre vaut jeune texte et parle gratuitement et de retour chez Vidéotron. Abonnez-vous à deux forfaits mobiles premium et à un accès à Internet pour en profiter. Certaines conditions s'appliquent. Vidéotron.
5 fois Chrysler.
Tu cherches un Jeep? Le tout nouveau Jeep Compass 2019 est à partir de 68 $ par semaine sur 96 mois. Aucun comptant. Ça comprend changement d'huile, pneus et freins à vie. Détails sur place chez 5 fois Chrysler sur Franck Carrel.
On va vous apprendre des choses. Vous en faire comprendre. On va vous divertir. Vous accompagner. On va vous faire rire, vous faire fâcher.
Le FM 93, c'est de l'audace, c'est du mordant, c'est du professionnalisme.
Le FM 93, c'est tout ça et plus encore.
FM 93, ça me parle.
La météo, présentée par Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair. Il y a 20 ans, Kia Québec devenait le premier concessionnaire Kia d'une ville majeure au pays. Pour dire merci, on rachète votre bail et vous épargnez 40 cents du litre d'essence chez Esso Immobile. Passez voir le Sportage 2020 à traction intégrale.
En alternance de soleil et de nuages, avec plus d'une chance sur deux d'avoir des averses cet après-midi, risque d'orage, maximum de 26 degrés. Partiellement nuageux et 60% de probabilité d'averses et risque d'orage pour ce soir et cette nuit également. Demain vendredi, 26 degrés, beau soleil sur Québec.
FM 93, c'est FM 93, ce midi. FM 93, ça me parle.
Jeudi 27 juin 2019, il est 13h11 minutes. Jean-Simon Buis, Paul-Raphaël Charron, nous sommes avec vous jusqu'à 2h.
Mm-hmm.
À la suite de quoi, c'est Éric Duhaime et sa bande qui s'emparent des ondes jusqu'à 18h. Encore des examens du ministère qui font...
Tu me permets-tu juste avant d'embarquer?
Ah oui, oui, oui,
un
oui
petit
vas-y,
mot quand même, parce que vous êtes encore plusieurs à nous le signaler, cet épais panache de fumée qui s'élève d'une des cheminées de la raffinerie Valero du côté de Lévis. On a un peu d'explication. D'abord, il n'y a rien de très grave. Il n'y a pas d'incendie. Il n'y a pas quoi que ce soit qui laisse croire que quelque chose de grave est arrivé à la raffinerie.
Il n'y a pas d'attentat terroriste?
Non,
on peut. OK, c'est bon.
On élimine la piste terroriste. On sait jamais avec les médias sociaux, des fois, il y a des gens qui...
Non, mais c'est vrai que le, honnêtement, il y a des images qui circulent sur Internet, c'est vrai que le panache de fumée
c'est vraiment
est
impressionnant. Ouais, c'est Lucifer et ses démons qui font monter de la fumée, ça ressemble à ça. Là. Imaginez là, les charbonniers de l'enfer qui s'activent. C'est vraiment du feu, des flammes, de la fumée importante. Il y a quelqu'un de Shannon tantôt. Shannon, c'est loin au nord. Là. C'est au-delà du mur là, pour les fans de Game of Thrones. Là. C'est très, très au nord. Puis ils voient quand même, toi, t'es pas fan de Game of Thrones.
Shannon, c'est au-delà du mur.
Ouais, tu connais pas les références de Game of Thrones.
J'ai pas cette référence-là.
Il y en a qui l'ont qui ont fait yes! Et donc, ce serait causé par une panne d'électricité qui a touché plusieurs résidents de Lévis ce matin. Ça aurait donc fait éteindre les systèmes de base de la raffinerie. Sauf que là, il y a comme des systèmes d'urgence, comme une génératrice qui serait partie. Et apparemment que dans ces situations-là, quand les systèmes s'arrêtent, il faut qu'ils continuent à brûler du stock de façon à conserver la sécurité, pour pas qu'il y ait quoi que ce soit qui explose. Donc, le brûleur travaille plus fort. Donc, c'est normal que vous voyez plus de feu, plus de fumée. Ceci étant dit, rien de grave, pas d'évacuation à signaler. Finalement, il y a des gens qui parlaient d'évacuation. Il semble que ce soit seulement une rumeur. Là. Tout se passe bien. Dormez sur vos deux oreilles ou travaillez à cette heure-là. Là.
Merci de la précision, Jean-Simon, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui nous posaient la question. Pour en revenir à ces fameux examens du ministère qui font beaucoup parler, parce que il y a plusieurs profs qui, déjà depuis un bon deux semaines, là, dénoncent que les examens du ministère sont trop difficiles. Voilà que c'est l'examen de mathématiques de sixième année au primaire qui serait, là, selon certains enseignants, beaucoup plus long et beaucoup plus difficile cette année que les autres années. Grosso modo, l'épreuve ministérielle de maths en sixième année comprend 8 sections. Qui sont là de l'ordre de situation problème à résoudre, 6 situations d'application. Ça dure 5 jours de la même semaine, là. C'est des demi-journées, grosso modo.
5 jours? J'aimerais ça que vous me le disiez, là, au 25 de 2. Il me semble que mon examen du ministère, dans ce temps-là, il durait 3 heures.
Moi aussi, ça m'a...
5 jours?
J'ai pas l'impression que ça durait aussi longtemps que ça à l'époque.
C'est une épopée, là. C'est pas un examen. Ça doit devenir épuisant mentalement. Il y a des petits poux là, qui pognent ça, là. 5 jours.
Je t'avoue que 5 jours, la réalité, c'est que moi, faire passer plusieurs jours sur un même projet aux élèves, là, les petits poux, là, ils ont 12 ans. Là, c'est pas des petits poux de 4 ans. Là, mais l'affaire, c'est qu'il faut que l'examen soit adapté. Parce que moi, faire passer 3 ou 4 ou 5 jours à coup de demi-journée, on s'entend, là, c'est pas non plus des journées de 8 à 5, là, mais sur un même projet, pour les habituer justement à d'une journée à l'autre, puis tu sais, à cas de se ramasser, puis je pense que ça a quand même des bienfaits dans une certaine mesure. Encore faut-il que ce projet-là soit adapté à des élèves de 12 ans. C'est ça l'important.
Sauf qu'il n'est pas question d'un projet, question d'un examen du ministère. C'est stressant. Là. Puis moi, si tu me demandes ma vision de l'enfer, c'est quoi, là? Passer 5 jours dans une classe sur des mathématiques. Honnêtement, tu me tues mentalement. Là. Bon. Je me mets à la place des jeunes. Je pense que j'aurais vraiment fait de l'anxiété là, de passer 5 jours demain. Tu sais, c'est comme, je sais pas, là, t'aimes pas manger telle affaire, tes parents disent mange ton brocoli, t'es mieux de le manger en grosse bouchée one shot que de le manger un petit fleuron à la fois puis de faire durer la torture. Là. Moi, je trouve que c'est long. Honnêtement, ça, c'est juste la formule.
L'image est drôle, mais elle s'applique pas pantoute, là, Jean-Simon. Là. On s'entend, là, c'est quand même la pédagogie.
Non, les brocolis.
Jean-Simon avait 4 branches de brocoli. Ben oui. Il en a mangé une et demie.
Tu peux faire des maths avec les légumes.
Combien de branches de brocoli reste-t-il à Jean-Simon?
J'ai pas suivi pantoute. Tu vois bien que les maths puis moi.
Non, mais l'autre affaire aussi, parce que moi, j'ai tout le temps un peu peur qu'on nivelle vers le bas, là, tu sais, dans le système scolaire. Ça fait que je pense que ce qui serait intéressant, c'est de savoir réellement comparer pour de vrai la tâche qu'on demandait aux élèves avant d'arriver au secondaire ou à son équivalent là, dans les systèmes antérieurs. Là. Ben, il y a, par exemple, 10 ans, puis 15 ans, puis 20 ans, puis 30, puis 40. Est-ce que réellement, là, c'est-tu vrai que les épreuves aujourd'hui sont plus facile ou plus difficile, beaucoup plus facile ou beaucoup plus exigeante qu'il y a 30 ans. Ce comparatif-là, là, j'aimerais ça, moi, l'avoir. Parce qu'on dit souvent, il y a tout le temps la moitié des gens qui disent on nivelle vers le bas, puis nos élèves sortent des écoles, savent pas écrire en français, puis il y a un réel problème avec le français.
Ça, c'est vrai.
Mais on le sait jamais vraiment si on nivelle vers le bas. Tu sais, puis l'autre affaire, c'est il y a des enseignantes de sixième année, Mme Bertrand et Langlois, c'est rapporté par le Journal de Québec, qui ont fait circuler une vidéo sur les réseaux sociaux pour inciter leurs collègues profs à transmettre au ministère de l'Éducation leurs commentaires sur l'examen de mathématiques qui était jugé trop difficile.
Mais ça, c'est bon, entre toi et moi.
Attends, c'est bon?
Non, mais que les profs fassent leurs commentaires au ministère, j'ai pas de problème avec ça, moi, honnêtement.
Que les profs fassent leur... Absolument. Mais pourquoi les profs sont obligés de mener une campagne sur les réseaux sociaux pour mobiliser les autres profs contre l'organisme qui chapeaute le système. Ça, c'est complètement farfelu. Ben, pourquoi il n'y a pas un système déjà établi et efficace pour que les profs transmettent là? Parce que moi, je me souviens très bien d'une prof d'histoire au secondaire qui nous avait dit l'examen d'histoire cette année était beaucoup plus difficile que les autres années. Puis c'est drôle, hein? Un mois plus tard, il avait pondéré les notes. Ça, pour moi, c'est normal. Parce que là, t'as des fonctionnaires au ministère qui préparent un examen, alors que t'as des centaines de profs dans le réseau qui sont ceux qui enseignent la matière. Ça se peut, des fois, là, qu'il y ait une discordance entre la matière enseignée, la façon que ça a été enseigné.
Ben, moi, c'est ça, mon problème.
L'examen, comment il est fait.
Moi, il est là, mon maudit problème, là. Puis, mais juste ça, moi, ça me dérange pas tant qu'ils fassent une mobilisation sur les médias sociaux en tant que tel, mais je comprends ce que tu veux dire quand même, là. T'as pas tort que ça devrait peut-être être une procédure, déjà. Mais moi, il est là, le bobo, là. Le problème, il est là. Parce que tu dis, on pourrait faire des comparaisons il y a 30 ans, 40 ans. Là, la comparaison qu'on a, c'est plusieurs enseignants qui disent, l'examen de cette année était plus difficile que l'examen de l'an passé.
Ça se peut, ça.
Mais ça fait aucun sens. Excuse-moi, mais ça fait aucun sens.
Ben non. Non, mais ça se peut très bien.
Non, mais ça fait pas de sens, Paul. Voyons donc. Il faut que les élèves qui finissent en 2018 soient évalués sur la même base que ceux qui ont fini en 2017 puis en 2019.
D'accord. C'est ça, mais je suis d'accord. Mais ce que je te dis, c'est une réalité, là. Ça se peut que les profs constatent. Parce que les profs, là, sont pas fous. Ils font l'examen, là. Un prof, là, qui enseigne. Par exemple, je vais te donner l'exemple de ma prof d'histoire au secondaire.
Ouais.
Elle, là, elle y faisait tous les examens d'histoire du ministère, puis elle se chronométrait. C'est quand la prof a fait un examen une année, puis l'autre examen l'autre année, puis elle se rend compte que ça y prend, grosso modo, à elle, ça y prend 1h30, les élèves y ont 3h, puis qu'elle, il y a un examen, tout d'un coup, ça y prend 2h15, là. Ça se peut-tu que l'examen était plus long à réaliser?
C'est ça, mais il y a un problème. Ça veut dire que les lologues en haut, là, dans les tours du ministère...
Les lologues!
Lologues et gogogues, ben oui... Non, non, mais excuse-moi, mais moi,
les lologues!
Moi, ça m'offusque profondément que les gens qui décident ce qui est enseigné à l'école, ce ne soient pas des enseignants. Ça m'offusque énormément. Puis pas juste.
Le ministre de l'Éducation est un prof, là.
Parle à des profs, là. Non. Écoute, oui, mais c'est pas lui qui décide dans les faits, c'est les fonctionnaires qui font les examens, là. C'est pas le.
Non, non, je sais bien.
Tu sais, c'est pas le ministre de l'Éducation qui fait les examens, c'est des fonctionnaires. C'est des gens qui sont pas sur le terrain, c'est des gens qui savent pas. Je me demande juste c'est quoi les compétences de ces gens-là à part d'avoir étudié en pédagogie. Puis étudier en pédagogie, demande n'importe quel prof qui est sur le terrain. Là, la plupart des cours ne servent absolument à rien pour gérer le day-to-day.
Bah ouais, mais en même temps, comment tu fais ça? Je le comprends, ton idéal. Là, c'est juste que, comment tu fais ça? Tu fais un meeting avec les je sais pas combien de centaines de profs au Québec. Puis tu te dis, bon, ben, à la gang, là, vous êtes 800. Chiffre complètement hypothétique, je sais pas, il y en a combien. Là. Mais à la gang que vous êtes, là, ben, pondez-nous un examen. À chaque année.
T'évalues les profs, premièrement. Premièrement, t'évalues les profs. Tu choisis parmi les meilleurs profs des gens qui vont être en charge d'établir c'est quoi l'examen cette année, en fonction du programme et des exigences.
Eux qui ont enseigné la matière aux élèves, alors que d'autres profs qui ont enseigné la matière aux élèves n'ont pas leur mot à dire sur le questionnaire.
Ou à l'époque des internets, tout le monde est capable de se parler avec un petit courriel, vérifier tel point ça a été enseigné.
Non, moi je suis pas d'accord que les profs doivent connaître d'avance les questions de l'examen du ministère. C'est pas vrai, ça.
Non,
moi, ma prof d'histoire de secondaire 4, que je reprends tout le temps en exemple, elle, ce qu'elle faisait, là, c'est une prof qui avait de expérience. Alors, pendant, je pense que c'est en secondaire 4, l'examen du ministère d'Histoire, là, de mémoire.
Oui,
là.
Oui.
Alors, tout au cours de l'année.
Canada-Québec, là.
Ouais, tout au cours de l'année, elle, ce qu'elle faisait, là, c'est que quand elle nous enseignait la matière, quand on arrivait au chapitre sur, je sais pas, moi, tu sais, l'acte de telle affaire, puis là, qu'elle nous expliquait ça, ben, elle mettait une étoile, puis elle disait tout au long de l'année, là, quand je vous donne les notes, puis les affaires à prendre en note, puis tout ça, quand il y a une étoile, là, ça veut dire encerclez-le, mettez ça bien en jaune. C'est le genre de questions là, qu'ils peuvent poser à l'examen du ministère. Sauf ça, elle réussissait à faire ça parce que ça faisait, je sais pas, quand elle était ma prof, ça faisait peut-être déjà 20 ans qu'elle était enseignante.
Et qu'elle avait l'expérience.
Ça faisait 20 fois qu'elle envoyait passer des examens du ministère. Donc, elle commençait à avoir compris pattern, mais elle nous préparait de manière extrêmement efficace pour ces examens-là, parce qu'à la fin de l'année, quand t'as toute une année à réviser, ce qui est une grosse charge pour un jeune de 15 ans, là, ben, tu regardais, peut-être t'es comme, OK, ça va être mes grands dossiers à réviser, puis on arrivait à l'examen préparé.
Fine. Fait que je te donne ce point-là, puis on poursuit notre commission parlementaire à 25 cents. à la place de prendre des professeurs qui sont sur le terrain, prenons des professeurs retraités. Au fond, moi, le point que je veux sortir, c'est prenons des enseignants pour réaliser les examens du ministère. Pas des pseudo-pédagogues qui ont été formés dans les officines du complexe G, puis qui n'ont pas vraiment le doigté ou la compréhension de ce que les jeunes ont compris. Puis je suis pas en train de te dire que je veux qu'on nivelle par le bas. Loin de là. Je suis le premier à m'insurger sur le fait que les jeunes ne savent pas parler français puis que des fois, c'est trop facile à l'école. Je suis le premier à demander des challenges pour nos jeunes et je suis le premier à croire un texto comme celui qu'on a reçu comme quoi c'est bien possible que les examens de 1998 du ministère soient plus difficiles que si on faisait passer. D'ailleurs, ce serait un test amusant à faire.
Ouais, ça, j'aimerais ça.
Des examen de 1998 à des élèves d'aujourd'hui, là, on aurait un vrai portrait de la situation. Sauf que moi, ce que j'aimerais, c'est que d'une année à l'autre, il n'y ait pas question de « Hey, ça prend une heure de plus cette année » ou « Ben, ça prend une heure de moins l'année passée » puis « L'année passée, ils l'ont eu plus facile » puis « Cette année, c'est difficile ». Une uniformisation avec des gens qui sont sur le terrain ou qui ont une expérience du terrain.
Tu comprends que l'uniformisation ultime n'existe pas dans ce contexte-là parce que c'est des questions d'examen. Là.
Je comprends.
Combien de temps ça va? La forme de l'examen est toujours la même. Il y a toujours sensiblement le même nombre de questions à réponse courte, des vrais ou faux, des choix de réponse, des questions de développement. C'est le temps la même affaire, là, grosso modo.
Uniformisation de la difficulté, alors. T'sais, tu sais comme moi que savoir la capitale de la France, Paris, c'est plus facile que savoir la capitale de je sais pas, la Lettonie, mettons, que je n'ai même pas en tête. Là. Tu vois ce que je veux dire?
T'aurais été le genre à me name-dropper la capitale de la Lettonie.
Non, parce que je l'ai pas en tête.
Capitale dropping.
Non, c'est pas du capital dropping, je fais juste du temple dropping.
Cette semaine, t'as fait du temple dropping, tu m'as sorti des noms de temples.
Oui,
c'est ça. J'étais sûr que
non.
Me sortir la capitale de la Lettonie.
Non, c'est justement, c'est te montrer que la Lettonie, là, je l'ai pas en tête, je l'ai peut-être déjà su, je le sais pas, mais c'est plus facile de savoir que Paris, c'est la capitale de la France, que la capitale de la Lettonie qui me vient pas. Il y a un niveau de difficulté de question.
Je comprends.
T'sais, c'est facile de faire après ça un barème, puis là, les profs vont dire, ben ça, c'est tough, puis ça, c'est pas difficile. En quoi, là, le Tartampion, là, qui est au complexe G, puis qui a jamais enseigné une classe, est en mesure de savoir ce que mon enfant doit savoir sur l'histoire du Québec. Voyons.
Je te laisse sur un commentaire complètement inutile, mais je me permets de le faire quand même.
Vas-y.
Il y a une prof de l'UQAR, l'Université du Québec à Rimouski, qui, elle aussi, considère qu'on en demande beaucoup aux enfants pour leur jeune âge. Et citée dans le journal, elle dit « Notre système éducatif est aussi, sinon plus exigeant envers nos élèves du primaire qu'envers nos étudiants universitaires. » Moi, être le journaliste, j'aurais pas pris cette citation-là juste parce que je me dis « Et palaï ». D'après moi, ça fait longtemps qu'elle a le nez plongé dans les examens primaires. Ça doit faire un bout de temps, ces derniers TP à l'université. Ça doit faire un bout de temps. Je sais pas, peut-être qu'il y en a des enfants de primaire qui passent des nuits blanches à étudier. Peut-être qu'il y en a.
Peut-être.
13-23.
FM 93, ce midi, de retour après la pause.
Que Québec se lève.
Avec Paul-Raphaël Charon et Pascal Caron-Vézina.
Samedi et dimanche matin, dès 7h, au FM 93.
N'ayez plus peur de dépasser vos données. Visitez une boutique TELUS et obtenez des données mobiles à volonté à partir de seulement $75 par mois, avec certains forfaits. Les conditions s'appliquent.
Nissan.
Salutations.
J'ai comme le goût d'un VUS, mais...
Mais le prix du gaz. Vas-y avec le Nissan Kicks S.
OK.
Meilleure consommation d'essence de sa catégorie.
OK.
Et tu peux le louer pour seulement $59 par semaine pendant 60 mois.
OK.
Avec $0 en comptant initial.
OK. Ouh.
OK.
Jusqu'au 2 juillet, sur approbation de crédit, $59 par semaine équivaut à $256 par mois, valeur au détail de $20 228 détail chez Nissan.
Québec, c'est le temps de shiner tes bottes pour le 52e Festival Western de Saint-Tite du 6 au 15 septembre. C'est 10 jours d'ambiance survoltée qui t'attendent dans la ville officielle des Cowboys. Achète tes billets au festivalwestern.com. Présenté par Coors Banquet.
Vous songez vendre votre maison? AlexandreWallet.com. Pour payer moins de commissions, AlexandreWallet.com. Vous voulez vraiment vendre? Ça tombe bien, ses clients veulent vraiment acheter. Vendez sans trop payer de commissions à partir de 2%.
Alexandre Wallet.
Salut, ici Jean-René des restaurants Shaker.
Le vendredi 28 juin, on vous donne rendez-vous pour l'ouverture officielle de la terrasse du Shaker Lévis.
Champagne au coste, tapis rouge, photographe, DJ, mixologue au table
et plusieurs autres surprises. On vous attend dès 17h le 28 juin au Shaker Lévis.
Cet été, offrez-vous l'expérience de votre vie grâce au centre du VR Montmagny. Nous vous offrons maintenant les motorisés Thor Industries, Hurricane, Axis et Four Wind. Au centre du VR Montmagny, sortie 376, autoroute 20. Centreduvr.com.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital 2018. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Meublez votre été avec Ameublement Tanguay. Pour un temps limité, nous payons les deux taxes et payez jusqu'à 24 versements sur tous les meubles, matelas et décorations. Procurez-vous une causeuse en tissu rouge ou gris à seulement $599 ou un matelas format double modèle Flow de Z-Bed avec mousse mémoire infusée de gel à $999. Un rabais de $100. Livraison gratuite au Québec. Meublez votre été avec Ameublement Tanguay.
Célébrons le Canada, pays de liberté et de diversité.
tout comme William G. Walter, saucissier. Des saucisses du monde entier avec plus de 60 variétés.
William G. Walter, saucissier de Beauport et du Nouveau-Saint-Roch, vous souhaite bonne fête du Canada.
Vos lunettes, à partir de 79$. La deuxième paire à 25% de rabais.
C'est la révolution Scoop Vision.
Scoop Vision ébranle encore le marché. Sur la deuxième paire de lunettes, vous obtenez 25%.
Vous avez donc deux paires de lunettes à partir de 138$.
Le tout prêt en une heure. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'apporter votre prescription.
Vos lunettes au prix d'Internet en succursale, c'est Scoop Vision.
Sur Soumande, Kennedy-Lévis à Saint-Georges et maintenant sur Quatre-Bourgeois en face de la gare d'autobus.
Oubliez les « Papa, ton pouce est devant la caméra » et les
« Hein, pas clair, ta photo, Michel! »
Cet été, Village Vacances Valcartier, faut le vivre. Visitez valcartier.com pour découvrir nos promotions.
Où est-ce que vous allez trouver le plus grand choix de vinyle clink à partir de 1,99 $ le pied carré? À Québec, Céramique L'Entrepôt, 850 Pierre Bertrand.
Yabadabadabadou, l'été s'en vient. Ah, oh, mais vous portez des orthèses. Pas de problème, passez voir les orthésistes du pied de Québec. Ils vont vous fabriquer des orthèses plantaires, incluant une sandale Mephisto. Et vous achetez du fabricant, donc c'est moins cher. Les orthésistes du pied de Québec, 375 Soumande.
Boulevard Toyota écoule ses véhicules d'occasion en stock, mais oublie les prix très bas. Pense plutôt à des prix très, 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 très bas. Et ça, tu veux ça. Pendant tout le mois de juin, c'est l'événement L'Occasion de sauver de l'argent. Plus de 350 véhicules d'occasion à liquider à des prix jamais vus. Faut que ça sorte. Sans oublier notre avantageux Club Prestige sur tous les Toyota. Et ça, tu veux ça. Pour la meilleure occasion de sauver de l'argent et le meilleur service, Boulevard Toyota, tu veux ça.
FM 93, ce midi.
Obésité, diabète, hypertension artérielle, tout ce qui est facteur de risque de maladie du cœur, AVC, toutes des situations, problèmes de santé qu'on qu'on veut tous éviter. Il y a personne qui a envie de se retrouver avec des problèmes de santé de cet ordre-là. Or, ça me paraît que la consommation de certains aliments hyper transformés, ultra transformés, on va dire, serait associée à ces facteurs de risque-là. Mais de quoi s'agit-il exactement quand on parle de ces aliments ultra transformés? C'est la question que je vais poser à Jean-Claude Moubarak, qui est professeur adjoint à la faculté de médecine, département de nutrition à l'Université de Montréal. Bonjour, M. Moubarak.
Bonjour.
Donnez-nous des exemples pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit quand on parle d'aliments ultra transformés.
Oui, donc si on peut s'imaginer être à l'épicerie, lorsqu'on mange dans les allées centrales, on a des aliments, des produits qui sont emballés avec des couleurs très vives, avec beaucoup de design, et on voit pas vraiment les aliments à l'intérieur. Donc, je pense aux boissons gazeuses, je pense aux boîtes de biscuits ou de gâteaux commerciaux, ou à certaines céréales à déjeuner aussi, à des soupes, à des repas congelés. Donc, les aliments ultra transformés, c'est un paquet d'aliments qui ont comme point commun le fait qu'ils sont Ce sont des aliments qui sont fabriqués de toutes pièces par l'industrie à partir de substances raffinées et des additifs. Donc, c'est des produits qui contiennent beaucoup de sel, de gras, de sucre et d'additifs, donc des colorants, des saveurs. Et pour pouvoir les identifier simplement, on doit regarder la liste d'ingrédients du produit qu'on achète. Et si on voit là-dedans des additifs ou des substances qu'on ne connaît pas, qu'on n'utilise pas à la maison, c'est un produit ultra transformé.
Et qui sont les grands consommateurs de ces produits-là? Parce que il semble quand même y avoir une tendance où le consommateur est de plus en plus averti quant aux produits qu'il consomme, sa provenance.
Oui. Néanmoins, en moyenne, 50% des calories quotidiennes consommées par les Canadiens viennent de ces produits ultra transformés. Et je dirais que la consommation, elle est assez répandue. C'est pas nécessairement lié aux revenus ou à l'éducation ou là où on habite. Tous les Canadiens consomment des produits ultra transformés. Certains produits vont être des boissons gazeuses, par exemple. D'autres produits ultra transformés vont être des barres granola sans gluten qui ont une apparence santé, mais qui sont plus chères. Donc aujourd'hui, il faut faire attention et toujours regarder la liste d'ingrédients. Donc, il y a certains produits ultra transformés qui sont de plus en plus délaissés par les Canadiens et les Québécois comme les boissons gazeuses, mais à l'inverse, on a des nouveaux produits sur le marché qui arrivent, qui sont ultra transformés, qu'on méconnaît et qui, eux, donc, deviennent populaires. Donc, il faut toujours faire attention. L'industrie a toujours des nouvelles innovations et des nouvelles façons de présenter ces produits.
Justement, il y en a un qui me vient en tête immédiatement, puis c'est la viande végétalienne, la fausse viande Beyond Meat. Ça doit faire partie de ces produits transformés, j'imagine?
Oui, absolument. C'est-à-dire que ce Beyond Burger, lorsqu'on regarde sa composition, l'unique aliment qu'il y a, c'est un isolat de protéines de pois. Donc, on n'a pas le pois complet. On a un isolat de protéines de pois. Ensuite, on a des huiles, des additifs. Donc, la qualité nutritionnelle de ce produit, elle est assez faible. Et globalement, on n'a pas un produit qui contient des aliments complets. Alors qu'on pourrait faire un burger végétalien à la maison à partir de légumineuses, d'épices, de vrais aliments. Donc, on n'a pas à aller vers la version ultra transformée. C'est un bon exemple, le ultra... cette viande ultra transformée, oui. Le Beyond Burger, elle est très chère et au niveau nutritif, elle n'est pas très intéressante. Donc, c'est surtout une question de marketing ici là qui entre en jeu.
C'est sûr que le consommateur a une responsabilité par rapport à ce qu'il achète puis ce qu'il consomme, mais à partir de quel moment s'arrête la responsabilité du consommateur? Parce que parfois, c'est pas si évident que ça de s'y retrouver. Là.
Dans mon livre à moi, les problèmes alimentaires découlent de la relation entre l'individu et son environnement. Donc, on ne pourra jamais distinguer l'individu de l'environnement. Les choix individuels sont importants, mais ils sont toujours influencés par l'environnement. Donc, en tant que société, on doit pouvoir travailler pour que notre système alimentaire soit un système qui fait la promotion des aliments sains. Donc, les aliments moins transformés devraient être beaucoup plus disponibles, moins dispendieux. Et je donne un exemple, on doit penser comment on peut ramener la cuisine et les vrais aliments dans nos institutions, à l'université, dans les hôpitaux, partout là où on vit, parce que avec notre vie d'aujourd'hui, on va difficilement cuisiner 3 repas par jour à la maison. Donc, il faut vraiment changer le système alimentaire, puis ça commence par une meilleure compréhension des aliments qui sont sains et ceux qui sont malsains, donc ces produits ultra transformés, ne sont pas seulement liés au risque accru d'obésité, mais aussi au risque accru de diabète, d'hypertension. Donc, l'image qui se dégage, c'est que ces produits ont des impacts négatifs sur la santé globale parce qu'ils ont plusieurs problèmes nutritionnels et des problèmes et du fait qu'ils encouragent la surconsommation également.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une partie de la solution qui passe par l'étiquetage, M. Moubarak? Parce que je me souviens avoir déjà acheté un sac de pommes sur lesquelles c'était écrit « Produit du Québec ». Puis je me rends compte finalement que les pommes n'étaient pas du tout du Québec. C'est des pommes qui venaient des États-Unis. Mais le sac ou je sais pas trop... Il vient un moment où on est vraiment plus capable comme consommateur d'identifier correctement le produit qu'on achète, là.
Oui, c'est-à-dire l'information sur les produits doit être claire et elle doit être une information qui est véridique. Et donc, aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes avec la fraude alimentaire, des allégations qui sont fausses. Donc ça, c'est un enjeu. Mais pour ce qui est de l'étiquetage, je dirais que pour ce qui est de la qualité des aliments, la qualité nutritionnelle, nous, ce qu'on dit, c'est que les meilleurs aliments n'ont pas de liste d'ingrédients. Les pommes, les patates, la viande, le lait, les légumineuses, c'est fait d'un seul ingrédient. Si vous achetez des aliments qui sont congelés, vous avez également un seul ingrédient ou plusieurs, si c'est plusieurs légumes congelés. Donc, moi, je dis aux consommateurs que les meilleurs aliments n'ont pas d'étiquetage, n'ont pas de liste d'ingrédients. Et lorsque vous choisissez parmi des aliments qui, eux, sont emballés et qui ont des listes d'ingrédients, choisissez ceux qui n'ont pas d'additifs et qui correspondent le plus possible à une recette que vous pourriez faire à la maison.
Vous proposez aussi des restrictions en matière de publicité d'aliments et de boissons qui sont destinées aux enfants en particulier. Quel genre de restrictions on parle?
Donc ça, c'est un projet de loi qui est le fédéral est en train de contempler. Donc, c'est d'interdire la publicité, toute forme de publicité alimentaire destinée aux enfants. Donc, des publicités dans lesquelles on met... on va utiliser des enfants ou avoir des produits qui leur sont destinés. Donc, pour vraiment enlever toute l'exposition à la publicité. Parce que si on veut que nos jeunes développent le goût pour cuisiner puis pour bien manger, il faut que cette compétition avec les aliments ultra transformés, il faut qu'elle cesse parce que c'est un combat qu'on ne pourra pas gagner. Parce que ces produits ultra transformés sont beaucoup plus goûteux parfois parce qu'on utilise beaucoup de sucre et de gras et de sel. mais ils ont une apparence qui est tellement intéressante que, bon, vous savez, un sac de chips, une barre de chocolat, va compétitionner avec les légumineuses puis les légumes. C'est clair. Oui, exactement. Donc, mais il faut essayer de trouver ici au Québec comment on peut revaloriser nos aliments locaux, la cuisine, les recettes traditionnelles. On peut se faire beaucoup de plaisir aussi à cuisiner puis célébrer notre alimentation. C'est peut-être le temps de réfléchir à ça. Sous l'angle de la souveraineté alimentaire et culturelle.
Sauf que c'est ce qui est dommage, M. Moubarak, dans tout ça, c'est que on peut en parler, on peut sensibiliser les gens, on peut expliquer que du lécithine de soya, c'est peut-être pas très bon pour votre organisme. Sauf que le X, il y a rien de plus satisfaisant, là, je vais essayer de le mettre simple, là, que de manger justement un bon Big Mac. C'est ça qui est problématique. Je sais pas comment exprimer ça, mais comment on fait pour se battre contre le fait que l'être humain savoure plus un Big Mac, par exemple, qu'une salade de carottes avec des pois chiches?
Ben, je te dirais que c'est une question de développement. Il faut, tu sais, on devient comme ça. Notre constitution se développe dans ce sens-là. Donc, il faut commencer dès l'enfance, puis que dès la petite enfance, qu'on fasse de l'éducation, de la sensibilisation aux jeunes, mais pas de façon académique, de façon ludique, par le jeu, par l'expérience. Des enfants qui goûtent aux légumes et aux légumineuses dès leur tendre enfance vont développer et garder ces plaisirs-là. Il faut aussi pouvoir expliquer aux gens, puis le démontrer, qu'on peut avoir autant de plaisir à manger un hamburger fait maison que le hamburger commercial. C'est une question d'apprentissage, d'habitude, puis comme je disais, ça commence dès l'enfance, puis même dès la conception. Donc parfois, quand on est dans le monde adulte, on devient un peu découragé en se disant comment on fait rendu à l'âge adulte, comment on fait pour déconstruire ces habitudes-là? J'ai pas de réponse parce que c'est très difficile. Mm-hmm. Mais nécessairement, il faut commencer, je pense, par les enfants, puis avoir une réfléchir sous forme de trajectoire, sous forme de développement, et se dire qu'on peut quand même réapprendre les goûts, on peut réajuster ses papilles gustatives et perdre ce goût pour ce qui est intensément sucré ou salé.
J'ai déjà remarqué en France qu'il y a dans certaines publicités, par exemple de chaînes de restauration rapide, ils vont indiquer vraiment des lois là qui obligent d'indiquer des messages dans le bas de l'écran du genre n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour ou faites attention de ne pas grignoter entre les repas. Au même titre qu'ici, quand une annonce de bière, par exemple, c'est écrit « Veuillez consommer responsablement ». Est-ce que d'une certaine manière, on peut s'inspirer du modèle français à ce niveau-là?
Oui, je dirais de façon générale, en France, ils sont beaucoup plus avant-gardistes par leur réaction face aux ultra-transformés. Ça fait quelques années qu'en France, il y a des recherches sur le sujet. Puis déjà, en France, ils ont, dans leur recommandation nationale, ils recommandent aux gens de diminuer leur consommation de ces produits. Chose qu'on fait pas encore au Canada. Parce qu'en France, ils ont le principe de précaution. Ils n'attendent pas d'avoir les données les plus probantes pour pouvoir agir. Lorsqu'ils ont une idée générale qu'il y a un problème, ils vont user de leur principe de précaution. Ils vont prévenir pour ne pas et pas seulement guérir. Donc, je dirais qu'on devrait avoir la même logique ici. Puis, un exemple que je trouve intéressant en France, il y a un logo qui a été créé pour donner pour les restaurants où on cuisine véritablement sur place. Et ça, ce serait intéressant d'amener ça, disons, à Montréal, au Canada, où on pourrait donner une promotion, une visibilité aux restaurants où il y a vraiment une cuisine avec des vrais aliments, pour pouvoir essayer d'encourager ce système-là. Donc, ce serait des exemples, mais je ne sais pas si dans une publicité de boissons gazeuses ou de bière, de donner un message de prévention, je ne sais pas quel effet ça a vis-à-vis le poids de la publicité. Okay.
Merci, M. Moubarak, d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui.
Bon, ça fait toujours un plaisir et puis je salue tous vos auditeurs et puis je vous souhaite une excellente fin de semaine.
Merci, bonne journée, bonne fin de semaine à vous aussi. Jean-Claude Moubarak est professeur adjoint faculté de médecine au département de nutrition de l'Université de Montréal.
Il m'a appris quelque chose, Paul, avec le fait que ce soit acquis, le goût pour les choses sucrées, puis ça me surprend un peu, puis j'ai pourtant l'impression que c'est inné, puis Bernard a l'impression que c'est ça aussi. Au 25-26, nous texte, il reste que naturellement, les enfants raffolent plus du sucre et des gâteries que des bonnes choses, et ça, malgré nos efforts de parents, c'est inné d'aimer le sucre et la malbouffe. C'est vrai, j'ai de la misère à croire que placé devant le choix à 4 ans d'une pomme versus de bonbons, l'enfant va choisir la pomme, là, tu sais.
Je sais pas, moi, écoute, ça commence jeune, là, tu commences à manger du pain à blum, puis des affaires de même, des petites purées pour enfants, quand même assez sucrées. Je serais pas si surpris que ça, moi, qu'il y ait une part d'acquis là-dedans.
Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que le sucre est une drogue. Tu sais, quand tu prends du sucre, c'est un peu comme si tu prenais de la coke, là. C'est démontré, c'est vraiment quelque chose de très, très addictif. Mais là, ça me surprend. Donc, ça veut dire que tu peux désapprendre ça, mais le craving, il est fort, là. Hey. Tu sais, quand tu craves une poutine, ça t'arrive-tu de craver des pois chiches, toi?
Jamais.
C'est ça. Moi, ça m'arrive de craver une poutine, par exemple.
Les pois chiches, je l'ai toujours dit, là. Les pois chiches sont à l'alimentation ce que le carton est aux matériaux de construction.
Et pourtant, c'est bien meilleur pour toi. Ouais. Mais c'est ça le problème. C'est que on
mais moi, j'ai découvert récemment, j'en sais moi, que je suis flexitarien. Je le savais pas.
Ah, tu savais pas ça?
Flexitarien, ça veut dire que ça veut dire que tu fais juste manger un peu de n'importe quoi, là. Mais ça veut dire qu'une fois de temps en temps, là, une journée ou deux par semaine, là, t'es végétarien. Ouais. Mais je suis ça sans m'en apercevoir.
Ben, en fait, t'es juste quelqu'un qui mange de tout, mais qui veut se dire snob, comme tous les
millions. Non, pas du tout. Je savais pas que j'étais flexitarien. Ouais, j'ai appris ça. Je pense que c'était en discutant avec une nutritionniste à la radio, ouais, quelque chose. Là,
mais tout le monde est flexitarien un peu parce que tout le monde mange de tout, c'est ça.
Ouais, mais c'est trippant.
Mais c'est un terme un peu, ouais, ça donne une étiquette, finalement.
Tu peux manger tout ce que tu veux puis dire, ouais, mais moi, tu sais, là, le Beyond Meat, là, et tu sais, la viande rouge, mais moi, je suis au-dessus de tout ça, là, moi, tu sais. Moi, je suis flexitarien. Moi, je suis flexitarien.
FM 93, ce midi. De retour après la pause.
C'est l'événement Mazda. Conduire n'a jamais été si inspirant chez Mazda Châtel. Venez faire l'essai du Mazda CX-5 2019 à traction intégrale à partir de $84 par semaine. Location 48 mois avec léger comptant.
Mazda Châtel, sortie Pierre Bertrand, secteur du Marais.
Le retour d'Éric Duhem avec Éric Duhem et Marc Boilard.
Écoutez, le Marc a fait du vélo ce matin. Il a fait 35 km. Puis Julie a couru.
Oui.
Toi, t'as fait quoi?
Moi, j'ai été promené Mia.
Moi, j'ai déjeuné deux fois.
Thomas, tu casses toute notre bite de sportif. C'est toi qui fais monter à moyenne.
Ouais, ouais, c'est ça. C'est correct, ça?
Éric Duhem et Marc Boilard, dans le retour, lundi au vendredi, 14h, au FM 93. Ça me parle.
Besoin d'une inspection par caméra? D'excavation autour des fondations? Garco ne fait que ça, et depuis longtemps.
Garco. Spécialiste en endroits restreints depuis 25 ans.
Visitez garco.co. Oui, oui, garco.co.
Célébrons le Canada, pays de liberté et de diversité. Tout comme William G. Walter, saucissier. Des saucisses du monde entier avec plus de 60 variétés.
William G. Walter, saucissier de Beauport et du Nouveau-Saint-Roch, vous souhaite bonne fête du Canada.
Breaking news. On nous annonce un été 2019 chaud et collant. Les experts nous disent de nous procurer une clim maintenant. Puis moi, je vous dis, allez donc chez Enviro-Confort.
Et non, il n'est pas encore trop tard pour profiter de la climatisation cet été au prix les plus avantageux sur le marché. Grâce à Lennox et Enviro-Confort, climatisez votre logement pour $1 par jour. Ça vous tente? Cette offre de Lennox est seulement offerte chez Enviro-Confort et pour un temps limité. Préparez-vous pour un été chaud maintenant.
Visitez enviroconfort.com.
Vous espérez avoir vos portes et fenêtres avant l'automne? Passez chez Portes et fenêtres Tremblay. Nous vous installerons les réputés produits Lepage Millwork dans les plus brefs délais. De plus, vous payez en 24 versements sans frais ni intérêts grâce à Portes et fenêtres Tremblay, 2630 Boulevard Amel.
Pour souligner que la Piazzetta existe depuis 1989, obtenez notre sélection de grandes pizzas à 19,89. Parce que nos pizzas originales, c'est ce qui a le plus marqué 89. Après la chute du mur de Berlin, l'invention du web et 200-300 autres affaires marquantes. La Piazzetta, 30 ans d'originalité, en restaurant seulement.
Toi, même en vacances, pas de compromis à faire côté sécurité. Une veste de flottaison en chaloupe, tu mets ça. Un casque en vélo, tu portes ça. Le Toyota Safety Sense offert de série sur pratiquement tous les modèles chez Boulevard Toyota, tu veux ça. Pendant la vente étiquette rouge, une Prius Prime 2020 à partir de seulement $28,734 ou $76 par semaine en location 60 mois, tu veux ça. Boulevard Toyota,
Tu veux ça. Incluant les incitatifs gouvernementaux, location sans acompte, 260 versements, 100 000 km alloués et dizaines de kilomètres excédentaires, taxes en sus.
Cet été, offrez-vous l'expérience de votre vie grâce au Centre du VR Montmagny. Nous vous offrons maintenant les motorisés Thor Industries, Hurricane, Axis et Four Wind. Au Centre du VR Montmagny, sortie 376, autoroute 20. Centreduvr.com.
Vous songez vendre votre maison? AlexandreWallet.com. Pour payer moins de commissions, AlexandreWallet.com. Vous voulez vraiment vendre? Ça tombe bien, ses clients veulent vraiment acheter. Vendez sans trop payer de commission à partir de 2%.
AlexandreWallet.com.
La vitre de votre iPhone est cassée. Votre sel marche plus? Passez chez Télution. Ils changent les vitres, batteries, connecteurs, souvent en 15 minutes, et ils ont maintenant une section de cellulaires usagés. Télution sur Saint-Sacrement, Saint-Jean, à Saint-Romuald et maintenant à Charlebourg. Télution.com.
Ça fait 2 mois qu'on fait des boîtes, puis on n'a pas fini. On déménage demain, on n'a pas de déménageur, pas de camion. Je capote, je vois pas la fin, je vois pas le bout, je vois pas la lumière au bout du tunnel.
Et au moins, on a fait notre changement d'adresse avec Hydro.
C'est vrai. Il y a de l'espoir.
Voyez la lumière au bout du déménagement. Effectuez votre changement d'adresse auprès d'Hydro-Québec rapidement, directement en ligne. En plus, économisez 25 $ Détails sur hydroquebec.com/déménagement.
Essayez une Kia, c'est l'adopter. Partez à l'aventure cet été à bord du Sorento et de la Forte 2019 ou encore du Sportage 2020 nouvellement redessiné. Hâtez-vous! Obtenez jusqu'à 5000 $ de rabais au comptant et une carte de rabais sur le carburant vous permettant d'économiser 40 cents le litre pendant 4 mois ou 500 litres aux stations Esso et Mobile participantes. Plus que jamais, essayez une Kia, c'est l'adopter. Valable sur certains modèles jusqu'au 2 juillet seulement. Passez chez votre concessionnaire Kia pour tous les détails.
Spectacle, festival, événement. Quand ça bouge à Québec, le FM 93 est de la partie.
Du 1er au 4 août, au Parc de l'Esplanade, l'histoire se joue au fait de la Nouvelle-France TD. Tout ce que ça prend, ben, c'est un petit médaillon dans le cou. Ça, c'est 10 pièces. En pré-vente jusqu'au 14 juillet dans les succursales TD puis Brunet participantes, puis au nouvellefrance.qc.ca.
Les événements de Québec, propulsés par le FM 93. FM 93, ça me parle.
La météo, présentée par Shell, a gagné du carburant gratuit pour un an. Utilisez votre carte Air Miles pour participer. 10 prix à gagner. Visitez shell.ca/carburant gratuit. Des conditions s'appliquent.
Alternance de soleil et de nuages avec 60% de probabilité d'averse et risque d'orage cet après-midi. On a un maximum de 26 degrés. Ce soir et cette nuit, partiellement nuageux. Et encore un peu plus d'une chance sur deux d'avoir de la pluie. Demain vendredi, généralement ensoleillé, maximum de 26.
FM 93, ce midi.
La prochaine histoire est extraordinaire. Mais je peux pas vraiment juger les gens puisque moi-même, je me perds dans un centre d'achat. Il y a une centaine d'automobilistes. C'est aux États-Unis. Ils se dirigeaient vers l'aéroport de Denver, au Colorado. Et là, il fallait qu'ils prennent un détour parce qu'il y avait des travaux, là, ce que je comprends, là, oui. Quelque part. Donc, oui. Sur le GPS, les gens étaient branchés sur l'application Google Maps, qui est un GPS. Et Google Maps leur faisait prendre donc, un chemin alternatif parce qu'ils savaient qu'il y avait des travaux. Résultat, la centaine d'automobilistes s'est retrouvée dans un champ, littéralement. Le chemin alternatif, c'était une route de terre.
C'est merveilleux.
Là, il y avait plu en plus, fait que c'était boueux. Il y a des chars qui se sont enlisés dans le champ, dans la boîte, plus capables de repartir de là. Tout ça parce que le GPS leur disait d'aller par là. Ça fait que là, ils regardaient le GPS, ils voyaient bien que ça n'avait pas de bon sens dehors, mais ils se disaient « Oui, mais là, Google me dit d'aller là. »
Oh, que j'aime ça.
Là, j'ai pas le choix, là.
Oh, que j'aime ça. Parce que si tu savais comment c'est un combat de chaque instant avec ma blonde, là, qu'elle lâche un peu Google Maps. Marie-Lou, là, ça fait 5 ans qu'elle est à Québec, OK? 5 ans, OK? Puis honnêtement, aller de Val-Bélair chez nous au Galilée-Capitale, je suis pas sûr qu'elle est capable de le faire sans Google Maps.
Ah ouais.
C'est à ce point-là, OK? Ben, Google Maps, il donne toujours le meilleur trajet. C'est ça qu'elle dit, tout le temps. Non, elle dit tout le temps ça.
L'instinct donne toujours le meilleur trajet.
Ben oui, suivre les étoiles, ouais. Suivre le soleil. Non, mais sans blague, avoir un minimum de sens de l'orientation, mais c'est démontré, c'est archi-prouvé que ça nous rend cave, Google Maps. Puis je m'inclus là-dedans, je l'utilise aussi, tout le monde utilise des GPS, mais on perd ce qui nous rendait, qui nous faisait... Tu sais, penses-tu que dans la préhistoire, il y avait Google Maps, eux autres, quand ils chassaient un mammouth sur des kilomètres? On n'est plus capable de se rendre au centre d'achat, Simonac, sans Google Maps, c'est épouvantable.
Benjamin? T'as failli faire un fou de toi?
Hey, tu dis, cet hiver, je vais à Saint-Tite pour la classique hivernale du hockey junior.
Ouais.
Et quand je reviens, on est en soirée, l'éclairage dans les routes n'est pas nécessairement bonne. Et avant d'arriver sur la 40, t'as un peu de chemin de gravel à faire. Pas de gravel, mais t'as un peu de chemin de route de campagne à faire. Ouais. Donc, je prends Google Maps, je me dis Google va m'amener à 40, puis rendu à 40, ça va bien aller.
Ça, c'est une belle phrase, ça. Google va m'amener. Google va m'amener, là. Google va réaliser mes rêves.
Erreur. Je me suis ramassé dans un chemin de gravel qui était déneigé, donc ça roulait. Okay. Et un moment donné, ça devenait un chemin de motoneige. Là, à cette place-là, j'ai fait « OK, c'est beau, Ben, t'arrêtes là, là. »
Il a fallu que tu te rendes là pareil.
Là, t'as arrêté, puis t'as reviré de bord, puis t'es retourné.
J'ai pas eu le choix.
Ben oui, mais t'as pas regardé. Tentais pas de regarder avant de partir. Juste regarder les chemins possibles avant de partir. Mémoriser un peu les directions, les grandes artères, puis passer par là. Me semble que c'est assez simple.
Mais j'ai aucun sens de l'orientation. Fait que je fais confiance au GPS, qui est censé en avoir un. Mais visiblement, c'était pas une bonne idée.
Mais je te donne un autre exemple, mais ça, c'est fascinant.
Heureusement, je me suis pas enlisé.
Le Google dit et rendu qui gouverne nos vies. Là. Mm-hmm. Benjamin, c'est un bon exemple ce que tu as donné aussi, mais il y avait le salon des grands crus brassicoles ce printemps, le salon de bière qui était au château Frontenac. Puis avant, ma blonde puis moi, on a décidé d'aller se promener un peu sur les plaines avant d'aller au salon des grands crus brassicoles. Puis là, on a passé un peu plus de temps sur les plaines, puis là, on est pressé, mais Google Maps... Michel Marie-Louis, c'est parce que c'est au château Frontenac.
C'est en ligne droite.
C'est ça. Dit, il est
le
là.
Château Frontenac, c'est en ligne droite par là.
Non, mais Jean-Simon, il va nous donner le meilleur chemin pour se rendre rapidement.
C'est une ligne droite! C'est une ligne droite!
On s'est ostiné pendant 3 minutes pour que je mette Google Maps à cause de ça. C'est épouvantable. Dieu sait que c'est une fille intelligente, mais pas capable de discerner sa gauche puis sa droite.
Par texto, il y a quelqu'un qui dit « Pendant 10 ans, mon mari et moi, on est allés en Floride en voiture. On a arrêté de se perdre quand on s'est mis à suivre les pancartes au lieu du maudit GPS. »
Amen.
Écoute, la seule fois que j'étais allé aux États-Unis avec un GPS, on regardait tellement le GPS qu'on a failli manquer d'essence. Parce que là, on était comme, oh, mais t'as peu, le GPS, il dit, gardez la gauche, puis après ça, il dit, continue tout droit. Puis à un moment, on se rend compte que, tu sais, les autos avec des espèces d'indicateurs numériques, ça dit le nombre de kilomètres qui restent avant de tomber. On s'est rendu, je te jure, on était sur on avait pris une sortie à un moment donné, là. Puis on était à zéro. Zéro. Pas la lumière a allumé, il te reste 60, là. L'indicateur disait 0 km. Il reste 0 km dans la voiture d'essence. Puis on voyait la pancarte au bout, là. C'est pas juste si quand on est arrivé sur le bord de la pompe à gaz, ça a fait pout, là, tu sais. Ah, on s'est rendu, mon gars, là, sa fesse. J'ai jamais vu ça.
Grâce à Google.
Tout ça parce qu'on voyait que Google. Mais, si Google ne vous amène pas là où vos rêves voudraient vous amener, nous, on vous amène au Festibière de Lévis en fin de semaine.
Hey, ça commence ce soir. Là, les
ça,
poils
le
des bras commencent à se dresser sur mes bras parce que je suis au bord de la bonne bière bientôt. C'est le fun de même. Jeudi soir, c'est un jeudredi. On peut parler d'un jeudredi. Début de week-end officiel, j'ai décidé de le lancer. Là. Ce soir, au Festibière de Lévis, Kepa Kett, le thème, l'art de déguster parce que la bière, c'est un art, mais il y a aussi des prestations artistiques sur place. Des gens qui vont faire des graffitis live, des bands, ouverture de casques de bière exclusives, donc des bières que vous allez seulement pouvoir goûter au Festibière de Lévis. C'est d'aujourd'hui à dimanche. Allez-y le plus vite possible parce qu'il y a des belles activités. Et ça, vous pouvez y aller en famille en passant aussi. Le Quai Paquette, c'est super familial. Il y a une belle vue sur la ville de Québec. On fait tirer 2 verres, des jetons pour déguster les bières sur place. Je pose une question afin de trouver un connaisseur de bière pour comme gagnant. Donc, pour gagner 2 verres et des jetons, 670-9330. Si vous buvez une bière de type Pilsner, de quel pays provient ce style de bière?
Au Pelay! Attends un petit peu, parce que ça, c'est pas si facile.
Non,
c'est
pas
plus
facile.
Difficile des quatre à date.
C'est ma plus tough.
Je vais poser une question qui pourrait être un indice.
Vas-y.
Est-ce qu'on désigne l'équipe de ce pays-là au soccer comme étant les Diables Rouges? Ça, c'est quasiment plus tough que la question que t'as posée.
Parce que je connais pas le soccer, fait que je peux même pas te répondre oui ou non.
Autre question qui pourrait être un indice. Est-ce qu'ils font du méchant bon chocolat?
Non.
Oh, palais, je connais pas.
Donc, c'est pas ça. Alors, la Pilsner vient de quel pays? 670-9330. Il y en a un qui va l'avoir, je le sais. À gagnons, c'est tout. 670-9330, gagner 2 verres et des jetons. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va l'avoir.
Aïe, c'est pas simple. OK, ben c'est parti. On est certain d'avoir vraiment un vrai connaisseur pour le Festibière de Lévis en fin de semaine. Jean-Simon, merci. Benjamin, François, merci d'avoir été là. On est là demain à partir de 11h. Et dans 5 minutes, même pas, c'est Éric Duhem et sa gang qui s'en viennent. Bye-bye.
Ciao.
FM 93, ce midi. De retour dans quelques instants.
Et si vos vacances commençaient au moment où vous prenez place derrière le volant? Les Volvo XC60 et XC90 vous offrent des systèmes de sécurité novateurs et un habitacle scandinave au design raffiné qui vous assure confort et quiétude, peu importe votre destination. Pendant l'événement signature de Volvo, louez ou financez un XC60 ou un XC90 2019 à partir de 2,9% et économisez jusqu'à 2 500 $.
Détails chez Volvo de Québec ou sur volvodequebec.com.
Ce que les bananes essaient de vous dire, c'est que le casino de Charlevoix fête son 25e anniversaire. Avec des animations, une foule de lots à attraper dans la cabine à dollars et un spectacle anniversaire du merveilleux Grégory Charles. Oui, oui, elles ont dit merveilleux. Oui! Les 25 ans du casino de Charlevoix, c'est les 28, 29 et 30 juin. 18 ans et plus, détails sur casinodecharlevoix.ca.
Québec. Isabelle AM avec Isabelle Lacasse.
Les grands-parents, dans le fond, là, c'est pas des bouche-trous. Puis les parents, ils les prennent pour des bouche-trous. La garderie, elle ferme. Ah oui, chez grand-papa. Hey, c'est pas des bouche-trous, tes parents, là.
Il y en a qui veulent, par exemple. Il y a des grands-parents qui attendent ces ouais, appels-là et qui ont envie de ça.
Attention, là, Isabelle. Il y en a qu'on pense qu'ils veulent, mais qui sont juste pas capables de dire non.
Il y a ça aussi. C'est vrai.
Isabelle AM, lundi au vendredi, 9h30, au FM 93.
Wish we could turn back time. 21 Pilots, Lynyrd Skynyrd, Mariah Carey, Le Soleil vous offre la chance d'assister à un de ses trois concerts dans la zone avant-scène or au Festival d'été de Québec avec un accès VIP au AfterFec. Trois concerts, trois gagnants. Vivez la zone avant-scène or. Une seule façon de participer, visitez concours.lesoleil.com. 21 Pilots, Lynyrd Skynyrd, Mariah Carey, faites votre choix. Une collaboration du Festival d'été de Québec et du quotidien Le Soleil.
Un char rose fluo avec des flammes, sérieux pas.
Mais je voulais de quoi d'original?
Ben là, t'aurais dû à la Piazzetta. Fait 30 ans qu'ils servent des pizzas originales. C'est comme pour mon prénom, ça. Hein? Jean-François, c'était trop commun. Toi, tu voulais de quoi? D'original.
Calme-toi, Jean-Francine.
La Piazzetta, 30 ans d'originalité.
Pendant les jours adrénaline de Mitsubishi Motors, louez un Eclipse Cross avec groupe Black Edition 2019 pour seulement $174 bimensuels à 1,99% pendant 60 mois. Incluant les caractéristiques du groupe Black Edition valant $2,150. Le Mitsubishi Eclipse Cross Black Edition est offert au prix au détail de $32,942 avec 120 paiements, un acompte de $1,395 et $1,980,70 payable à l'entrée en vigueur de la location. Allocation de 16 000 km, 10 cents par kilomètre excédentaire. Des conditions s'appliquent.
Québec, c'est le temps de shiner tes bottes pour le 52e Festival Western de Saint-Tite du 6 au 15 septembre. C'est 10 jours d'ambiance survoltée qui t'attendent dans la ville officielle des Cowboys. Achète tes billets au festivalwestern.com. Collaborateur Desjardins.
Le seul gigantesque d'été chez l'équipeur est en cours jusqu'au samedi. Économisez 25 à 70% de rabais sur nos prix courants et de liquidation dans tout le magasin. Nous avons des bonnes aubaines, telles que 50% sur les manteaux et les vêtements décontractés, 40% sur les chaussures tout allées, 30% sur les jeans et bien plus. Et la livraison est gratuite sur l'équipeur.com. Visitez l'équipeur dès maintenant jusqu'au samedi pour le sol gigantesque d'été. L'équipeur, équipé pour tout, excluant l'achat des cartes cadeaux. Aubaine à tout casser à prix marqué.
Afin de souligner la rénovation de ces magasins, Plancher Bois Franc 2000 vous offre 25% de rabais sur les céramiques et 15% sur les planchers laminés et de vinyle de marque Torleys. Dépêchez-vous, leurs planchers durent longtemps, mais ces promotions partiront vite. Plancher Bois Franc 2000, Québec et Lévis.
Guérir du surendettement, ça a fait du bien. J'avais tellement honte de moi.
Découvrez l'effet Raymond Chabot. Prenez rendez-vous en ligne ou faites le 1-855-R-CHABOT. Raymond Chabot, conseiller en redressement financier. Les tarifs des syndicats